Salut, c'est Mimi Hegel. Dans la vie, je suis créatrice de contenu indépendante sur Internet. Vous pouvez me retrouver sur Twitch, sur Instagram, sur Twitter et sur Patreon sous le même at, à savoir MYMYHGL. Vous allez écouter un débrief de série, d'abord diffusé en live Twitch. C'est pour ça que j'interagis avec le chat et que j'évoquerai parfois des éléments visuels que vous ne voyez pas. On a commencé avec House of the Dragon saison 1 en compagnie de Tequila Tex, mais il y a tellement de bonnes séries dans le monde que ce flux continue à vivre, avec toujours des invités de qualité. Bonne écoute!
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hi, I'm Ando.
And I'm Fer.
And we host Niñas Bien Podcast.
We want to invite you to listen to our show.
Niñas Bien means good girls in Spanish, but you have to know that this is not a podcast for good girls.
Or for girls at all. It is a comedy podcast, so everyone is welcome to listen.
We talk about sex, relationships, technology.
We recommend movies and TV shows and discuss pop culture in general.
And there is Chisme Ajeno too.
A section we have just to gossip about everyone. So you'll find something you like here.
And you'll practice your Spanish.
The cleanest Spanish you'll find, we promise.
And if you already hablas español,
vamos a ser tus nuevas amigas. We'll be your friends for the non-Spanish speakers.
New episodes every Monday and Thursday.
Hosted by Acast and available to all audio platforms.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Salut, c'est Mimi Hegel, et vous écoutez House of the Dragon, le podcast dans lequel Tequila Tex et moi, on débriefe chaque épisode de la série qui nous ramène à Westeros. Ceci est un replay de live Twitch, ce qui peut expliquer son aspect un petit peu chaotique. Retrouvez-nous en direct chaque mardi à 21h sur twitch.tv/MYMYHGL. Et pour info, chaque lundi sur mon Patreon, je publie le récap rigolo de l'épisode avec plein de blagues débiles dedans. Donc si vous aimez le snip snip, rendez-vous sur patreon.com/MYMYHGL. Et bonne écoute! Are you ready?
Ouais, je suis prêt. Comment ça va? Ben, toi, comment ça va?
Bah, écoute, moi, ça va super. Je vous le dis, je l'ai dit à Tequila Tex, je vous le dis. Je suis ultra stressée, je sais pas pourquoi, pour quelle raison ce soir. Maybe j'ai mes règles, maybe j'ai un sponsor, maybe je suis arrivée un peu en retard pour ce live, on sait pas. Trois raisons.
On parle librement,
permises,
en tout cas.
Mais je vous le dis, bizarrement dans un niveau de stress absurde par rapport à. Il faut juste parler d'un épisode de série que j'adore avec une personne que j'adore et devant un public que j'adore, évidemment. Donc tout ira bien, mais je vous le dis, je suis un peu stressée. Donc si vous me trouvez un petit peu fébrile là, c'est normal. Ça va bien se passer. On travaille dessus. Est-ce que t'as kiffé déjà l'épisode de la semaine dernière et l'épisode de cette semaine? Et comment, est-ce qu'on est toujours fan de House of the Dragon? Est-ce que Hot D is still hot?
L'épisode de la semaine dernière m'a fait m'énerver contre mon devant mon écran, puis dire waouh qu'est-ce que ça veut dire, et puis dire waouh en fait c'est trop bien.
Le fait que Lénor il soit pas mort, tu l'as vécu comment?
Bien,
parce qu'on
bien.
En a parlé.
Incroyable.
Alors la semaine dernière,
incroyable,
le live était avec Fabrice Florent qui n'a pas lu les livres, donc il avait pas de bail sur Lénor il est censé mourir et tout. Et moi, lui, quand il a vu l'épisode, il était là, trop marrant ce fake out. Et moi, j'étais vraiment en mode, mais je pète un câble, genre moi-même je suis choquée, alors que je me suis tapé les 1000 pages, tu vois, quand même, calmons-nous. Toi, tu l'as bien aimé, ce...
Je m'exprède un peu.
N'hésite pas. Manétire-toi comme Jaja.
Encore une fois, la série apporte un complément au bouquin avec intelligence. apporte une deuxième lecture des bouquins avec intelligence, dévoile la vérité derrière les supputations des narrateurs des bouquins avec justesse et intelligence.
Et c'est malin. Parce
c'est
que
trop
ça se tient.
Bien foutu, parce
donc
que
dans
ça
le
marche.
Bouquin, Lénor il meurt. Lénor est mort. Il s'est fait planter par son amant Karl lors d'une bagarre de taverne, peut-être fomentée par Damon qui aurait payé Karl, peut-être pas, on sait pas. Là, on a la série qui nous dit clairement il est pas mort. Et en fait, ça se contredit pas tant parce que le livre est tellement raconté par des gens qui étaient pas là au moment où les choses se sont passées qu'en fait, peut-être il était pas mort et c'était pas lui et il a vécu. Alors, on sait pas s'il reviendra dans l'intrigue, hein, mais du coup, dans le bouquin, il est mort. Donc, on peut pas vous spoiler est-ce qu'il va revenir ou pas. Littéralement, nous, on n'a pas l'info qu'il est pas décédé. Donc, on est comme vous, dans le flou. Mais s'il revient, ça sera intéressant de voir comment il réussit à le faire revenir, quoi.
Ça va être compliqué de le faire revenir, je pense, sans contredire.
Je pense aussi. Alors, il y a une théorie comme quoi il prendrait. En gros, il y a un, sans rien vous spoiler, il y a un moment où il y a un autre personnage, Velaryon, qui va arriver dans l'intrigue à un moment. Et du coup, il y a des gens qui disent peut-être que ce personnage-là, ça sera Lénor, et que du coup, il y aura des gens dans la série qui le reconnaîtront, mais qui feront peut-être semblant que non et tout. Bon.
Wow.
On verra quand on y sera. Peut-être que ça sera juste, il est parti. Et au moins, on sait qu'il n'est pas mort et qu'il a vécu une vie qu'on lui espère longue, heureuse et...
Ah bravo, soit je sais pas où.
Et combative, en tout cas à l'Est, à l'Orient.
Ouais, parce qu'il a envie de se taper quand même.
Ah, il a très envie de se taper, il a très envie de faire la guerre, il a très envie d'être avec son petit gars Karl et finalement d'être libre, quoi.
Il y a bien des Second Sons ou des... Ou une compagnie de Sellswords qui vont lui prendre, non ?
Oui, on a même relativement à un moment, il y a même des gens de Westeros qui vont aller fonder leur propre compagnie de mercenaires à l'Est parce qu'ils ne veulent pas rester ou séjourner à Westeros. Du coup, oui, on va avoir de quoi faire avec... En tout cas, si Lénor veut trouver un endroit où bosser, il va trouver. On s'inquiète pas trop pour lui.
Big up.
Qu'on le reverra, peut-être pas, mais big up à
toi,
lui.
Lénor.
He's not dead.
Franchement,
et c'est important.
Et j'aimais bien le nouvel acteur en plus. J'aimais pas le premier.
Ah, il était trop cool. Ouais.
J'aimais pas le premier, je le trouvais.
Le deuxième, parce que le premier c'est un gamin, tout petit dans l'épisode 1, mais que on va pas se mentir, personne s'en souvient.
Le deuxième, mais il avait pas de ligne, non ?
Non, il avait pas de ligne. Il était juste là au tournoi de. Rappelez-vous quand Viserys était une personne relativement vivante. Et que Rhaenyra était toute petite et qu'elle était là. Oh, il y a des. Criston Cole, c'est un Dornien, c'est un peu sympa. Et ah, mon tonton Daemon, il est un peu sympa. Eh bien, il y avait deux petits enfants Velaryon, Lena et Lénor, à l'époque.
Ouais.
Ils étaient là. Mais du coup, il y a eu trois acteurs, deux et demi, on va dire.
Donc, J'ai trouvé l'épisode. J'ai trouvé le twist incroyable. J'ai trouvé le contenu de l'épisode super bien avec. Là, on parle du précédent, hein. On parle de l'épisode 7. Hein.
Oui.
Donc, avec le vol de Vhagar, très très cool. Alicent qui sort la dague. J'ai trouvé qu'il y avait plein de moments forts.
L'épisode précédent, tous les moments, après dans celui-là aussi, mais tu retiens ta respiration et t'es là.
Extrêmement bien écrit, extrêmement bien foutu. Quand elle lui dit, on voit ton vrai visage. C'était fabuleux.
Devant tout le monde et tout,
ouais,
c'est là.
Ouais,
aïe,
ouais.
Aïe, 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 aïe.
Ouais, c'était vraiment les graines plantées pour la Dance of Dragons. Et là, l'épisode 8.
Ouais.
Je trouve démarre un peu plus doucement avec une intrigue sur les Velaryon qui au final
Oui, en fait c'est alors on va en parler plus en détail mais ça commence avec une intrigue de succession sur Driftmark, du coup la marque en français, le siège de la famille Velaryon et pas sur le trône de fer. Mm-hmm. On n'en est pas au point où on attend de savoir qui va hériter du trône de fer puisqu'il y a toujours la version légitime qui est c'est Rhaenyra. En fait son père est toujours vivant, il est roi, il l'a nommée héritière.
Ouais.
Mais
donc là,
les
y a
gens
la question
du coup,
de
prennent des chemins détournés pour contourner cette succession légitime pour dire non mais il y a peut-être cette succession elle est pas ouf quoi.
Qui au final je comprends pourquoi elle est là cette intrigue mais tu vois je me dis bon Corlys il va revenir c'est quoi Corlys il est tombé malade.
C'est une inconnue.
Il est tombé malade bon.
Bon commençons, lançons-nous dans le débrief de l'épisode qui passe par le résumé aussi de ce qui se passe. En effet, l'épisode commence avec donc Corlys Velaryon, le serpent de mer qu'on adore et qu'on connaît, a apparemment été blessé lors de la guerre dans les Stepstones, ce qui continue à faire rage car on n'a toujours pas réglé ce problème. Et il a été blessé à la gorge, il est tombé à l'eau, il est actuellement en route pour revenir à Driftmark où est le siège de sa maison, mais c'est pas extrêmement sûr qu'il survive à ses blessures. Et du coup, on commence à se dire, bon, il va falloir réfléchir à la succession de Driftmark, tout simplement, juste de cette seigneurie-là, si jamais il meurt. Le problème, c'est que il a des héritiers très évidents en termes administratifs, on va dire, qui sont les enfants de Rhaenyra et Laenor, avec des guillemets, à savoir Lucerys Velaryon. Dans l'épisode précédent, Corlys lui parlait, lui disait « Driftmark te reviendra, tu seras Lord of the Tides » et Lucerys lui a dit « I don't want it ».
Il a expressément, il a donné explicitement
la meilleure
son
raison.
Vœu.
Oui.
Son, ouais, il l'a dit à sa meuf.
Corlys, oui, oui. Corlys a clairement exprimé.
Lui, il est intéressé. Bon, on sait ce qu'on lui reproche dans cet épisode, c'est d'être intéressé uniquement par les livres d'histoire.
Oui.
Et non pas par le sang. Lui, c'est un Velaryon qui sera.
Oui,
qui
tant que c'est en gros pour lui, tant que c'est un Velaryon sur le papier,
ouais,
ça suffit. Et pour femme et son frère, être un Velaryon par le sang, c'est plus important qu'être un simple Velaryon de papier. Mmh. C'est l'opposition qui les sous-tend un petit peu dans l'épisode précédent, mais au final, c'est pas tant le sujet, et ça se cristallise du coup dans cet épisode 6 ans après, puisqu'on commence 6 ans après l'épisode précédent. On adore les time jumps. Alors normalement. A priori, on en a fini. Alors, pour cette saison, évidemment, avec des gros sauts temporels et des gros changements d'acteurs et d'actrices, je pense, même si c'est pas sûr, qu'on peut dire qu'il y aura pas de gros changements d'acteurs et d'actrices dans la saison prochaine, normalement, puisqu'elle vient d'être renouvelée. House of the Dragon était prévue pour une saison officiellement, et elle a été renouvelée une fois que l'épisode 1 a bien marché. Mais normalement, tous les acteurs et les actrices, notamment pour eux, les gamins qu'on voit vont rester un petit moment, donc vous devriez pas trop subir des nouveaux changements.
Ça va pas être trop perturbant, quoi.
Mais du coup, oui, Corlys, qu'on a vu promettre Driftmark à Lucerys dans l'épisode précédent, est actuellement trop blessé pour refaire entendre ses volontés de succession, ce qui donne un petit peu des ailes à son frère pour dire du coup, est-ce qu'on pourrait pas faire autrement, parce que l'incertitude, c'est est-ce qu'il va rentrer vivant ou pas? Et s'il rentre déjà mort, parce que peut-être on va accueillir un cadavre plus qu'un homme, est-ce qu'on pourrait pas en profiter pour changer un petit peu ce qu'il a dit, quoi?
Moi, donc, j'ai eu du mal à m'intéresser à cette intrigue.
Est-ce que
parce
tu
que je connais
penses...
la suite.
Ouais, mais je pense que
donc
même sans connaître la suite...
un peu genre, on s'en fout un peu, non?
Dites-nous sur le chat si ça vous a passionné ou pas, cette intrigue de succession Velaryon, et si vous avez pigé les enjeux et s'ils étaient clairs pour
après,
vous.
Après, les enjeux, je les pige, et c'est pour ça que ça m'intéresse
quand
même.
Non, toi, je sais que tu les as, tu vois, pas de souci.
Je m'y intéresse parce que je capte les tenants, les aboutissants du truc, il n'y a pas de problème. Ça m'intéresse, malgré le... Tu vois.
Ouais, mais je sais pas si...
Malgré
si,
le caractère,
vraiment,
on sait déjà ce qui...
Je sais pas si les gens qui regardent, entre guillemets, juste la série, se rendent compte que dans... Le jugement de succession de Velaryon, il y a beaucoup de la suite de Rhaenyra qui se joue.
Ouais, ouais.
Parce qu'en gros, si le fils de Rhaenyra est considéré comme non légitime à l'accession de Driftmark, ça ouvre une porte quand même énorme dans la légitimité de Rhaenyra. Parce que ça dit, si ses fils sont pas des Velaryons, maybe c'est des bâtards. Si elle a fait des bâtards, en plus c'est une femme, maybe non.
Mais en ce
Et
début
du coup,
d'épisode,
on en revient à l'épisode précédent, quoi.
En ce début d'épisode, moi, je vois ça comme un énième seau d'eau apporté au moulin de on doute de la légitimité des enfants de Rhaenyra, en fait.
En vrai, c'est ça le rôle.
C'est bon, on a compris, tu vois.
Si les enfants de Rhaenyra étaient légitimes, Vaemond ne ferait pas du tout chier. Littéralement, son propos, c'est.
Mais moi, j'étais un peu,
la maison
j'étais un peu Viserys, quoi, dans cette tradition-là.
T'étais là.
Pourquoi on remet les
choses
réglé. Encore? C'est déjà réglé. Pourquoi on en reparle?
On a signé les contracts.
Exactement.
Tout est bien. Et d'un coup, on
doit
changer. C'est
exactement. Bon. Donc, c'est d'autant plus fort quand Viserys débarque Là, je fais
J'ai arrêté de respirer.
Je saute un peu dans le temps, mais.
Non, mais tu sais quoi, Let's go.
Quand Viserys fait son entrée et qu'il en a ras le cul et qu'il est et qui se traîne jusqu'au truc, mais qu'il est quand même là et qui met quand même la pression
mais
avec son masque.
Mais il traîne l'au-delà avec lui, quoi. Ouais. Il est vraiment en mode, oh, je suis sorti de l'enfer, je le traîne dans mes poches, là.
Le fantôme
tout ça
de l'opéra.
Pour vous dire,
et genre,
j'ai
I will sit on the throne today.
Ouais. Mais parce qu'il est là, j'ai pris une décision il y a 15 ans et vous êtes toujours en train de me choper les couilles là-dessus. C'est quoi ça? C'est pas permis.
Et il y a Hightower qui est assis sur le putain de trône.
Le mec est assis. Mais alors, j'ai eu des questions sur, il est assis sur le trône, mais bon. Ok.
Donc voilà. Parenthèse refermée, on en reparlera plus tard de
Viserys.
La
succession Velaryon, en vrai, on s'en fout un peu, mais ça donne l'occasion à tout le monde de se réunir à King's Landing.
Exactement.
Et ça, c'est En gros, on réunit la poudre, on réunit le feu, et il y aura une étincelle qui met le feu aux poudres, car sinon il n'y a pas de série, hein, après. Et bah, l'étincelle commence aussi quand la personne qui fait l'extincteur, à savoir Viserys Targaryen, rend probablement son dernier souffle à la fin de cet épisode. Je sais que ça fait 8 épisodes que le mec a l'air d'être au seuil de la mort, mais je pense qu'on peut dire le mec est dead, c'est assez sûr. Il est vraiment dead. Hein. Viserys, rip. Pas le pire roi, au final.
Est-il mort ? La réponse est oui.
Oui, bah, tu sais quoi ? Je l'ai pas eu. J'ai pas eu cette question de est-il mort ? J'ai vu beaucoup de gens s'interroger sur Internet et j'étais là, ça me semble clair et en même temps, je peux pas les blâmer vraiment au mariage de Rhaenyra.
Moi, je pense qu'il est pas mort à l'écran, en fait. Je pense que Alicent, elle se barre dans ses quartiers.
Bah, il meurt sur le générique de fin. Il a son dernier souffle. En fait, Alicent est avec lui dans son lit.
Je pense qu'Alicent
ne
se rend pas compte qu'il est mort.
Non. Parce que je pense qu'elle, malheureusement, elle passe cette soirée tous les soirs depuis un moment, amener un petit peu de lait de pavot et de l'écouter dire des choses qui n'ont pas trop de sens et tout.
Milk of the Poppy.
Oui. Et on parlera de ce qu'il lui dit ce soir-là qui a un peu plus de sens peut-être que d'habitude. Mais elle part en mode, ok, à demain, tu vois, genre, bah, bonne nuit, bonne nuit, mon époux qui est un zombie finalement. Et il se trouve que c'est sa dernière nuit, mais elle pouvait pas le savoir. Elle le savait pas. Moi, je sais pas comme si elle savait qu'il allait mourir. Avant ça, du coup, on a eu, voilà, oh non, Driftmark, l'héritier, il faudrait qu'on aille à King's Landing pour régler tout ça. Ok, cut to, Daemon Targaryen, avec ses petites bottes en cuir, va récupérer des œufs de dragon.
Donc ça veut dire qu'il y a des nouveaux enfants à qui donner les dragons.
Alors, il y a des nouveaux enfants à qui donner les dragons, mais c'est pas forcément lié. Les dragons peuvent faire des œufs même quand il n'y a pas d'enfants. C'est pas un truc télépathique dès que des enfants Targaryens naissent, les dragons font des œufs.
Connement, je me suis imaginé que c'était les œufs qu'il allait chercher pour les gosses qu'il a eu avec Rhaenyra.
Il est très content de les avoir, ça se voit. Il arrive vraiment en mode, c'est mon daron quand il rentre des coulemelles, tu vois. Il est là, oh là là, bonne récolte et tout. Et il est content parce qu'il y a eu 3 œufs, donc Syrax, le dragon de Rhaenyra. Donc là, on est à Dragonstone, père dragon, le fief de la famille Targaryen, où Rhaenyra est allée vivre depuis longtemps, puisque à King's Landing, elle n'était pas bienvenue. Ok, vous l'avez. Et c'est là où les dragons vivent aussi, c'est pour ça que ça s'appelle Dragonstone. Et c'est là où les dragons domestiqués de la famille Targaryen, à l'exception de ceux qui sont à King's Landing, qui appartiennent du coup à Aegon, par exemple, et à Aemond, qui a récupéré Vhagar, donc tout ça, ils sont à Fosse Dragon à King's Landing. Les autres sont à Dragonstone. Et Syrax, le dragon de Rhaenyra, a donné... Alors on ne sait pas comment, j'ai eu beaucoup de questions de qui a fécondé Syrax, pourquoi elle a eu des dragons, est-ce que c'est le dragon de Daemon et le dragon de Rhaenyra qui ont eu des bébés ensemble et tout, on ne sait pas. En vrai, on ne sait pas comment les dragons se reproduisent. Tout ce qu'on sait, c'est que des fois, ils font des œufs. C'est tout. Et des fois, on croit que c'est des mâles et en fait, ils font des œufs. Des fois, ils font des œufs et après, ils n'ont plus trop l'air d'être des femelles. Donc, maybe, ils sont hermaphrodites. Enfin, là, on vient d'apprendre un truc de ouf qu'on ne savait pas, qui est à quoi ressemble une couvée d'œufs de dragon. On ne le savait pas du tout. Et quand Daemon, il commence à fouiller dans un truc chaud, j'étais là... Oh, on va voir comment les dragons... Ils naissent, genre, comment les œufs, ils sortent de terre, et c'était déjà ma boule. Donc, je n'ai pas plus d'infos à vous donner sur oui, mais qui l'a fécondé et tout, on ne sait pas. Mais Daemon va chercher 3 œufs de dragon, et effectivement, ça tombe pas plus mal, puisqu'il a 3 enfants, enfin, 2 enfants et 1 en cours actuellement avec Rhaenyra, puisqu'on a passé 6 ans, et ça charbonne en termes d'enfantement, là, à Westeros. Donc, on a Aegon III, Targaryen, qui est l'enfant de Rhaenyra et Daemon et qui est un petit garçon blond. On a Viserys de Targaryen qui est l'enfant de Daemon et Rhaenyra et qui est un encore plus petit enfant blond. Et Rhaenyra est enceinte du 3e. Du coup, voilà, c'est pour ça qu'il est content qu'il y ait 3 œufs. Il est spécialement content, mais après, c'est les dragons, c'est magique.
Donc c'est bien, c'est eux, ils sont destinés à eux.
En tout cas, c'est à eux qui vont les confier. Oui, oui, ils vont pas. À la base, ils avaient dit si jamais le dragon de Rhaenyra refait une portée, on laissera Aemond, qui à l'époque n'avait pas de dragon, en choisir un. Ça faisait partie de la proposition de mariage de Rhaenyra à Alicent, de « on marie mon fils aîné, donc Jaeserys, l'aîné des bâtards finalement, à Elena, la fille d'Alicent et de Viserys. Et si jamais le dragon de Rhaenyra refait une portée, on laisse Aemond, qui miskin, il a pas de dragon, en choisir un. Entre-temps, Aemond, il a dit « je vais prendre la Harley ». Voilà. J'ai pas mon permis B, mais je vais prendre la Harley quand même.
C'est plus un Airbus qu'une Harley, hein.
Ouais, j'avoue. Je vais aller conduire le 747, là, dans le plus grand des calmes. Du coup, il a plus besoin de dragon. Elena, elle en a un. Aegon, il en a un. Il y a trois Targaryens, par contre, qui n'en ont pas. C'est les enfants de... Enfin, qui n'en ont pas, ou qui n'en ont pas encore. C'est les enfants de Rhaenyra et Daemon. Du coup, c'est bien ces trois œufs. On va voir ce qu'ils vont devenir. On m'a demandé, est-ce que c'est les trois œufs de Daenerys Targaryen? Je peux vous répondre que, a priori, sauf s'ils changent un truc dans la série, non. Peut-être que dans la série, ça va devenir ceux de Daenerys, auquel cas, bah, sorry, je pouvais pas savoir. Dans le bouquin, a priori, non, on est un peu tôt pour que ce soit les œufs qui deviendront ceux des dragons de Daenerys. Et, a priori, fun fact, les œufs qui deviendront les dragons de Daenerys probablement ont été volés déjà. À une dragonne du coup de King's Landing par une intrigante femme qui s'est enfuie à Essos, donc à l'est, qui a fini par devenir de rien du tout la quasi-gouvernante de Lys, qui est une très grande ville, ou de Myr, je sais plus le nom de Lys, qui est une très grande ville d'Essos qui fait partie de la fameuse Triarchy, qui est devenue de courtisane quasi-esclave sexuelle, une des chefs de la ville, voire la chef de la ville, et qui peut-être, selon la légende, aurait battu sa fortune sur ces trois œufs de dragon qui ont disparu en même temps qu'elle, qu'elle aurait du coup revendu en arrivant à Essos pour faire sa fortune de départ, et qui, 100 ans, 150 ans plus tard, se serait retrouvée au mariage de Daenerys, ça se tient. Mais du coup, a priori, non, les œufs de Syrax qu'on voit là, c'est pas ceux de Daenerys. Est-ce que t'as kiffé ce petit moment lore œuf de dragon?
Ouais, bon, c'est rapide, hein.
C'est rapide. Mais moi, j'ai bien aimé voir, enfin, tout, vraiment tout ce qu'on peut apprendre de plus sur les dragons. Moi, je suis contente parce que je suis là. En fait, on en sait vraiment trop peu sur ces bêtes qui font partie du quotidien de cette famille qui maintenant est quand même le sujet de la série, tu vois. À la limite, quand il y avait que Daenerys, bah, elle a pas d'infos, il y a aucun Targaryen pour l'aider et tout. Maintenant qu'ils sont pleins, c'est bien d'avoir un petit peu des bails. Oui, c'est dans le livre l'histoire de la personne qui, alors c'est pas marqué noir sur blanc, et ses œufs ont fini par être ceux de Daenerys Targaryen, mais il y a une meuf qui se barre à Essos avec trois œufs.
Et on voit plus les œufs après.
Voilà, et on les voit plus après, et dans Game of Thrones, 100 ans après, il y a trois œufs qui sont à Essos. Bon, comprendra qui voudra.
Après, il y a aussi, dans le bouquin, les œufs sont présentés comme venant de Hachaï.
Oui, ah oui, c'est vrai. Après, est-ce non, que c'est le, pas dans, aussi dans, un dans truc la série, de...
Ouais,
je sais
dans
plus
la série.
Si dans le bouquin, c'est aussi le cas.
Dans la série, ouais.
Mais est-ce que c'est pas aussi un truc d'effet de manche de genre...
Ouais,
et
ouais.
Un cadeau qui vient du truc le plus loin qu'on connaît et pas du tout de... Je l'ai acheté il y a deux rues à une meuf qui vendait des œufs de dragon. Waouh ouais. Un truc très rare. Maybe, ouais. C'est possible. Ça bullshit
après,
un peu.
Après, s'ils viennent de Hachaï, on en revient à...
On fera un autre
On en revient
point.
À d'où viennent les dragons, est-ce qu'il y avait déjà des dragons à Hachaï Est-ce qu'on en a encore, etc., etc.
Est-ce qu'on les verra un jour? Est-ce qu'ils viendront du fond des mers? On ne sait pas.
Voilà.
On a ensuite l'occasion de rencontrer Jake. Alors, je vais l'appeler Jace, hein, parce que Jaceris, c'est pas prononçable comme mot. Donc, Jace, le premier-né de Rhaenyra et Laenor Velaryon, à savoir Arwen Strong, très clairement, qui est en train de s'échiner à apprendre le haut valyrien avec un maître dans la salle de Dragonstone. Et c'est là où Daemon, du coup, qui a eu le mot comme quoi il y a une succession Velaryon qui va être débattue à King's Landing, vient interrompre la séance pour venir interagir avec Rhaenyra et lui dire « Bon, il faut peut-être qu'on y aille ». Donc c'est la première fois qu'on a l'occasion de voir Rhaenyra et Daemon en tant que couple marié, puisqu'ils se sont mariés à la fin de l'épisode précédent. Et elle est enceinte d'un nouvel enfant. Les enfants qu'elle a eus de son précédent mariage, wink wink, ont bien grandi. Qu'est-ce que t'as quid du changement d'acteur, déjà, pour les enfants? Est-ce que t'es à l'aise avec
Ouais, je les trouve
la gueule
ok, je
les
trouve ok. Je trouve ok. Je trouve qu'on les différencie bien. C'était important.
Ouais. Et en vrai, quand ils étaient plus petits dans l'épisode précédent,
ouais,
Jace et Luce,
ouais.
J'étais là vraiment entre 13 et 11 ans.
Ouais,
ouais. C'est pas hyper clair.
Ouais, ouais. Là, on les différencie bien et on différencie bien les âges. Donc non, pas de problème. Rien à signaler. On apprend un peu de Valyrien au passage. Tout va bien. Moi, j'aime bien ce petit couple Daemon. On est passé du bad boy au père de famille sympa, quoi.
Bah c'est ça,
tu
c'est que Daemon a quand même shifté de je viens de tuer ma femme d'essayer. Il est passé pas loin. Tu vois, il était au mariage de Rhaenyra, elle était là, bute tout le monde et emmène-moi. Il était là,
il était
me tente pas frère, je vais le faire.
Ouais,
me tente
ouais.
pas, me chauffe pas, je vais le faire.
Ouais,
au final,
ouais.
Il l'a pas fait parce que c'est ouais. Damon, il fait jamais.
Impuissant, mais il fait. Voilà. Il y en a son troisième.
Big talk no game parfois.
Ouais,
hein.
Il a eu deux gamins avec Lena, trois avec.
Non, on sait pas comment elle l'a motivé à lui faire deux gamins, putain, mais elle avait l'air d'avoir trouvé la Damon touch.
Et trois avec Rhaenyra quoi. Donc l'impuissant.
Pour un mec impuissant, ça charbonne.
C'est c'est du passé quoi.
L'impuissant, c'est un état d'esprit finalement. C'est l'amitié, c'est les amis qu'on s'est fait.
Accéder au bois bandé, le bois bandé.
Le fameux bois bandé cher à George R. R. Martin et ses traducteurs, voilà. Puisque c'est un terme que je pense je n'ai vu que dans Game of Thrones de ma vie, écrit noir sur blanc du bois bandé.
Ah oui, c'est,
oui, c'est un truc, je crois,
ah,
hein, c'est
pas.
Un truc qui existe. Parce
ah
que
non,
je crois.
Je parle du bois bandé qui est un truc qui existe dans la vraie vie en fait.
Peut-être que je suis un culte de la vraie vie, c'est très possible.
Peut-être que tu confonds la vraie vie, Westeros, je sais pas ce que
c'est très
moment.
Possible. En même temps, le bois flotté, ça existe dans la vraie vie.
Oui, le bois flotté, mais le bois flotté et le bois bandé, c'est pas la même chose. Oui. En tout cas, il y a un morceau de Singy là où il dit « J'ai bu une liqueur à base de bois bandé, cette fois-ci, je vais scorer », tu vois. Un truc comme ça, un
vieux morceau. Vous l'avez chez vous.
Ta fameuse va m'aimer ou je sais plus avec quoi il fait rimer bois bandé, mais c'est un bon.
Vous
bon
avez
texte,
la bandaison.
Bien bien écrit.
On ne parle pas que du bois.
Et donc bon en tout
Damon,
cas voilà bah, Damon,
Daddy Damon.
New Damon, Daddy Damon, Damon un peu assagi mais quand même qui casse des gueules quand il faut.
Quand il faut, alors il
ben,
fait
moi,
pas que casser des gueules. Hein. Littéralement, il découpe des gueules sans aucune forme de procès. Donc finalement, pourquoi pas. Ça reste notre petit Damon. Si jamais on avait un doute, l'épisode va assez vite nous rappeler. Genre, yes, c'est toujours votre
j'ai
number one.
J'ai adoré ce moment, d'ailleurs. J'ai trouvé ce moment...
Ah oui, c'était un niveau de... Ça nous rappelle un peu, genre, c'est quoi les enjeux. Ouais. Tu vois, c'est vraiment, tu dis un truc de travers, potentiellement, tu vas te faire couper la tête, genre, minute... Deux, c'est bon, c'est ciao. Il y a pas de pourparler, il y a pas de procès, c'est ciao. Avant ça, on arrive au premier conseil royal qu'on voit de cet épisode et où on voit l'ampleur de l'influence que les Hightower ont prise, puisqu'on a Alicent qui du coup siège en régente un petit peu de Viserys qui est clairement indisposé, on va dire, pour ce conseil royal. Et Otto, la main du roi, qui pour le coup est très 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 participatif aux décisions. On voit un conseil royal qui est, j'ai envie de dire, un peu endormi. Il n'y a pas l'air d'avoir de grosses urgences, tout le monde se fait un petit peu chier. Alors, une info intéressante, c'est qu'on a toujours un des jumeaux Lannister qui est là, au conseil royal. Donc il y avait deux jumeaux Lannister, il y avait Tyland et Jason. Jason, c'était le douchebag qui a essayé de pécho Rhaenyra. On sait comment ça a fini. Qui a son mariage
c'est
a fini.
C'est pas lui là, c'est son
frère. Non, c'est son frère.
Ah putain.
C'est son frère plus sérieux qui était celui qui alertait Viserys sur le crab feeder, c'est chaud.
Non, ça a toujours été lui qui était au conseil.
Oui, ça a toujours été lui. L'autre Jason est en fait l'ordre de Castle Rock, donc il n'est pas au conseil. Et c'est bien de noter qu'il y a un Lannister au conseil parce que voilà, c'est des familles qu'on connaît, il a un rôle quand même important. Rappelons que Littlefinger à la base son rôle c'était grand argentier hein, c'était le même, c'est le mec qui gère la thune et la thune important, very important. Et à part ça, on voit que Otto se réépanouit en tant que main du roi sans aucun problème et alors il y a toute une
un maître aussi, il y a le nouveau maître.
Alors il y a un maître qui est le maître Gérard Dill, si je dis pas de bêtises. En gros, il y avait un maître à la base qui est celui qui a mis les asticots et les sangsues etc.
Donc,
sur Viserys, un vieux monsieur. Ouais. Je pense qu'il est décédé hein. Je pense que ce que la série nous dit c'est qu'il est mort de vieillesse. Et le jeune maître qui est joué par un acteur noir qui le supplantait pendant 2-3 épisodes est devenu a priori le nouveau grand maître royal. Donc
il siège nouvellement au conseil.
Tout à fait. Et dans le bouquin, c'est assez clairement sous-entendu que c'est en partie grâce à lui que Viserys a tenu aussi longtemps. Alors Viserys est moins abîmé dans le livre, il est plus en mode une vieille personne en surpoids qui est pas en santé qui est pas dans une santé de fer mais il a pas un œil en moins et un trou dans la joue. OK, le niveau de Viserys qu'on voit dans cette série n'est pas comparable à ce qu'il y a dans le bouquin, mais c'est très clairement sous-entendu que son premier maître était, on va dire, vieille école, et t'es là, on va lui faire des saignées, des sangsues et des asticots, ça marche très bien. Et qu'une fois qu'il a été remplacé par le nouveau maître Gérard Dyle, ça a permis à Viserys de vivre beaucoup plus longtemps qu'espéré. Et donc, de permettre aussi à cette danse des dragons qui est le cœur de la série et toutes ces inimitiés et ces rancœurs entre tous les membres de cette famille de pourrir longtemps. Parce qu'en fait, ça fait 15 ans qu'on est dans cette intrigue au bout de 8 épisodes. Et ces gens-là, ça fait genre l'épisode 2, ils ont commencé à se détester et à se battre pour la succession.
Presque, tu es en train de dire qu'il aurait presque fallu que la danse des dragons aurait pas eu lieu si Viserys était mort plus tôt.
En vrai, il y a moyen. Peut-être que s'il meurt épisode 2, bah en fait Rhaenyra c'est une gamine. Ouais. Tu vois, il y a plein d'autres gens qui décident et il y a au moins une forme de stabilisation plus claire qui se trouve quoi. Là, il a tenu tellement longtemps et il y a, enfin on va en parler, mais il y a plein de moments dans le dîner où ils ont tous l'air d'être un peu en mode, ok peut-être qu'on peut ne pas y aller et être potes. Tu vois, peut-être qu'il y a un truc de.
Ouais, ah oui.
Ça
oui,
fait,
oui.
En fait, ça fait des années qu'ils se regardent en chien de faïence en attendant de dégainer.
Clairement, dans le dîner, c'est la, le grand pardon quoi.
Ouais, et mais je pense qu'ils ont sincèrement envie d'y aller. Tu vois, enfin ouais. Ils ont sincèrement envie de. Pas faire ça, ça fait des années qu'ils se préparent, ils sont tous la main là comme ça, la main sur le revolver à dire le premier qui dégaine je le bute, et ils sont là en même temps si personne dégaine peut-être c'est sympa, mais bon on y arrivera quand il faut. En attendant on a ce premier conseil royal donc qui, bon je vous fais pas les, le topo précis de ce qui est raconté parce que c'est principalement le membre du conseil un petit peu vieux qui radote sur des bails de dette et tout, bon c'est des bails financiers c'est important mais enfin c'est important mais on s'en fout un petit peu. En tout cas, c'est pas à retenir. Ce qui est à retenir, c'est que Alicent préside ce conseil royal sans aucune forme de stress, qu'elle a changé de look et qu'elle a fait changer de look le Red Keep, le donjon rouge, puisqu'il y a des étoiles à sept branches partout. Et donc, les étoiles à sept branches, c'est l'équivalent de si elle avait mis des croix catholiques, enfin chrétiennes partout, c'est-à-dire c'est l'emblème de la religion. Et elle a en plus enlevé des emblèmes Targaryen pour les mettre à la place. Donc, elle est en train aussi d'imposer son aspect religieux dont on avait parlé depuis longtemps.
Ce qui chauffe moyennement Daemon.
Ah bah, Daemon, ouais. Sa religion, c'est les Targaryens, c'est sa famille, ouais, quoi. Il est là en mode, les dieux, les seuls dieux qui ont un peu d'intérêt, c'est nous. C'est les, voilà, c'est à la limite Valyria, quoi. Donc, il est pas ravi qu'elle ait non seulement mis des emblèmes religieux, mais en plus remplacé les symboles Targaryens par des emblèmes religieux. Et Alicent, quand on la voit, elle est en noir, elle a une grosse étoile à sept branches autour du cou, donc c'est vraiment l'équivalent de,
En noir ou en vert?
Ouais, dans le conseil, elle est en noir. Au dîner, elle est en vert foncé. Okay. Mais en vert quand même. Et Rhaenyra est en noir, évidemment. Du coup, on a ce conseil royal où on voit que Alicent et Otto mènent la danse, finalement. Et que, bon, comme d'habitude, ils ont pas l'air de le faire mal. Mm-hmm. Mais ils ont quand même pas l'air d'être les personnes qui sont censées le faire. Donc, finalement, pourquoi sont-ils là? Et c'est le moment où Rhaenyra et Daemon et leur famille, finalement, et leur petite famille, reviennent à King's Landing et où on a les enfants Jace et Luce qui se mettent à s'égayer dans les jardins d'entraînement où ils ont grandi.
Ouais, ouais, ils se rappellent des bons petits souvenirs, quoi. Rappelle-toi, c'était comme ça. Ah oui, regarde ici, ouais, machin. Tac, tac. Et puis après, ils assistent à un combat d'entraînement entre Emond et
Kristen Cole. Ouais.
Et Kristen Cole.
Alors, un combat d'entraînement, ils n'ont pas l'air de retenir leur coup. La masse, ouais,
la masse
d'armes là
la
de
masse,
Kristen Cole.
La masse, tu te la prends dans la gueule.
Tu l'as en vrai, si Emond il esquive pas, c'est quand même globalement un gros tchao, non? Enfin, ça a pas l'air émoussé du tout, cette arme. C'est quand même
c'est
très dangereux.
Pas très crédible. Mais bon, pour les besoins du spectacle, on va dire. C'est
ça rentre
cool.
Dans une forme de storyline de cette saison, voire de cette série, où la mort a l'air extrêmement acceptée, même dans les nobles et tout, où les tournois, tu peux mourir, tu peux te faire vraiment éclater par des chevaliers. Enfin, il y a eu plusieurs occasions où, bah, même quand Kristen a tué Geoffrey devant tout le monde et tout, il y a un peu un côté genre, du coup, n'importe quel noble peut buter n'importe qui dans ce monde, c'est quoi la règle? Et là, effectivement, ce combat, t'es là, si quelqu'un rate son bouclier, c'est quand même un petit peu tight, mais ok. On va dire que c'est un bon dramatique moment.
Donc voilà, on capte que Aemond, il s'est entraîné comme un ouf, que voilà, il en a eu marre de se faire bully, que quand il a chopé son dragon,
ah, il en a eu marre, ouais.
Quand il a chopé son dragon, il a un peu pris la confiance, et je dirais même que suite au moment où il chope son dragon, bah il y a quand même le combat avec les petits Strong, qui se fait quand même couper. Qui perd quand même un œil dans ce combat.
Il perd un œil. Il est désarmé à 1 contre 4.
Ouais, on lui a acheté de la poussière dans la tête, ça machin.
Oui, ils lui ont mis de la terre dans les yeux.
Il se dit, ça n'arrivera plus jamais en fait.
Oui.
Il se dit,
là il s'est
je vais devenir une brute et ça n'arrivera plus, je me ferai plus jamais bolosser.
Et il a charbonné. Le gars, il est devenu énorme et sec. Il a regardé que des vidéos YouTube de masculin.
Il est devenu plus grand que son grand frère.
Juste parce qu'il s'est fait bolos. Ouais.
Il est devenu plus grand que son grand frère et ça c'est très symbolique du fait que puisque son grand frère, il est juste intéressé par violer des meufs et pas du tout être d'ailleurs
violer
pas du tout
des meufs et être en gold up, c'est deux activités qui prennent une journée, hein, finalement.
Et en fait, il a pas spécialement envie d'être.
Il est pas intéressé par être un Targaryen, son frère.
Ouais,
c'est ça le truc.
Exactement.
Et Aemond, il est là, être un Targaryen, c'est la best chose en fait. C'est la best chose au monde. Son frère, il est là, j'ai pas trop envie d'épouser ma sœur. Et Aemond, il est là, c'est trop bien d'épouser notre sœur.
Même
si elle parle aux insectes et qu'elle est bizarre, en fait, c'est trop bien parce que c'est une Targaryen.
Et c'est
trop cool, et après on aura plein de dragons et on sera roi Targaryen. Et Aegon, il est là, oula.
Non, merci, monsieur. Un peu rien à foutre.
Ok, nerd.
Et tu vois, au final, il a le look. C'est bizarre que il a un peu le look qu'aurait.
Il a le anime
en fait,
look.
Non, mais en fait, il a le look qui découlerait du look qu'avait le fils de Doctor Who là, tu vois,
qui avait
l'acteur d'Aegon en fait.
Aegon jeune, Aegon dans les deux épisodes précédents, donc avec les cheveux longs et qui était là en mode je m'en fous, je veux juste faire des petits sourires en coin et me branler devant une fenêtre. Cet acteur là, c'est le fils de David Tennant qui a joué Doctor Who, le fils de Doctor Who, parce que moi-même tu m'as perdu, j'étais là attends quoi. Ok, ce gars là effectivement. On dirait plus que c'est lui qui a grandi plutôt que le petit gamin.
Donc il y a eu un inversement en fait, que je trouve hyper intéressant.
Mais en vrai ça marche parce que l'acteur là actuellement dans cet épisode, l'acteur qui joue Aegon a 27 ans et l'acteur qui joue Aemond en a 20.
Donc
ils ont la bonne différence d'âge.
Sauf que dans la série, c'est Aegon le plus âgé.
Ma petite sœur, elle était plus grande que moi, j'étais en 3e, Lago, elle était déjà plus grande que moi, c'était humiliant pour
ça arrive dans la vie principalement et ça dénote aussi
dans un monde où la génétique a l'air quasi magique, en tout cas chez les Targaryens, tu te dis ah c'est pas inintéressant.
C'est narrativement intéressant le fait que le grand costaud dans l'histoire maintenant c'est Aemond en fait.
Et du coup c'est pas le premier né, et même si Alicent gagne,
on lui a jamais rien donné
combat,
donc il a dû se battre pour l'avoir.
Aegon qui va être roi, mais
on lui a jamais rien donné dans la vie. Il a dû, c'est ça, les deuxièmes nés, c'est toujours ça. Les second sons, ils doivent toujours se battre pour avoir ce qu'ils veulent.
Et c'était la discussion de fin de l'épisode 2, je crois, où Daemon venait voir Corlys pour faire une alliance contre le Crab Feeder, contre la vie de Viserys, et où lui disait, en tant que second sons, en tant que deuxième fils, rien ne nous est donné, on doit le prendre. Du coup, c'est un thème qui continue à sous-tendre la série, même dans cet épisode où on voit pas Corlys et où Daemon n'a encore une fois que très peu de dialogue. Il y a toujours ce truc de on est les deuxièmes nés, il faut faire notre propre légende. Et Aemond, il a pris la petite pilule rigolote des Targaryens, il l'a prise tous les matins pendant toute sa vie. Alors vraiment, il est là, I love la Targaryen énergie, et tu sens qu'il est... Le mec est intense, quoi. Il est focus, il est là.
Il est méga intense.
Vous savez ce que j'aime? Être blond et avoir des dragons.
Super. Trop bien. Et il est un petit peu une sorte de miroir déformant de Daemond, en fait.
Ah bah,
tu vois.
Alors déjà, qu'on dit des interactions entre Daemon et lui, c'est incroyable.
Aemond, c'est l'anagramme de Daemon.
Ce jour-là, George R. R. Martin, il s'est servi un grand café, il a vidé dans son évier, il a dit, tu sais quoi, j'ai pas besoin, change une lettre. Il était en gold up anyway.
Moi, je trouve qu'il a dit justement, on va faire un truc gaulerie, ces deux personnages sont l'un et l'opposé de l'autre, on va les...
Mais voilà, il fait des trucs gaulerie avec les noms tout le temps dans les
temps.
Enfin, si le truc gaulerie, c'est juste, ils vont avoir le même nom, c'est chiant dans les temps.
Avec la lettre, tu vois, avec la petite lettre.
Et ça, trois coup, d'avoir Gaon.
Non, mais du coup, ça envoie un message.
Oui, ça envoie un message. L'un est le miroir de l'autre, d'accord.
Voilà.
Mais
c'est tiré par les cheveux, mais c'est cool.
C'est un peu.
C'est cool.
C'est tiré par des câbles de chantier. Là, c'est pas des cheveux.
C'est cool. Moi, je regardais la preview. Tu l'as pas regardé, toi, la preview.
Non.
Moi, je regardais la preview de la série avant que la série sorte. Et je me disais, pourquoi Matt Smith, il a un œil en moins?
Mais parce qu'on dirait la même personne.
C'est trop bien!
Mais les gens, ils sont un peu perdus. Il y a des gens sur le chat qui disent, en vrai, je m'y perds un peu avec tous ces acteurs. Et quand, en plus, là, dans cet épisode, il y a trois Aegon Targaryen qui sont mentionnés.
Ouais.
Il y a Aemond Targaryen, il y a Daemon Targaryen, il y a Vaemond Velaryon. Enfin, tu vois, t'es là. Bon, il y a Rhaenyra, Rhaenys et Rhaena qui sont dans la même scène.
Si vous êtes pas prêt pour cette série, c'est que vous la méritez pas en fait. tout simplement, en fait.
Le mec est snob. Non.
Si vous êtes pas prêt à comprendre la différence entre les noms et l'ordre des lettres, et que vous, c'est que vous avez peut-être pas bien suivi à l'école maternelle, peut-être. Et peut-être que les séries télé, peut-être que vous feriez mieux de regarder Rings of Power, ok, ou je sais pas quoi, tu vois. Mais tu veux dire
Rings of Power. Je sais pas rouler les R, ça ne marche pas.
Rings of Raynor. Celebrimburi.
Est-ce que tu peux dire
Stormimburtator.
Rhaenyra Targaryen et Rhaen avec les R roulés.
Rhaenyra Targaryen et Rhaen. Non mais justement, c'est ça la différence entre les deux séries. Clipper, c'est qu'il y en a une qui te prend pas pour un con, il y en a une qui en fait pas des tonnes, il y en a une qui est pas en train de te dire « Je voudrais un peu plus de mozzarella sur mon sandwich !» Tu vois ? Et il y en a une qui fait n'importe quoi. Et voilà, c'est tout.
On fera bientôt un podcast qui consiste à juste rager sur Rings of Power, mais j'ai toujours pas regardé, donc je peux pas vous en parler, mais je pense que je vais être un petit peu saoulé.
Je hate watch avec de plus en plus de plaisir lugubre. C'est ridicule.
Mais j'ai vu des gens qui me disent c'est mieux que House of the Dragon et je suis là, je pense que vous mentez, maybe, probablement.
Non mais pour trouver ça mieux que House of the Dragon, ce sont des gens qui ne comprennent pas ce que c'est que l'écriture, qui voient des informations à l'écran et c'est comme des formes et des couleurs et ils appuient sur les
like tears in the rain.
Ouais, mais
c'est pas vrai. OK, vous avez le droit d'aimer Rings of Power. Il y a pas de problème. J'ai plein de gens qui m'ont dit moi j'aime Rings of Power justement parce que c'est plus lent que House of the Dragon qui se passe sur 15 ans en 8 épisodes parce qu'on n'a pas des changements d'acteurs tous les 4 matins parce qu'ils
ouais,
sont pas
parce qu'on est des
prénom.
Gros acteurs bolos.
On a le droit de laisser les gens aimer ceux qu'ils
veulent. Il y en a aucun qui est charismatique.
Et même aimer les deux.
Il y en a aucun qui est charismatique.
On en parlera dans notre stream.
On me trouve un acteur charismatique dans Rings of Power s'il vous plaît quoi.
Speaking of personne charismatique, on n'a pas parlé d'un truc, c'est que quand Rhaenyra et Daemon arrivent à King's Landing, non seulement ils trouvent personne pour les accueillir formellement, à part un random gars qui est le John Malkovich, là, qu'on a déjà vu croiser,
ouais.
Mais surtout, ils vont voir Viserys. Et ils arrivent tous les deux seuls, d'abord, tous les deux, sans Alicent ni rien, dans la chambre de Viserys. Et en vrai, c'est le premier aperçu qu'on a de Viserys dans cet épisode, dans son épisode qui est son épisode final, et la première fois qu'on le voit depuis l'épisode précédent où il avait déjà l'air à un éternuement raté de décéder, mais c'est le cas depuis l'épisode 1. Et là, c'est la tristesse, c'est le deuil. C'est,
il est mal.
C'est l'étoile d'araignée sur le modèle de Valyria. Ouais, c'est... Ouais.
Il est très mal. Je pense qu'à un moment, déjà, il se plante. Il comprend pas qui est sa fille.
Oui, au début, il lui parle comme si c'était Alicent, ouais. Et ça deviendra, du coup, un retournement de situation à la fin, quand voilà. Il parle à Alicent en pensant que c'est Rhaenyra.
Donc ça, c'est un exemple de « il perd la tête
oui. »,
et ça va être important par la suite.
Il confond les gens.
Ensuite, il lui présente les gamins, il est trop content de voir ses enfants.
Il a toujours trop aimé avoir des petits-fils, des petits-enfants. Il est trop content, en plus, il y en a un qui s'appelle Viserys, et il dit
« a name fit for a king ».
Un bon nom pour un roi, je suis là, t'as raison. Mais c'est ouf comment, épisode 1, on était là, mais sors-toi les doigts, prends des décisions, t'es le pire roi. Ouais. Et là, on est là, you did your best, tu étais le meilleur, ce good ass boy, Viserys, tout le monde t'aime.
Franchement, je t'aime
bon,
trop, guéri. Franchement, j'aime trop. Et donc, il est mal, et Rhaenyra lui met un petit peu la pression du genre, il faut bien que tu leur fasses comprendre que qui est-ce qui décide. Et lui, Otto qui est payé pour ça. C'est Alicent qui prend ses trucs. Et Rhaenyra et Daemon lui disent, non, il faut que tu montres que c'est quand même toi le roi. Et au début,
il dit un truc où il a pas tort. Il est là, mais la guerre dans les Stepstones, on l'a réglé il y a 15 ans. Pourquoi c'est encore un sujet? Alors il dit ça, le gars est sur son lit de demi-mort là, et même Daemon, il a une petite tête en mode. Ouais, j'avoue, j'ai pas. En fait, Daemon, il s'en veut un peu, tu vois. Il est là, j'ai pas été au niveau, j'ai pas été avec toi, et je trouve que les interactions entre Rhaenyra et son père sont hyper intéressante mais relativement attendue, c'est-à-dire que c'est pas hyper surprenant, elle prend soin de lui, elle est pas dégoûtée par lui, elle lui présente ses enfants et elle est hyper émue et c'est normal, c'est son père, mais elle est vraiment dans un truc relativement aussi normal que ça peut être d'interagir avec un parent qui est très très malade. Damon, on sent qu'il a vraiment du mal de voir son frère comme ça, de le voir aussi diminué. Et alors, je sais qu'il y a des gens qui l'ont interprété comme c'est un peu un connard entre guillemets, et il veut pas regarder son frère quand il est pas bien. Mais moi, je suis là, non, il est vraiment triste en fait. Enfin, il aime son frère, je pense. Damon, il aime Viserys. Et il s'attendait pas, personne s'attendait à le voir dans cet état-là, quoi. La dernière fois qu'ils l'ont vu, il était pas en forme, il lui manquait quelques membres, ok, il lui manquait un bras. Mais ça allait quand même, globalement, quoi. Il s'attendait pas à le... En fait, il savait même pas qu'il était pas sur le trône. Parce qu'il y a pas de... Il y a pas de retransmission sur BFM TV, en fait, des directs à King's Landing. Donc il savait pas que le gars est dead, quoi. Quasiment dead. J'ai trouvé ça hyper touchant, Damon qui regarde son frère et qui est
Non, pas bien, c'est touchant, quoi. Et puis ça fait écho à une scène qui arrive après, qui est quand il lui ramasse le quand la couronne tombe et qu'il lui ramasse.
Non,
on
mais
voit
les
pas qui lui ramasse.
Tu vois, là je suis là en mode, j'ai failli
chialer. Et c'est Damon, enfin, moi j'étais hyper ému. Ça m'a franchement, moi ça m'a touché de malade, cette scène.
Ouais.
On y reviendra.
Ouais, ouais. Avant ça, on a quand même une scène dont il faut qu'on parle et qui est non, je vais pas pleurer, ça va. Ça va, mais c'était touchant quand même. Salut, ouais. Alors désolé, j'ai un peu raté plein de choses. Alors déjà, merci Lizmod.
Merci aux gens qui ont subé,
oui,
là.
Si. Merci Lizmod, merci Poulpouti pour vos subs. Merci Mana Mana et Sonia plus Sabine, à vous deux. Et Quignon Party, on adore les Quignons. D'avoir follow la chaîne et bienvenue sur le chat.
Un bon quignon de pain.
Mais un bon quignon de baguette tradition, ça c'est...
Quand on a... Il ne reste plus rien à manger, on va à la cuisine, là, le soir, il se fait tard, comme ça. On se dit, ah, j'avais oublié qu'il reste un petit quignon de pain, on se le fait, et on est content après.
Même, tu sais, tu le trempes dans un random truc, genre juste tu mets de l'huile d'olive dessus, ouais. Rien,
parfait.
Juste de l'huile d'olive, et t'es là.
C'est parfait.
Plaisir, ou du beurre salé, ou bon, tout ce qui est gras, c'est bien. Ou même avant de cuisiner, tu sais, tu rentres avec la baguette sous le bras,
ouais,
là.
Et tu la manges sur
sur la route et tout.
Route.
Et
moi,
ça,
quand
c'est
je commence comme ça en général, je me retrouve avec une demi-baguette.
C'est le problème. Du coup, on achète deux baguettes. Comme ça, il y en a une pour la route et une pour. Mais après, t'as une demi-baguette entre. Bref, un problème insoluble. On va arrêter de parler de baguette tradition et parler d'autres types de traditions, comme par exemple la culture du viol, en parlant de Aegon Targaryen, deuxième du nom.
Waouh! C'était un segway.
Mon gars, la bretelle
vraiment
de sortie, elle était en perpendiculaire. J'ai sorti le frein à main, j'ai fait ish, un drift. On est parti en 180.
C'était,
on y est.
Too fast, too furious, Tokyo Drift.
For fast, for furious, là.
Waouh! Waouh! Dominique Toretto.
Sorry, too fire, too blood. Call me Vin Diesel.
Too fire, too blood.
Putain, pourquoi c'est pas le nom du podcast? Ça aurait dû être le nom du podcast. Ok, pour House of the Dragon, wow, saison 2.
C'est trop une bonne idée.
On s'appellera Too Fire,
Too
Blood.
Too fire, too blood.
Oh là là.
Ça, c'est noté. Ça,
to
c'est
house,
acté.
To dragon.
Ça, c'est acté.
Vous l'avez entendu ici en premier. C'est le nom du podcast pour la saison 2. En attendant, guess what? Aegon, fils de David Tennant, mais aussi d'Alicent et de Viserys,
qui était un petit con
à 14 ans, mais un petit peu sauvable.
Ouais.
C'est plus du tout le fils de David Tennant, il lui ressemble pas trop, honnêtement. Mais c'est aussi un mec peu fréquentable, puisqu'il a l'air d'avoir clairement violé une des femmes de chambre, de sa chambre, et aussi, ça a pas l'air d'être 120% la première fois, hein. On va pas se mentir.
Après, chose que Geoffrey Baratheon faisait au petit-déj.
Oui et non, on commence à être dans des oui mais qui sont genre dans l'échelle du pire.
Ouais,
vous
ouais.
voyez, genre on est dans le seum,
oui,
on est dans le monde du seum, ok.
Non, mais
il y a du moins pire et du pire, mais
c'est des horribles personnes, c'est des horribles personnes.
Mais en vrai, Geoffrey Baratheon, il était pas tant violent sexuel déjà. Il était violence physique et sexiste.
Scène horrible,
mais
oui.
Alors
où
il a
tue
fait
une meuf à l'arbalète.
Oui, mais déjà il la viole pas. Et aussi,
oh, wow. Okay.
La barre est basse, la barre est au sol. Je suis au sixième étage, la barre est au quatrième sous-sol du parking souterrain de mon immeuble, ok? Donc la barre est très basse. Mais en vrai, Geoffrey avait plein de perversions, mais ça avait pas l'air sexuel.
D'accord.
Ce qui est genre un peu moins pire dans ma tête, mais au moins il bande pas quand il tue des meufs à l'arbalète.
Ah si, il avait l'air de bander.
Il noie des chatons dans un sac.
Non, il avait l'air de bander.
Ce qu'il a fait assez jeune dans sa vie. Ouais, bon bref. En tout cas, voilà, il viole pas des meufs.
Okay.
C'est pas ouf, mais c'est pas pire. En tout cas, pas tant. Alors que Aegon, dans le bouquin, en gros, l'histoire, c'est que, oui, Aegon II Targaryen, donc le fils de Alicent et Viserys, est Alors au début, c'est un peu coureur de jupons mignon, et très vite, c'est clair que oui, il est agresseur
déjà,
sexuel
des
servantes. Alors on l'a vu mater. Ah mais toutes les servantes, il est là, il mate et tout, il regarde les petits culs. Bon, mais à l'époque, il avait aussi 14 ans, tu vois, 14-15 ans, donc t'es là, bon.
Non mais là,
la jeunesse.
C'est genre, je suis à la cour, je suis le fils de la reine.
Selon ma mère, le futur roi.
Ouais.
Je suis le fils de la reine.
Tout m'est dû.
Et je suis mariée à ma sœur, à laquelle je voulais pas me marier, mais du coup, je vais juste continuer. En fait, c'est aussi beaucoup une histoire de...
Elle a quand même deux gamins, déjà.
Ils ont deux gamins.
Ils ont deux gamins, déjà.
Ils ont plusieurs gamins, puisque, donc... Donc, Aegon a violé une servante. C'est clairement ce qui est sous-entendu par, non seulement la discussion avec Alicent, mais en plus le fait que Alicent donne à la servante du thé de lune, donc ce fameux contraception du lendemain, enfin, pilule du lendemain / contraception. Du coup, ça indique que c'est pas juste une main aux fesses ou du sexe non pénétratif. En tout cas, enfin, il y a risque, il y a acte. Donc, let's go. Moi, je l'ai pas du tout lu comme c'est la première fois, parce que déjà, quand Alicent va embrouiller Aegon, elle dit tu peux pas arrêter de faire ça, et aussi parce que dans le bouquin, bah, c'est comme je vous ai dit, un truc plutôt habituel et chronique chez Aegon d'aller violer ou agresser sexuellement ou abuser ou en tout cas coucher avec des femmes de plus basse extraction que lui, ce qui pose aussi la question de bah en fait mec, t'es le fils du roi, donc en fait peu importe ce que tu veux faire avec une meuf, tu vas pouvoir le faire, donc c'est pas, le consentement est un petit peu vague. Et là c'est très, en fait c'est intéressant parce que donc là en fait c'est assez forcé pour que la reine le sache. Et je pense qu'il y a un vrai truc de, c'est arrivé plein de fois, mais c'est la première fois qu'Alicent, elle est impliquée dans, vraiment, c'est un viol. Et je pense qu'elle a beaucoup fermé les yeux sur, il fait son truc avec les servantes et tout. En plus, il est non seulement, ok, c'est le fils d'Alicent, et il est marié, mais il est marié à la fille d'Alicent, puisque il est marié à Elena. Et du coup, elle a marié sa fille à un violeur, mais le violeur, c'est son fils. Tu vois, enfin, le niveau de Zumba mental dans laquelle elle est Alicent, c'est compliqué. Qu'est-ce que t'as pensé de cette scène avec Diana, la servante?
Moi, je pense
et de ce que ça dit d'Alicent, parce que c'est surtout pour elle, cette scène. Et après, on parlera de Talia, la servante d'Alicent, qui est aussi là, dans ce moment.
Je pense que... je pense que... Une nouvelle fois, elle lui met une tarte. Une nouvelle fois, elle le met devant ses responsabilités. Enfin, elle le met pas vraiment devant ses responsabilités.
Non, attends, avant Aegon, la scène entre Alicent et la fameuse servante qui a été abusée.
Ah oui.
Qu'est-ce
que
t'en as pensé?
Parce
qu'en vrai, c'est une des premières scènes.
Il y a déjà une question, c'est est-ce qu'elle est encore en vie ou pas?
Alors
servante.
Il y a eu pas mal de
c'est sous-entendu qu'elle est morte, mais moi, je crois qu'elle est encore en vie.
Alors, une des questions qui est beaucoup revenue sur mon Instagram, et du coup j'ai creusé car je suis très professionnelle, donc Alicent, via sa servante Talia, lui sert du Moon Tea, donc cette boisson contraceptive, en lui présentant ça comme, écoute, tu as une bourse d'argent pour les troubles qui vont avec la perte de ton emploi, et voici du Moon Tea pour ne pas subir les conséquences plus long terme de ce que tu as vécu. Et il y a plein de gens qui se sont dit, bah en fait ça, c'est probablement du poison dedans, comme ça... Il n'y a pas de victime, il n'y a pas de témoin, etc. Alors, moi, je ne suis pas du tout partie du principe que c'est du poison, pour plusieurs raisons. La première, c'est que je ne pense pas que Alicent ait à ce point-là de connassitude actuellement. Je pense qu'il y a une grande différence. Et c'est vraiment... Il n'y a que House of the Dragon qui peut me faire dire ces phrases, ok? Tout comme j'ai dit tout à l'heure, ouais, il viole des meufs, mais au moins, hein, c'est pas de sa famille, c'est quasiment le truc que j'ai dit. En fait, je pense qu'il y a une grande différence entre Alicent qui fait avec une victime de viol... ce qui est un truc qui existe encore aujourd'hui, c'est-à-dire d'acheter son silence, globalement c'est ça qu'elle fait, et de la tuer. C'est vraiment pas la même chose, et en fait je pense qu'elle est clairement dégoûtée par ce qu'a fait Aegon. Elle est pas en mode tu l'as cherché, elle est pas en mode, et je pense que quand elle réconforte la servante, elle est honnête, elle est sincère dans sa démarche de je suis désolée que t'aies eu à vivre ça, et peut-être qu'elle reconnaît aussi une partie d'elle dans cette petite meuf qui a juste fait ce qu'on attendait d'elle, et en fait ça s'est mal passé, ce qui est littéralement la vie d'Alicent. Je pense pas qu'elle l'a tué, je pense pas qu'il y a du poison dans le Moon Tea, parce que je pense pas qu'Alicent elle a buté une servante pour ça, aussi parce que c'est quoi le worst case scénario? La servante elle va aller dire à qui? Aegon m'a violée, et quand bien même elle le dit, qui la croira? Et c'est littéralement ce que lui dit Alicent. Elle lui dit moi je te crois, et c'est là où elle sort de son rôle en fait de rassurant, un peu maternel, et en fait elle lâche la meuf, elle s'éloigne. Elle se refroidit immédiatement, elle se remet un peu droite avec son étoile là, créée, enfin, religieuse autour du cou, et elle dit « Moi, je te crois. Mais à part moi, qui va te croire ? Et c'est là où elle commence à être une connasse, tu vois. Et je suis là. En fait, le pire, c'est qu'elle a pas tort. Littéralement, cette meuf n'a aucun pouvoir contre Aegon. Elle va dire à qui Aegon m'a violé, genre Aegon II, le fils de la reine, et on va lui dire, bah, prouve-le. Et elle sera là, bah, j'étais servante dans le château, il a fait ci et ça. Et littéralement, n'importe qui dira, bah non, mais elle l'a bien demandé, c'était une salope. Et puis, de toute façon, le roi, il peut pas faire... Enfin, le roi, pardon. Voilà. Le fils de la reine ne peut pas faire ça, il est marié. Ouais. Et c'est bon, quoi. Oui. Donc, c'est littéralement comme nos... Désolé, dans la vie, en fait. Il y a plein de gens qui se font... qui sont abusés sexuellement par des gens qui ont plus de pouvoir qu'eux. Et il se passe rien, en partie parce qu'ils ont rien à gagner à faire quoi que ce soit de... d'action légale, parce qu'en fait, ils vont perdre parce qu'ils sont moins privilégiés par le système que ces gens-là. Donc déjà, je pense que Alicette n'a pas à la tuer. Donc pourquoi elle la tuerait ? C'est quand même beaucoup plus risqué. Et aussi, je pense pas que c'est la pire meuf. Et je vous le dis, comme ça vous le savez, la réalisatrice, car c'est une réalisatrice, de nouveau, a confirmé qu'il n'y a pas de poison dans le Mounty que Alicette donne à Diana. Donc, elle n'est pas morte.
Et... pas de spoiler, donc...
pas de spoiler. Pas de spoiler. Et qu'est-ce que, du coup, t'as pensé de, à la fois, cette scène avec Alicente, Diana et Talia, et après, avec Aegon, parce que, du coup, ça s'enchaîne, quoi.
J'adore quand tu me demandes ce que j'ai pensé de choses.
Moi, j'adore.
Et que j'en ai rien pensé d'autre que ce qu'il y avait à l'écran, en fait.
Sérieux? Mais, genre, vraiment, t'as vu cette scène et t'étais là, ok, moi, j'étais là, attends... Ok, ils sont en train de vraiment poser Aegon comme un violeur en série. Ils sont en train de positionner Alicent sur...
Ouais, mais on l'a
Alicent
déjà un petit
sur...
peu compris, ça.
Bah, on l'a vu jeter des œillades à des meufs, c'est pas pareil. Ouais, on l'a jamais vu toucher une meuf, quasiment. Ouais. Il s'est touché lui... Enfin, non, c'est tout, il s'est juste touché lui-même.
Ouais.
Il a fait des œillades à des meufs qui toutes lui regardaient un peu en mode, bon, c'est le fils du roi, d'accord, mais bah, bif bof. Il finit ses rêves à chaque soirée à 22h, donc c'est pas comme s'il scorait beaucoup. Il y a quand même un monde entre le Aegon de l'épisode précédent qui était honnêtement, alors pas sympathique, clairement, mais qui était pas le pire gars, tu vois. Il y avait,
moi,
dans l'épisode précédent,
déjà,
il y avait un espoir
déjà,
pour ces gamins, quoi.
Pour moi, on l'avait déjà framed comme un edgelord. J'emploie des termes anglophones.
Trop d'anglicisme. C'est quoi un edgelord?
Un edgelord, c'est une sorte de d'incel, quoi. Une sorte de mec de masculiniste, en gros, quoi, de gars qui se croit tout permis et qui est
un mec toxique et problématique.
Donc le next step, quand ces gens-là deviennent adultes et qui sont des rois et qui sont dans le monde de George R. R. Martin, c'est qu'ils violent des meufs.
C'est vrai, cette anecdote est vraie. Et
sorry,
guess what,
tu vois,
it happens.
Genre non, mais enfin, je veux dire, c'est dégueulasse et on l'aime pas, tu vois.
Non, bien
mais
sûr,
juste genre,
mais c'est pas surprenant.
Ouais, on a vu Geoffrey prendre des prostituées dans son truc et leur tirer à l'arbalète dans la gueule. On sait très bien que moi je suis Team Black, quoi. Il y a pas de problème, genre je sais qui sont les méchants dans cette série, tu vois.
Il y a pas de méchants ou de gentils dans cette série,
ouais,
Tequila Tech. Ça fait 8 épisodes qu'on répète
ouais,
et
je sais.
Ça fait 8 épisodes que la série essaye de ne pas être Team Black.
Non, je jette pas Alicent avec l'eau du bain. Mais on est quand même Team Black.
Rappelons que la Team Black, c'est la Team Rhaenyra et ses descendants. Donc la team qui a été légitimée par Viserys, qui est roi, ok. Et la Team Green, c'est évidemment la Team Alicent et ses descendants.
Alicent, elle fait ce qu'elle peut dans cette histoire. Mais ses gamins sont des ordures.
Son père, c'est une ordure. Oui, mais en fait, le truc, c'est aussi... C'est pas comme si on avait vu beaucoup Viserys s'occuper des gamins qu'il a eu avec Alicent.
Ouais,
donc si les gamins d'Alicent, c'est des ordures, c'est la faute à qui, tu vois? Qui les a élevés à part?
C'est vrai,
Alicent.
C'est vrai. Mais bon, voilà, ouais. J'ai pas dit comment ça?
Aegon Targaryen viole des femmes, quoi?
J'étais vraiment
impensable pour un homme noble qui a clairement grandi avec aucune forme de challenge dans sa vie.
J'ai pris cette information comme elle m'a été donnée.
Oui. Eh bien, moi aussi, mais en même temps, moi j'ai beaucoup analysé Alicent parce que en fait, c'est intéressant pour moi de. Justement, on est dans une opposition équipe Green et équipe, donc les Green et les Black, donc la team Alicent et la team Rhaenyra. C'est en plus un truc qui oppose deux femmes, et moi je suis assez vigilante à comment on oppose deux femmes et sur quoi on les oppose. Et du coup j'étais là, ok, c'est une c'est une femme qui est confrontée à quelqu'un que j'aime a commis un crime sexuel envers une femme. Mmh. Et c'est une situation
envers
qui existe envers sa bah non parce qu'il a pas violé sa enfin Aegon
oui.
a probablement violé
ouais.
sa fille aussi.
Oui, d'accord, oui.
En tout cas, il a trompé
ouais.
sa fille, mais il
ouais,
a surtout
ouais,
violé une
femme. Non, non, je suis con, je mélangeais deux
mais
choses.
Oui, oui, ça, ça.
Ouais.
Enfin, de façon, quand, vu ce que Elena, elle dit au dîner, t'as pas tort. Hein.
Ouais,
et
ouais.
ça rappelle dans Succession, qui est la série, l'autre série HBO dont on rapproche beaucoup House of the Dragon, puisque c'est une histoire de succession. La seule fille de la famille est amenée à un moment à défendre l'entreprise familiale contre des accusations de violences sexuelles protégées au sein de l'entreprise, enfin, cachées au sein de l'entreprise. Donc, en gros, il y a un MeToo qui va arriver sur l'entreprise et ils envoient la fille de la famille, donc la seule femme, qui va, du coup, utiliser, je trouve, de façon hyper intelligente, mais dramatiquement intelligente et cruellement intelligente, sa place de femme et son rôle de femme dans cette société patriarcale pour parler à une femme et essayer de la persuader de pas porter plainte pour violence sexuelle contre l'entreprise de son père. Et c'est un niveau, enfin, il y a 1000 niveaux de lecture de pourquoi elle fait ça, est-ce qu'elle y croit, à quel moment, quand elle fait ça, enfin, c'est évidemment c'est pas une alliée du féminisme, mais à quel point elle est contre le féminisme, à quel point elle est sincère, à quel point elle a le choix, enfin, c'est hyper complexe. Et du coup, moi, j'ai vu arriver cette scène entre Alicent et une femme qui a été violée par son fils, comme quelque chose de très intéressant sur, ok, comment elle réagit, et aussi, pour moi, ça dit beaucoup de comment la série essaye de nous garder relativement flexibles entre les deux teams. Alors, clairement, je pense que la majorité des gens sont team Rhaenyra, bah, déjà parce qu'on part avec, c'est elle qui a été légitimée par son daron. Je pense qu'en 2022, on est aussi sensible à l'idéologie d'une femme reine et de la fin d'un système patriarcal, même si, bon, on sait qu'a priori, dans Game of Thrones, il n'y a toujours pas de femme reine, donc, voilà. Et que Rhaenyra est super, mais le risque qu'ils ont, c'est de rendre le truc trop manichéen, que tout le monde soit trop team Rhaenyra.
Ouais, bien sûr.
Et du coup, chaque occasion qu'ils ont de réhumaniser Alicent, qu'en plus on voit moins que Rhaenyra, je trouve qu'elle est précieuse. Et je trouve que là, paradoxalement, ils ont réussi à l'humaniser sur une scène où elle défend où elle condamne pas en tout cas son fils violeur, tu vois. Et je suis là, c'est une prouesse d'écriture. C'est waouh, c'est très bien fait.
Ouais, ça, je suis d'accord avec toi 100%.
Je pense que c'est pas un truc que Game of Thrones aurait réussi à faire en termes de nuances, parce qu'on n'en était pas là à ce niveau de réflexion sociétale. Du coup, juste avant d'avancer, on mini parenthèse Talia. Du coup, Talia, c'est le nom d'une meuf qui est la dame de compagnie principale de Alicent. Coucou Momo. Momo, c'est le chat. C'est la dame de compagnie de Alicent.
Le personnage est un chat, il s'appelle Momo.
Momo n'est pas dans la série.
Trop compliqué cette série.
Non, il n'y a pas de commande Momo.
Je comprends pas, il y a un chat qui vient.
Il y a un chat noir et blanc,
je comprends pas.
Il n'est pas blond.
Trop compliqué ce débrief. Trop
il
de personnages.
Pas blond.
Trop de personnages, ils ont tous le même nom, Momo, Mimi. Je comprends rien ce débrief.
Je quitte ce live. Petit cucu néanmoins. Du coup, Talia, oui, c'est la servante, enfin la dame de compagnie principale, visiblement de Alicent. On l'a déjà vue à quelques reprises rapides, notamment dans l'épisode où on comprend que Larry Strong est le petit maître des chuchoteurs de Alicent, où ils ont leur premier dîner ensemble. À un moment, il y a une dame de compagnie qui rentre et Alicent lui dit "Not now, Talia", et elle ressort. Donc ça fait 2-3 épisodes qu'on la voit. Là, c'est l'épisode où elle a clairement le plus de répliques et de présence, puisqu'elle interagit clairement avec Alicent, avec les gens et tout. Et elle finit bien sûr dans un reveal par interagir avec Misaria. On en reparlera. Du coup,
Misaria,
c'est
l'ex de Daemon.
L'ex de Daemon, qui est devenue ok, on va faire le point. Talia, Misaria, c'est qui Talia et tout. Donc Talia, c'est une dame de compagnie de Alicent.
Et une little bird de Misaria.
Et du coup, ce qu'on apprend, une little bird de Misaria.
Une informatrice.
Voilà, une espionne, quoi, une infiltrée dans le château. Donc Misaria, elle est devenue une personnalité influente de King's Landing, qui espionne et qui vend des secrets. On ne sait pas comment, on ne sait pas exactement à qui et pour qui, mais je pense que son business, c'est les informations et qu'elle les vend tout simplement, tout comme on a vu Otto Hightower à l'époque bosser pour elle, puisque c'est grâce à elle que Otto Hightower avait su que Daemon et Rhaenyra s'étaient chopés dans le bordel, et c'est comme ça qu'il l'avait dit à Viserys et qu'il avait fini par se faire virer Miskin. Alors qu'en vrai, il avait pas tort. Hein.
l'impression.
Ah oui, elle joue pour son camp à elle. Clairement, elle a pas d'allégeance à Daemon ou quoi que ce soit. Elle joue pour sa vie. Elle joue pour son camp. Et du coup, la servante de Alicent qu'on voit depuis plusieurs épisodes se trouve être une informatrice de Misaria. Il y a une petite anecdote là-dessus, c'est que la servante de Alicent, qui s'appelle Talia, ressemble un petit peu à Mélisandre. C'est une rousse avec des hautes pommettes, avec une forme du visage un peu similaire. Enfin bref, elle est pas 100% loin de, tu vois, d'elle. Et c'est pas une Prognat Queen, par exemple, ce qui ne serait pas compatible avec Mélisandre.
C'est une red-haired magical.
C'est une rouquine, quoi. C'est une rouquine avec des pommettes.
Witch Queen, tu veux dire?
Au moins.
Non, mais...
Et comme, attends, je finis. Et comme on a l'hypothèse que peut-être on va avoir Mélisandre dans House of the Dragon, parce que c'est le seul perso de Game of Thrones qui est assez vieux, autant qu'on sache, pour apparaître dans House of the Dragon, les gens étaient là. C'est sûrement la servante de Alicent qu'on voit tout le temps, et qui est une rousse avec des pommettes hautes, et qui du coup ressemble un peu à Mélisandre, et peut-être que, genre, à la fin de la série, en fait, on se rendra compte que c'était Mélisandre depuis le début. Parce que genre, elle va changer de tête, et ça sera l'actrice qui jouait Mélisandre, Carys Van Houten, de Game of Thrones. Moi, à la base, je pensais pas, parce que j'adhérais à la théorie très réelle, qui est que, en fait, cette actrice, c'est la femme du showrunner. Du coup, peut-être qu'elle a des répliques parce que c'est la femme du showrunner et que ça veut pas forcément dire grand chose sur le rôle de son perso dans la série. Et je pensais ça jusqu'à cet épisode. Et en fait, quand à cet épisode, je me suis rendu compte que c'était une Little Bird de Misaria, j'étais là, ok, c'est plus d'importance que ce qu'on lui donnerait si c'était juste, ok, t'es la femme de, tu vas avoir deux, trois répliques. Et du coup, je suis en train de douter de moi-même, et peut-être que ça va être Mélisandre à la fin. Maybe.
Moi, je trouve ça dangereux ce que tu fais, Mimi.
De quoi? De donner de l'espoir aux gens?
Ouais, je trouve ça dangereux ce que tu fais.
Parce que tu penses qu'il n'y aura pas Mélisandre du tout?
Non, parce que...
Moi, je pense qu'il y aura...
Parce qu'on ne peut pas en parler parce que spoiler, mais il y a un chemin tout tracé pour l'arrivée de Mélisandre dans cette série... Mais c'est toi qui me l'as expliqué, donc je trouve ça dangereux et hypocrite même, ce que tu es en train de faire.
Mais non, mais j'espère avoir raison, dans le sens où il y a un perso, je vous le dis, il s'appelle Alice, ok, c'est tout, vous savez pas qui c'est.
Ok.
Qui, normalement, devrait être la meilleure candidate pour, si jamais Mélisandre devait être dans cette série, j'aimerais que ce soit elle, ok.
C'est méga abusé, c'est évident que le truc est tout tracé, et s'ils font ça, Internet se casse en deux beaucoup plus que si c'est Talia la servante qui a trois lignes et qui sert. En fait, pour moi, quand je regarde une série et que je vois concrètement la fonction narrative d'un personnage, je le prends pour argent comptant, en fait. Et là, il y a C'est quand on voit pas la fonction narrative des personnages, c'est Alice, on se dit, genre, qu'est-ce qu'elle fout là un peu, tu vois. Et là, on peut se dire, ok, c'est peut-être Mélisandre.
Okay.
Tu vois ce que je veux dire?
Oui.
Mais là, Talia, elle a une fonction narrative qui est claire, être l'informatrice de trucs. Et moi, ma théorie, c'est que cette servante, Talia, c'est ça?
Talia.
Talia.
Et littéralement, je sais qu'elle s'appelle Talia parce qu'il y a un moment où Alicent lui dit « Not now, Talia
ouais, ».
Et c'est
voilà.
Tout, quoi. C'est vraiment une no-bot.
Ouais,
donc
ouais c'est une no-bot, c'est no-bot, c'est rien, c'est personne. Elle a juste comme fonction de dire au spectateur que Misaria
oui.
Est au courant
oui.
De, des agissements de Daegon. Et ça, et genre... Il y a peut-être un.
Elle est en train de lui dire. Ce qui se passe à l'intérieur, mieux c'est. Hein.
Vous avez une information, c'est qu'il y a peut-être, il y a eu un viol et peut-être qu'il y a un Mounty qui a été bu. Peut-être qu'il a marché, peut-être qu'il a pas marché. Et dans le cas où il a pas marché, il y a peut-être un bâtard.
Ouais, après, pour moi, c'est un peu plus d'infos que ça. C'est pas juste le fait que Aegon ait violé une meuf qui compte, parce que, encore une fois, je pense que c'est pas la première fois.
Ouais.
Je pense qu'il y a beaucoup, enfin, évidemment, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le Donjon Rouge à cet épisode, qui en fait sont complètement ignorées du reste du peuple, tu vois. Et c'est un des trucs qui est intéressant dans le bouquin Feu et Sang et dans la série, c'est à quel point c'est rappelé régulièrement dans le bouquin, le peuple, parfois, n'a aucune idée. Il y a l'enjeu du royaume qui se joue sur une nuit. Et le peuple dort dans son lit et va dîner à l'auberge et
ça, on va le voir dans le prochain épisode.
Et il y a des choses qui vont se jouer dans qui va traverser un pont-levis au bon moment et qui va monter un escalier 2 secondes avant que son ennemi le voit et tout. Donc c'est hyper intéressant de voir un royaume tenir à si peu de choses, quoi.
Mais et donc toi, tu penses que Talia, elle raconte ah ouais, ça s'est battu dans la salle dans la salle à manger et
bah, Egon,
il a dit The Strong Boys et il y a du
beef. Ah oui, je
beef.
Pense qu'elle va le raconter. Elle lui dit.
Tu penses que cette scène,
je
c'est Talia qui
Missaria,
lui dit ça.
Elle est posée. Donc Missaria, c'est la compagne de Daemon dans l'épisode 1 qui avec qui il couche au bordel et il lui dit ah non, je suis pas d'humeur et il fait son speech sur l'héritier. Heir of the Day, Heir of One Day, donc Aegon, en tout cas le tout prof, il s'appelait Aegon aussi, putain, on n'en peut plus ou pas ? On n'en peut plus. Non, Baelon, il s'appelait le petit gamin, bref. Le fils de Viserys et Emma qui a été héritier pour un jour, ensuite elle suit Daemon à Dragonstone, Daemon dit « Ah, ma meuf, elle est enceinte, donnez-moi un œuf de dragon !» Et elle est là « Mais pas du tout, mais en fait, pourquoi tu fais ça ? Si tu dis que je suis enceinte, ils vont me buter !» Et Daemon, il est là « Ça va !» Elle est là « Vraiment non, toi ça va, moi ils vont me buter, cordialement,
ouais,
je me casse. » Et elle se casse, et elle revient à King's Landing, et elle devient espionne, et voilà.
Ouais, et il se retrouve gueule de bois chez elle aussi, après avoir pas couché avec...
Après avoir pas soulevé sa nièce, qui était, rappelons-le, relativement mineure à l'époque, donc c'est pas si grave. Mais oui, Missaria est still in the place, et du coup maintenant, elle sait, en plus de travailler avec Otto, on sait qu'elle travaille avec Otto, puisque c'est grâce à elle que Otto a su... que Daemon et Rhaenyra étaient au bordel à l'époque, et bien maintenant, elle a une servante infiltrée qui a l'air d'être une très proche de Alicent. Donc elle a vraiment tous les bails de... Enfin, une bonne partie des bails de King's Landing. Voilà. Personnage à surveiller, c'est bien de le savoir qu'elle est là, c'est bien de savoir qu'on a des espions in that place, parce que ça fait toujours des dynamiques intéressantes.
Ta fanbase déteste Jon Snow, c'est ça, Mimi ?
Bah j'espère. Qui aime Jon Snow de nos jours ? T'aimes bien Jon Snow, toi ? Il est
bon,
boring, non ?
Il me dérange
pas. Bah non, mais moi non plus. Mais le pain de mie, ça me dérange pas non plus. Mais j'en achète pas, tu vois.
J'aime bien le pain de mie, moi.
Ouais. Bah moi, tu vois, j'aime bien les baguettes tradition. Du coup, Jon Snow, je suis là. C'est ok qu'il existe. Mais
ouais,
c'est pas ma passion, quoi. Alors qu'une bonne Brienne, tu vois, c'est un pain de campagne au noir.
Toi, t'es du genre à pas aimer le héros un peu trop évident, quoi.
Bah je déteste Harry Potter, je déteste Frodon, je déteste Jon Snow. J'adore Tyrion et Brienne et Luna Lovegood.
T'aimes quand c'est un peu twisted.
Bien
moi,
sûr.
Je trouve qu'il y a une certaine beauté dans le héros premier degré, quoi.
En fait, je le trouve beau quand il est tragique. En vrai, j'aime bien Jon Snow sur la fin. Le problème, c'est que dans les bouquins, Jon Snow, c'est toujours... Jon Snow est mort dans Game of Thrones, vraiment. On en est au point dans les livres Game of Thrones où Jon Snow, souvenez-vous, s'est fait buter par la garde de nuit. Et en fait, dans la série, vous savez, qui est, spoiler Game of Thrones, il ressuscite. Bah, dans les bouquins, pas encore parce qu'on n'en est pas arrivé là. Donc moi j'adore l'histoire de Jon Snow qui est le héros de base de n'importe quel bouquin fantasy, le fils bâtard mais en fait il a du sang royal, de l'ancienne lignée royale perdue, il peut chevaucher des dragons,
cool, quoi.
Il est promis à la princesse machin.
Ça voit ce promise, quoi.
Mais c'est l'aspect tragédie de Azor Ahai qui me fait aimer Jon Snow, tu vois, c'est que la pire tragédie de sa vie c'est son destin, tu vois, c'est le truc qu'il veut pas. Lui il voulait faire des cunis à Hagrid
et let's fucking go, c'est tout clair.
Et à la limite chevaucher un dragon il était là, c'est ok, faut bien le faire, c'est ok, ça va, mais il voulait pas le pouvoir, quoi.
Mais du coup parce que on me dit dans l'oreillette qu'il est en ce moment même au Parc des Princes.
Kit Harington,
ouais.
Oh là là. Et il est derrière la porte. Ah non, c'est faux. Je n'ai pas encore ce pouvoir. Ah là là, bah,
il est pas loin
de chez moi. Ouais, je vais lui... En vrai, alors, voilà, premier duck, cette anecdote est vraie. Quand il y avait des acteurs de Game of Thrones à Paris, je leur envoyais des DM au cas où, avec le compte Mademoiselle, qui était genre un compte certifié avec 150K followers, donc je me disais, bon, ça va, tu vois, ça fait pas trop miskine. En mode, ok, on est un média, j'aime trop Game of Thrones, voici tout ce que je fais sur Game of Thrones, j'aimerais trop vous interviewer, genre, on sait jamais s'ils ont le temps pour une interview sauvage de 10 secondes dans un coin de rue, tu vois, genre, bah non, c'est Kit Harington, vraiment, il a mieux à faire.
Et il y a l'acteur de Xorak Zoran Doxos qui t'a répondu, c'est ça.
C'est quoi? Moi, j'aurais adoré Jorah Mormont. C'était vraiment un de mes prefs. Mais non, je n'ai jamais eu personne de Game of Thrones.
Pourtant, il est bien vanilla, lui. Hein.
Ouais, il est un peu boring. Ok.
C'était une parenthèse.
C'était une longue parenthèse. On avance. Ok. Donc, alors, on a cette petite scène avec Rhaenyra, Rhaenys et Bella. et pas Rhaena, sinon fuck you, devant l'arbre cœur, où c'est le moment où en fait Rhaenyra et Rhaenys se mettent d'accord sur ce qu'elles font là et ce qu'elles vont faire. Et du coup, je pense que c'est important qu'on en parle parce que je pense que plein de gens sont là, on s'en fout. Avançons.
Non, on s'en fout pas du tout.
Alors c'est pas Jean Blanc, c'est Jean Neige. Par contre, son nom officiel, voilà, il s'appelle pas John White, il s'appelle Jon Snow. Jean Neige est le nom français, mais il a le droit d'exister, on est ravis. Rhaenyra et Baela qui se retrouvent, c'est une bonne occasion de comprendre c'est quoi les enjeux qui se jouent et c'est quoi les enjeux qui se jouent au niveau succession de la Velaryon, ça l'a compris, mais entre elles. Est-ce que tu...
Je me rappelle plus.
Alors du coup, ce qui se passe, c'est que...
Enfin, je m'en rappelle, je vois la scène, mais je sais qu'elles se disent un truc, que Rhaenys dit « moi, je sais pas ouais. », et qu'au final, quand ils sont devant Viserys, elle dit « ouais, on va les marier ».
En gros, ce qui se passe, c'est que... Alors, la première chose qui se passe, c'est qu'on apprend que, en fait, donc Daemon et Lena ont eu deux enfants avant que Lena meure par accouchement raté et Dracarys sauvage de Vhagar, où elles ont eu des jumelles. Il y en a une qui a un dragon et une qui a pas de dragon.
Ça, on le savait.
Ça, on le savait. Mais ce qu'on savait pas, c'est qu'il y a une de... En gros, elles vivent séparément maintenant, les jumelles, puisque celle qui a pas de dragon est restée, du coup, à Driftmark avec Rhaenys, pour être ce qu'on appelle Ward. Alors c'est aussi sa petite fille, hein, Rhaenys, donc ça va, c'est pas bizarre. Mais en gros, Ward, c'est pupille, où du coup tu apprends dans une famille noble à jouer les rôles de jeune femme noble, etc. Et ça a en vrai aussi un petit côté otage, puisque c'est ça qui était Theon Greyjoy dans Game of Thrones à Winterfell chez les Stark, c'est qu'il était Ward, donc pupille. Mais dans son cas, comme c'était un Greyjoy et que les Greyjoy, ils aiment trop faire la guerre à des gens qui ont rien demandé.
C'est une punition, quoi.
Bah, en fait, c'est un otage. C'est-à-dire,
oui, c'est une garantie,
c'est,
quoi.
Voilà, c'est une garantie. C'est plus assez. Déconnez pas parce qu'on a votre gamin. C'est un peu aussi le rôle de ça. Et du coup, comme il y a une gamine, Velaryon chez Rhaenyra et Daemon et une gamine Velaryon chez Rhaenys, la famille Velaryon, elle va s'entendre bien entre, voilà.
Ils étaient pas Ward chez Arryn, d'ailleurs,
Chez les Arryn, qui?
Ned et Robert.
Ned et Robert, ce sont... Mais incroyable. Ned Stark... T'as des trucs, des fulgurances, mon gars. Tout à fait. Ned Stark et Robert Baratheon, à l'époque, étaient, il me semble, tous les deux, je pense que tu dis pas de bêtises, pupilles chez les Arryn, donc dans les Aériens. Non, pas dans les Aériens, dans le Val d'Arryn, avec... Et c'est là où...
Ils se sont rapprochés.
Ned Stark... Bah, Catelyn Tully, qui est devenue Catelyn Stark, a fait son éruption, son apparition.
Ouais, ouais, et puis qu'il a pris, il a pris le père comme.
Qui a pris le père qui?
Non. Non. C'est qui la Hand of the King qui meurt au début de Game of Thrones?
C'est Jon Arryn.
Ouais, voilà.
C'est Jon Arryn, tout à fait. Le mari de Lysa Stark, Arryn,
oui.
La sœur de Catelyn Stark, celle qui allait de son gamin qui a 18 ans là environ. Voilà, elle était mariée avec Jon Arryn. Waouh, voilà. Bam bam
on
bam.
Est bon, on encore est une bon, fois, je sais on pas qui. Bon. Vous regardez pas un débrief de gens qui découvrent.
Je suis pas hyper sûre de qui est le premier ministre actuel de la France, mais je sais qui était la main du roi quand Robert Baratheon est mort. Anyway, du coup, donc voilà, il y a une des jumelles Velaryon qui est avec Rhaenyra et Daemon. Daemon étant son père. Et il y en a une qui est avec Rhaenys et Corlys. Mais Corlys est actuellement en guerre. Rhaenys étant sa grand-mère. Ok. Et ces deux gamines ont l'air de très bien aimer leur grand-mère, leur père. Enfin, ça a l'air d'aller leur vie.
Tout va bien.
Et c'est là où, du coup, en fait, Rhaenyra est venue. En fait, le truc, c'est que Rhaenyra et Daemon n'ont jamais été factuellement invités à cette négociation. C'est Rhaenys et Vaemond. Putain, j'en n'en peux plus, c'est très long. Rhaenyra et Daemond n'ont pas été invités par Rhaenys et Vaemond. Comment on est censé faire un podcast sur cette série, ok? Rhaenys, donc la reine qui ne fut pas reine, et Vaemond, le frère de Corlys, ok, ont décidé d'aller, enfin en tout cas Vaemond a décidé d'aller contester la succession de Driftmark et d'aller à King's Landing. Lui, il a pas invité Rhaenyra, il a pas invité Daemon, il s'en fout. Et Rhaenys non plus. C'est du coup, l'une des jumelles de Daemon et Lena, qui est, je crois, Baela, qui a envoyé une lettre. Oui, c'est Baela qui a envoyé le parchemin que Daemon a déroulé en revenant des autres dragons. Moi, j'ai mis pause pour lire le parchemin, les gars.
Putain,
j'ai pas le temps.
Bravo,
je n'ai pas ce
mais
temps.
Bravo. Mais
et c'est
bravo.
Elle qui les a prévenu.
Ah ouais, ça,
Daemon
c'est
à Dragonstone que Tonton Velaryon, il va à King's Landing. Il va dire que Driftmark devrait pas être office de Lénore et Rhaenyra. Et du coup, vous devriez probablement ramener votre cul, quoi. Et ils étaient là, ouais, on va ramener notre cul. Et du coup, ils ont ramené leur cul en ramenant la jumelle de Bella, Rhaena. D'accord. Qui, du coup, est la fille de Daemon, donc elle vit avec eux. Enfin, les deux sont les filles de Daemon, mais elle, elle vit avec eux. Et ça a servi à attendrir Rhaenys, puisque Rhaenys, du coup, elle a pas vu son autre petite fille depuis 6 ans. Depuis ce funeste épisode précédent. Et d'ailleurs, elle lui dit, si tu peux, enfin, tu pensais pouvoir m'attendrir avec la présence de ma petite fille.
C'est pour ça. Ah putain, pas mal.
Mais c'est aussi là qu'on voit que Rhaenyra, she come to play, tu vois.
Ouais,
elle vient
pas
juste en mode, oh non, mon père a besoin de moi. Elle vient en mode, je viens
ouais,
hein, et je joue la strat, tu vois. Ouais. Et Rhaenys, elle lui dit, tu sais, au-delà de t'amènes ma petite fille que j'ai pas vue depuis longtemps pour m'amadouer, Rhaenyra, elle la regarde en mode, tu vas pas m'en vouloir de l'avoir fait, tu vois. Elle est là, game, recognize game, hein. Évidemment, je l'ai fait pour ça et évidemment, ça t'a quand même fait plaisir, donc c'est pas grave.
Ouais.
Et en gros, le discours de Rhaenyra à ce moment-là, c'est « Girl, soutiens-moi, soutiens ma succession. En fait, mon daron, il a dit, c'était moi la reine. Du coup, mes enfants, ils sont légitimes parce que sinon, c'est chiant. Voilà. Et du coup, soutiens le fait que mon fils bâtard, qui n'est pas le fils de toi, ton fils, qui d'ailleurs est mort, mais c'est pas vraiment ma faute, devienne l'héritier du trône de ton mari qui est pas vraiment mort non plus. » Ce qui est
déjà,
très
moi, je me suis dit, elle va lui peut-être lui dire que qu'il n'est pas mort, son fils.
Bah c'est un peu la question, c'est est-ce que un jour moi j'aimerais trop pour elle franchement
Rhaenys,
je suis trop triste mais j'aimerais trop qu'elle apprenne que Lénor il est pas mort, tu vois.
Ouais.
Et je suis là genre je sais pas, il pourrait mais aussi Lénor il pourrait envoyer tu sais. Moi je croyais qu'il allait envoyer un genre de parchemin codé avec un peu des symboles en mode il y a que sa daronne qui pourrait comprendre et tout, mais bon pour l'instant il se passe rien donc après ça faisait aussi partie du plan de Rhaenyra et Daemon, c'est plus les gens croient qu'on l'a fait buter.
Oui oui.
Plus on va être craint.
Mais 6 ans après.
Non, mais 6 ans après, c'est la guerre, la danse n'a pas commencé. Viserys est toujours là, ils sont là. Nous, on n'a pas de carte à jouer là. En fait, tout le monde retient son jeu depuis 10 ans. Ils sont tous le doigt sur la gâchette depuis une décennie en mode on va tous s'entretuer et on sait pas comment ni qui va gagner, donc c'est compliqué. Et du coup, Rhaenyra plaide pour sa cause. Rhaenys dit bah c'est un petit peu fort de café parce qu'en fait, moi je sais que en fait juste le royaume va pas accepter une reine. Source, j'étais là littéralement il y a 40 ans et ils m'ont pas pris et ils ont pris mon cousin nul qui est en train de mourir là. Donc c'est bof et ça va pas changer. Mais ok, ils ont chacun, il y a Bella, il y a Rhaena et tout, et on verra qu'au final Rhaenys finit par changer d'avis puisqu'elle dit à Rhaenyra non je vais pas être dans ta team, désolé c'est trop chiant. Et au final, elle change d'avis, mais parce que un invité inattendu s'est joint au conseil royal, à savoir le roi. C'est son travail. Fun fact.
Ouais, on en est là au niveau de l'épisode.
On en est là juste avant. Il y a Rhaenyra qui va voir Viserys pendant qu'il dort et qui essaye de lui parler et Viserys répond pas et elle pleure et elle dit c'est trop lourd.
Ouais.
Et en fait, elle lui dit. Tu as juré.
Support me, dis-leur que c'est moi, quoi.
En fait, avant, elle lui parle de la prophétie. Elle lui dit, tu m'as pas, parce que c'est important pour la fin. Elle lui dit, tu m'as parlé de la prophétie de Aegon, qui disait qu'il fallait un Targaryen pour unir le trône face à la menace qui allait venir du froid et de l'hiver, et du nord. Mais en me nommant héritière, tu as divisé le royaume, tu as divisé le trône, genre, tu n'as pas uni le royaume. Donc. Soutien. En fait, tu m'as mis ce fardeau sur les épaules qui est trop lourd. J'en peux plus. Et je le voulais pas. Et je l'ai pas demandé. Et en plus, t'as divisé le royaume en faisant ça. Donc, s'il te plaît, soutiens-moi et convainc-moi que t'as fait le bon choix. Et lui, bah, à ce moment-là, Miskin, il est pas du tout en capacité de répondre. Et du coup, elle sanglote.
Du coup, elle se rend compte que il le drogue à coups de 1000 coups de poppy.
Oui, bah, ça, Daemon l'avait, dès que Daemon a vu Viserys boire une coupe, il l'a reniflé, il l'a inspecté, il était là, ok, qu'est-ce qui se passe? Et en même temps, Rhaenyra, à un moment, elle lui dit non, mais notre maître, il pourrait l'examiner aussi. Et Daemon, il est un peu en mode. Enfin, en vrai, c'est pas un truc de. Il l'empoisonne, là. C'est bon. Le gars est.
Ouais.
Le gars est clairement. Il a des trous partout. Il est dead, quoi.
Ouais.
Donc, il n'y a pas d'espoir de le sauver. Mais en tout cas, malheureusement, quand Rhaenyra va lui demander de l'aide, tout ce qu'elle reçoit, c'est. Il m'entend pas, il n'est pas conscient, il répond à côté. Mais elle lui dit quand même, elle lui exprime. En fait, c'est intéressant parce que c'est un épisode où il y a plein de gens qui se battent pour la couronne, qui ont l'occasion de se poser et de se dire mais est-ce que je la veux? Pourquoi je la veux? Pourquoi je veux faire ça? Pourquoi je veux être sur le trône? Tu vois, Rhaenyra, elle a. En fait, c'est toi qui m'as mis sur le. Mais je veux. C'est. Enfin, c'est. Elle lui dit, c'est trop dur. Elle lui dit, c'est trop lourd. Elle dit, the burden is too heavy. Le fardeau est trop lourd pour mes épaules, quoi. Et lui, il peut pas la rassurer. Donc, c'était quand même important qu'on mentionne cette scène avant d'arriver à.
Donc là, il y a l'espèce
là,
de...
La salle du trône.
Ouais, donc on est sur la salle du trône. Il y a Otto Hightower sur le trône de fer.
Dans une décontraction et un petit man spreading, mon gars, il est comme As, quoi. Il est là en mode...
Il est comme moi.
Ouais, c'est ça, il est là, ça va, quoi. Mais comme nous deux, tu vois, il est là, ça va, quoi. Du coup, c'est quoi les affaires du jour et tout. Tu sens que c'est pas la première fois qu'il se pose dessus.
Ouais, c'est clair.
Il connaît un peu. Et alors... Du coup, petite réponse à une question impromptue. Il y a quelqu'un qui m'a dit, mais est-ce qu'il va pas avoir la même malédiction que Viserys? Le trône va le rejeter, il va être contaminé et tout. Alors, le fait que le trône puisse entailler des gens qui ne sont pas dignes du trône, c'est pas une chance exacte. Genre, c'est pas un trône calibré magique. C'est parfois, il y a des personnes qui règnent, qui se font couper par le trône et qui finissent par s'infecter. Et la sagesse populaire dit, ah bah oui, il a été rejeté par le trône. Mais en soi, il y a plein de rois illégitimes qui se sont assis sur le trône. On en a vu genre au moins 3 différents, je pense, dans Game of Thrones. Il
ouais.
Y en a plusieurs. Et en plus, Otto, c'est la main du roi.
Ils n'ont pas eu des chardes.
En vrai, ils n'ont pas eu des chardes. Ils n'ont pas eu d'infection, de tétanos, de syphilis, de tout ce que vous voulez. Otto, c'est la main du roi. Donc en vrai, il a l'autorité du roi.
Mais
quand
il
n'est pas là.
Il faut voir un romantisme littéraire dans les choses qui se passent.
C'est pas aussi
quand
A
un
plus
truc
B.
se passe, c'est pas A plus B.
Voilà. Donc c'est pour ça que
il y a un romantisme littéraire de Viserys, il lui est arrivé ça parce que symbole. Ça devait lui arriver un
oui.
petit peu.
Et parce que Viserys n'était vraiment pas apte à, c'était
et
pas
fois,
un roi Targaryen.
Des fois le destin est injuste et des oui. fois il y a quelqu'un qui mérite pas.
Des fois il y a des Otto qui manent
voilà,
spread sur le trône
et qu'il leur arrive rien alors que Viserys est beaucoup plus sympa, tu vois.
Oui.
Et beaucoup plus Viserys ouvre
beaucoup
plus. Je ferais
plus un billard avec Viserys qu'avec Otto Hightower.
Et ben Viserys ouais. Donc voilà, c'est pas, y a pas de règle.
Donc on arrive dans un jugement de succession qui est à la base ultra décidé puisque littéralement Rhaenyra, et alors on n'a pas fait cette scène, mais Rhaenyra et Daemon ont rencontré Alicent, qui leur a dit bonjour, cordialement, je vous hais. Ils ont dit ça tombe bien nous aussi. Elle a dit bon bah top, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et ils ont dit bah le problème c'est qu'on est là pour régler un truc de succession et on aimerait bien que soit Viserys le roi actuel qui décide. Et elle était là, ah c'est dommage, Viserys est très fatigué actuellement comme vous l'avez vu. Et ils ont dit bah du coup qui c'est qui décide? Et elle a dit
en ce moment, est-ce que je peux
bah du
un
coup en attendant c'est moi, mais vous inquiétez pas, Jésus me guide, mon jugement sera bien sûr infaillible. Et ils sont là, oh fuck, ah on n'est pas bien là, parce que vraiment si cette pièce tombe en fait, si le fils de Rhaenyra n'a pas de Driftmark, en vrai c'est hyper grave, parce que ça veut dire que ses enfants sont pas légitimes, parce que ça veut dire qu'elle a fait des bâtards, parce que ça veut dire qu'elle a pas d'héritier légitime, et parce que du coup on en revient à ok, donc il suffit de buter Rhaenyra et on a plus trop de problème d'accession au trône, quoi. Ça va juste être les enfants mâles de Viserys, et guess what, maintenant on en a au moins 2 qui sont Mabulitax, ok, mais qui sont là, donc on a Aegon et Aemond. Donc c'est très grave. En vrai, s'ils perdent cette succession, c'est très très grave. Et c'est pour ça qu'ils sont venus depuis Dragonstone et tout, et qu'ils sont extrêmement stressés. Et quand ils croisent Alicent, elle est là...
qui est important.
Voilà, les conséquences potentielles sont très graves. Et Alicent, elle est là... Ah bah désolé, il peut pas... Enfin, clairement, il va pouvoir régner demain, c'est dommage. Et aussi, il faut se rappeler qu'eux, en arrivant, ils avaient aucune idée de l'état dans lequel Viserys était. Donc ils pensaient qu'ils allaient avoir un allié, ils pensaient au pire qu'ils allaient devoir se chamailler avec Viserys et le secouer un peu pour qu'il agisse, ils pensaient pas qu'ils allaient trouver un semi-cadavre dans son lit, quoi. Donc c'est très grave ce qui se passe, et cette affaire de succession du coup normalement est réglée en 3 coups de cuillère à peau, puisque en gros, pour vous résumer l'enjeu, il y a 2 parties, il y a...
ça s'appelle ça une pétition.
Une pétition,
en anglais.
Tout à fait. Une pétition des doléances, finalement, au trône. Il y a le camp de, enfin l'argument de Véhémond de Velaryon qui est je suis l'héritier de Driftmark parce que les enfants de Rhaenyra ne sont pas des Velaryon, ils ne sont pas légitimes, du coup c'est à moi que ça revient parce que il y a pas d'autre héritier mâle,
plus
puisque
proche.
Voilà, il y a pas d'autre mâle le plus proche, puisque dans les enfants Velaryon il y a que des filles, il y a les jumelles de Daemon et Lena. Et le game de Rhaenyra, c'est « Attendez pas du tout, mes enfants sont 120% des Velaryon, je vois pas ce qui vous fait dire ça, et en plus je suis reine, donc voilà. » S'il y a pas Viserys qui rentre, en vrai, Rhaenyra, elle perd, c'est sûr. Elle perd à 120%, Alicent est là, c'est dead, le Royal Council, c'est dead, Otto, c'est dead, le gars est littéralement sur le trône de fer, et là, la porte s'ouvre.
Ouais, donc en fait, Rhaenyra est sur le point de faire son plaidoyer.
Tout à fait.
Et...
Sa pétition.
Elle est coupée dans son élan par la porte qui s'ouvre. Et là, ils refont ce qui faisait beaucoup dans Game of Thrones, King of the Andals, King of the Last, King of the First Man, King of the
First of his name.
Viserys Targaryen. Viserys Targaryen qui arrive tel le parrain avec sa canne.
Moi, et je suis avec son, littéralement, j'ai posé mon tel, j'ai ouvert la bouche, j'étais là en mode.
Ah ouais, incroyable.
Parce que déjà, vu la dégaine du gars et tout, et tu le vois de dos avec la couronne, et là, bam, tu vois le masque, et j'étais là, mais qu'est-ce?
Ça défonce.
C'est incroyable ce qui se passe.
Il y a une petite musique, et ça défonce.
Là, alors, apparemment, j'ai pas vérifié, ok, mais apparemment, le thème musical, c'est le thème musical de Robert Baratheon.
Ah ouais?
Qu'ils ont remis, du coup, pour Viserys qui marche sur le trône. Et si c'est vrai, c'est très grave. J'adore.
C'est très beau.
Et c'est vraiment, c'est littéralement ce que Rhaenyra lui a demandé la nuit d'avant en pensant qu'il l'entendait pas parce qu'elle, il la reconnaissait pas du tout et lui parlait comme à sa femme. Et elle était là vraiment, j'ai juste besoin, là, j'ai besoin que tu me soutiennes, j'ai besoin que tu sois dans ma team. Et il était pas présent à ce moment-là et elle a fondu en larmes. Elle était là, mais en fait, je suis finie. Ouais, genre, je suis finie. Ouais. Non seulement, en fait, Rhaenyra, elle est pas en mode, ah non, je serai jamais reine. Ça, à la limite, ils ok, elle est là. En fait, vraiment, je vais me faire buter si je suis pas reine. Tout comme Alicent, elle est là. Si Rhaenyra est reine, mes enfants vont se faire buter. On est même pas tant sur une lutte de pouvoir. Hein. On est aussi sur des gens qui pensent vraiment qu'ils vont se faire buter.
C'est la survie.
Et que les gens qu'ils aiment vont se faire buter. Et son daron qui arrive et la porte qui s'ouvre et Otto, la tête de Otto qui est là. Oh no, qui est sur le trône en mode. Hop là, je me lève discreto. Genre peut-être ils m'ont
pas vu.
I
will sit on the throne today.
Incroyable. Déjà, le temps qu'il met à traverser toute la pièce.
C'est trop beau. Chaque image, tu peux faire un arrêt sur image, c'est un tableau.
Non, mais c'est incroyable.
C'est trop bien. Il a ce putain de masque de fantôme de l'opéra qui est un peu du bonus, mais qui est trop bien.
Qui est de trop, enfin, qui est trop drama.
Ouais,
et en même temps, c'est des Targaryens.
C'est trop bien.
C'est tellement drama
c'est
pour
trop
rien.
Bien.
Et je veux dire, le crab feeder, il avait
bien.
Un masque.
Il avait le même masque, en vrai.
Quasiment. Je me suis dit, peut-être, ça va confuser des gens, tu vois.
Ouais.
Déjà, le masque du crab feeder, c'était compliqué de dire c'est un masque de Sons of the Harpy, mais qui est modifié et tout. Là, c'est juste, littéralement, il me semble qu'il n'y a pas de signification au masque au-delà de.
C'est pour garder le
reveal de sa vraie tête.
Ouais.
C'est parce que il y a un côté fantôme de l'opéra qui est pour moi une vraie inspiration beaucoup de la part des gens qui ont créé
incroyable.
Les costumes.
Non mais l'image est trop bien.
Et
c'est
en vrai,
trop fort. C'est trop.
C'est et alors ça je l'ai eu 24 heures après. C'est un Viserys Targaryen qui a de l'or fondu sur la gueule, tu vois. Il a littéralement le même.
Ah merde.
Et
oh
le frère de Daenerys, si vous l'avez.
De... Merde, il a le même nom. Merde. Oh là là, trop forte. Ça c'est Mimi, ça. Ça c'est Mimi. Elle dit qu'elle est stressée, mais elle est en pleine forme.
J'étais vraiment genre.
Elle est en pleine forme. Elle est en pleine forme. Elle nique tout. Elle nique tout. Elle nique tout. C'est tout.
Du coup, je pense qu'il y a un écho de maybe c'était voilà pas ta meilleure idée de mettre de l'or mou sur ta tête en tant que Viserys Targaryen premier du nom.
Il est pas mou l'or là qui met.
Non, mais enfin c'est un masque rigide, mais tu vois c'est de l'or quoi. Il est quand même. En fait, il est. C'est pas juste une paroi, il est façonné, il y a un point d'œil, il y a un peu, tu vois.
Ouais, mais l'œil, il est pas en face de son trou.
Non, il est para. Enfin, le truc est. Peut-être il l'a pris à quelqu'un d'autre, tu vois.
Non, mais c'est ça qui est encore mieux.
Il vient
c'est
d'où son masque.
C'est encore mieux. C'est vraiment genre. De toute façon, que l'œil soit à la place du trou ou pas, peu importe, puisqu'il y a plus d'œil à ce moment-là. Et
oui,
c'est pour ça qui est encore
rien.
Plus ouf. C'est que c'est genre, limite, il a découpé une statue, il s'est fait un masque
oui,
avec, quoi.
On sait pas
tu
trop.
Vois
ça a
genre,
pas l'air très
hyper
ouf,
c'est trop ouf, c'est trop bien, c'est trop bien. C'est
et
trop
après,
bien.
Effectivement, alors.
Il tombe, il fait tomber sa couronne.
Donc,
c'est Daemon
coup,
qui le ramasse, qui l'aide à le poser sur le trône.
Il s'avance
un
vers
vrai,
le trône.
Un vrai truc d'amour entre frères. Moi, j'adore quand il y a des moments. J'adore quand il y a des moments comme ça. J'adore quand il y a des moments comme ça. Moi, j'ai failli pleurer pendant le dîner.
Ah non, mais le dîner, on va en parler. Mais en vrai, il y a un vrai truc de quand t'as déjà eu un proche malade en phase.
Moi, ça m'a rappelé mon grand-père.
Et tout.
Ouais,
moi, voilà.
Ça m'a rappelé mon
quand
grand-père.
T'as déjà eu des proches qui sont pas loin.
Ah, putain.
C'est hyper.
Ça m'a touché, quoi. Et puis la petite musique, et tu les vois tout ce qu'il fait. Même Otto, il a l'air sympa dans ce moment.
Mais
dans
oui.
Ce moment-là. Même Otto, il a l'air sympa.
Cool. Grave.
Genre il fait des petits hey et tout. Ouais, franchement, trop bien. Putain, le dîner était trop bien.
Grave.
Il y a pas de scène entre ça et le dîner.
Non, je crois pas. On va finir la scène du trône parce que je vais faire une petite pause pipi, mais du coup, on va faire une petite pause. Comme ça je vous le dis si vous avez envie de faire pipi, ça va être maintenant. Du coup, voilà, le seul truc c'est que il dit à Otto I will sit the throne today. Et Otto est là, d'accord, ok, moi j'ai jamais dit vous pouviez pas, n'hésitez pas à y aller. Parce que quand même, on l'a vu interagir deux, trois fois avec Otto en mode je vais faire des trucs aujourd'hui. Et Otto est là, oh non, mais c'est dommage, non, c'est pas sur le planning. Et du coup, ce qu'il fait, c'est qu'il ré-légitime Rhaenyra comme l'héritière de la, du trône.
Rhaenyra dévoile en public le contrat de marier.
C'est Rhaenys qui le fait. C'est encore plus puissant.
Rhaenys.
En gros, Viserys, le roi, il dit la seule personne qui peut nous éclairer sur les intentions de Corlys Velaryon, qui, rappelons-le, n'est pas mort. Hein.
Il n'est pas mort du tout.
Il n'est pas mort, le gars, officiellement. On ne sait pas.
Et...
il n'est toujours pas déclaré mort.
Spoiler alert. Non.
A priori, pour l'instant. Moi, je pense qu'il ne meurt pas. Mais... voilà. Voilà. Du coup, Viserys, il dit bon, bah, si jamais Corlys avait changé d'avis, qui pourrait nous le dire? C'est Rhaenys.
Au
et
point
c'est
que
là...
son absence dans cet épisode est presque un plot point un peu forcé.
Oui, mais en même temps, c'est aussi un vrai truc de bah oui, si tu vas faire là. Et aussi, c'est un truc de, il a pas digéré la mort de Lénore, tu vois. Pour lui, Lénore, enfin, il a perdu vraiment ses deux gamins en une journée. Il a perdu sa fille et son fils.
Donc il part en guerre.
Je pense qu'il a Vriax et en plus il était.
En gros, c'est ça. Il part en. Il part en guerre aux Stepstones pour oublier.
Oui, et pour oublier aussi que bah du coup le nom de sa famille va être tenu par des bâtards. Ouais. Parce que c'est ça aussi, c'est que. Pour lui, c'est les Velaryon, entre guillemets, de Rhaenyra qui vont prendre le nom de sa famille. Et du coup, il est parti oublié et dans le déni de tout ça. Et il est blessé et peut-être mourant. Et on va voir s'il revient. Mais du coup, la logique de Viserys, quand il finit par arriver en haut de son trône, qui est genre une épopée, mon gars, on pourrait faire 127 heures hein, le film juste sur lui qui arrive de la porte au trône, mais il y arrive. Et du coup, la seule personne dont il accepte de l'aide, c'est Daemon. Et en fait, il refuse toute l'aide et sa couronne, elle tombe. Et il y a une main... qui arrive pour la prendre et on sait pas qui c'est. Tout comme au début dans Ecclesia of the Dragon, on avait des bottes et on savait pas qui c'était. Et la caméra, elle... et lui-même,
toujours
il est là. J'ai dit, je voulais pas d'aide. Et il tourne la tête
Smith.
Et il voit Daemon. Et Daemon, il est là. Let's go. Et il l'assoit sur le trône et il lui pose la couronne sur la tête. Et je suis là. Il s'aime vraiment trop. J'en peux plus. Genre, vraiment, Daemon, il aime son frère. Il est fucked up et sociopathe et fracassant et il a tué sa femme. Ok. D'accord, et aussi un random gars dans l'épisode précédent. Mais il aime son frère, et c'était extrêmement touchant. Ouais.
Cool.
Voilà, et du coup, c'était quand même important.
Il est cool ou pas, Daemon, dans le chat?
Bien sûr, il est cool, Daemon, dans le chat. Et du coup, que je vérifie avant la scène du dîner qui arrive. Dîner là, ok. On est bon, en baume. Ah oui. Ah oui, bah oui, Daemon quand même. Tu sais, quand Vaemond tu te souviens qu'il
y a un procès. Ah, donc il y a quand même ce moment.
Et tellement le procès, il sert à rien. On est là, du coup, on avance au dîner. Ouais. C'est
non,
quand
non.
même
Vaemond,
ouf.
Vaemond
dit... Dans cet épisode, un mec se fait couper la tête devant le trône de fer. Et nous, on est là. Ah, désolé, on avait oublié, on était passé au dîner. On était passé au banquet d'après, quoi. Où il se passe les vrais trucs, mais quand même.
Non, il se passe un... Non, c'est incroyable, ce
Vaemond, il a décidé d'être là. On va arrêter les subtweets.
On va
parler,
on va parler
clairement.
Et en fait, c'est
on va
un
dire
suicide.
Les termes. Ah oui.
Clairement, c'est un suicide.
Suicide by Daemon.
Suicide by
Targaryen.
Exactement. Et puis voilà. Et donc il dit les choses. Il dit voilà, les enfants de Rhaenyra sont des bâtards et en plus d'une grosse pute.
Ouais. Il dit Rhaenyra est une pute et ses enfants sont des bâtards et c'est ciao.
Et donc
ciao.
Là, donc il commet high treason. Donc là, il y a pas
trahison, suggérer que l'héritière du trône est illégitime, c'est non.
Devant assez de témoins pour qu'il n'y ait pas besoin de
dont le roi qui est sorti de chez lui pour la première
exactement.
Fois en
le
5 ans.
Le roi qui a sorti sa dague.
Le roi, mais Viserys, le gars, il doit lui rester deux phalanges, je pense, max, dans son corps. Et il est là, je sors ma dague quand même. T'es là, mon gars. Incroyable, cette combativité. Moi, j'adore.
Donc voilà. Donc, bon, il sort sa dague un peu symboliquement. Et en fait.
Après cet épisode à rien foutre symboliquement, c'est déjà bien.
Ouais, le coup de dague. C'est Daemon qui le met par derrière en tranchant la tête.
J'ai sorti ma grosse dague.
en tranchant la tête de Daemon et il lui laisse la langue et lui parce que Viserys c'est genre je vais te couper la langue.
Parce qu'à l'épisode d'avant Viserys il avait dit le premier qui redit un truc sur comme quoi c'est des bâtards les enfants de Rhaenyra je lui coupe la langue.
Ouais.
Et il avait dit ça à Alicent.
Ouais. Il lui dit je vais te couper la langue. Et Daemon lui dit, on n'a pas besoin de toucher à sa langue.
Il peut garder sa langue. Vraiment,
donc en plus de ça, ça veut dire qu'il a visé pour couper la tête du gars au-dessus de la langue et qu'il a été...
Et il est capable.
Et qu'il est capable de le faire et que c'est un clean cut.
Tout à fait.
Donc voilà.
Alors, petit détail avant la pause, pour parler de qui est fort avec une épée. Rappelez-vous, dans l'épisode 1, Kristen Cole battait Damon en tournoi, ok ? Et même finissait par quasiment l'achever si Damon n'avait pas dit « Ok, je me relève ». Actuellement, Aemond est au même niveau que Kristen Cole. Donc Aemond avec le bandeau sur l'œil, là, le gamin targaryen zinzin, il est au même niveau que Kristen Cole, puisque quand on le voit se battre avec Kristen Cole, il est à égal.
Je sais pas si Kristen Cole est à 100%,
en tout cas, 100% non, de ses points. Mais oui, mais à l'entraînement, ouais. On a vu Kristen Cole s'entraîner avec eux il y a 6 ans.
Il a un niveau très très bien.
Voilà, en tout cas, il peut lui tenir tête. Et à la fin, ils se font un petit regard avec Aemond en mode « on y va ou pas ?» Et ils sont là, non. Mais je vous dis, enfin, je suis pas en train de vous dire il va y avoir un combat et tout, mais c'est intéressant, tout comme c'est intéressant de noter qui a combien de dragons, c'est intéressant de noter un peu qui est bon à se bagarrer ou pas. Et Aemond, il est clairement très très chaud, mais Daemon est toujours très très chaud. Et il a son âme en acier valyrien qui coupe très très bien. Mmh. Et il hésite zéro à décapiter des gars dans la salle du trône. Et alors j'ai des gens qui m'ont dit « comment ça se fait ?» Que c'est ok, qu'il n'y a pas de malaise et tout. Mais en vrai, voilà, comme tu dis, haute trahison. Parjure, calomnie, traité de bâtard les enfants de l'héritière du trône qui est littéralement là.
C'est de la self-défense, tout simplement.
Le roi, il l'a dit 1000 fois. Et en vrai, ce serait arrivé la même chose, mais plus tard. C'est-à-dire, si jamais Daemon ne l'avait pas décapité, il y aurait eu arrachage de langue probablement, enfin coupage de langue, procès, décapitation. Enfin, il n'a pas fait que prétendre que les enfants étaient des bâtards. Il a vraiment genre... Il était all-in.
Il l'a dit agressivement.
Mais il le savait, tu vois, il était là. Ouais. Mais tu sais quoi, on va le dire tout haut, parce qu'il y a aussi ça, c'est qu'il est là en mode... Mais vous êtes tous en train de nier la fucking évidence qui est... Alors, je ne suis pas raccord avec Rhaenyra est une traînée. Rhaenyra fait ce qu'elle veut de sa vie, mais... En tout cas, oui, le fait que les gamins de Rhaenyra soient des bâtards, il est là... On peut peut-être en parler de ce problème. Et ils sont là, non, on va pas en parler. C'est trop chiant. Du coup, on n'en parle pas. Et on se demande, est-ce que ça pourrait causer des problèmes à l'avenir, par exemple, au dîner ? On ne sait pas, probablement. Time for a break ?
Ouais, time for a break.
On est de retour. Alors, on était en train de se dire qu'il y a une scène qu'on a vaguement oubliée avant d'arriver au dîner. C'est
moi, elle m'a marqué
quand même...
visuellement, parce qu'elle est bien filmée.
Elle est visuellement
bien
travaillée.
Il y a un truc champ contre champ, un peu avec... Pas champ contre champ, mais tu vois, genre focus...
Oui, on ne sait jamais trop ce qu'on regarde et tout. Et elle est... Et même en termes de littéralement création corporelle, elle est pas mal foutue puisque c'est la scène d'embaumement, ouais, de Vaemon de Velaryon qui s'est donc fait couper la tête en deux par Daemon il y a quelques temps, enfin il y a quelques instants seulement. Donc c'est Rhaenys qui va visiter le corps du frère de son mari. Rhaenys se retrouve quand même dans des positions politiques un petit peu compliquées puisque si son mari revient et qu'il est vivant et qu'il est conscient. Il va quand même avoir un moment de bah Daemon il a tué mon frère, ce qui est pas ouf, sachant que Corlys et Daemon on sait pas trop s'ils s'entendent de ouf et tout. Mais du coup Rhaenys va voir l'embaumement du corps, on comprend pas forcément pourquoi, mais bon c'est quand même un membre de sa famille.
Elle parle avec le
et elle parle avec le maître qui lui dit qu'elle devrait pas rester là
parce que ça porte malheur.
Voilà, elle dit vous devriez donc il dit pour vous faire un petit point lore, il dit vous devriez laisser les sœurs du silence travailler. Les sœurs du silence, c'est des religieuses qui s'occupent de l'embaumement et de l'entretien et de la crémation ou l'enterrement des corps et qui s'appellent comme ça parce que elles ne parlent pas, elles ont fait vœu de silence. Il y a une légende qui dit qu'elles ont tout eu la langue coupée en entrant au couvent. En vrai, non, c'est un vœu pieux comme dans la vie, il y a eu des couvents de sœurs silencieuses. Et par contre, du coup, le maître dit à Rhaenys, voilà, vous devriez pas regarder ça. Et elle lui répond, l'étranger m'a visité. Plus de voix que je ne peux le compter, il ne se demandait pas si mes yeux étaient ouverts ou fermés. Et ce qu'elle veut dire par là, c'est qu'en fait, il y a donc dans la religion des sept de Westeros, il y a sept éléments et le plus sombre, c'est l'étranger qui représente la mort. Donc ce qu'elle dit, c'est j'ai côtoyé la mort plus souvent qu'à mon tour et la mort s'en fichait si je regardais ou pas. Quand la mort est là, la mort est là. Donc voilà le point
jazz.
De contexte de jazz.
Quand le jazz est là, la Java s'en va.
Ah, oh, je l'ai. Immédiatement, je l'ai. Donc voilà, en fait, on se disait qu'on comprend pas trop l'intérêt de cette scène, à part du bon travail pour les gens qui font des modèles réalistes de corps coupés en deux au niveau de genre 3 cm au-dessus de la mâchoire.
La lumière est belle.
Ah oui, non, c'est vrai. les chefs-op, les éclairagistes, les preneurs et preneuses de son. Les... Non, mais tout le monde a bien taffé. Hein. Mais à quoi elle sert cette scène? En vrai, je sais pas trop. Mais du coup, pour mais vous dire, même moi, j'ai lu les 1200 pages dans la, je sais pas.
Peut-être que dans la... Dans... C'est ça qui est bien avec cette série, c'est qu'elle est assez bien écrite pour que j'ai envie de croire que dans l'épisode d'après, il y a une scène miroir à ça, ou un peu plus tard, il y a une scène miroir à ça, où le maître se retrouve en, à nouveau en face de Rhaenys, et qu'il se passe un truc.
Mais je pense qu'il, enfin, limite, il faut parce
ils plantent
que...
des graines, quoi. Ils font comme Jar Jar Martin.
En fait, c'est
fait,
une
quoi.
Série qui, tous les deux épisodes sautent de 8 ans parce qu'on n'a pas le temps, tu vois, pour des petites scènes, inconsistantes. Donc, je suis là, si t'as mis cette scène, il y a intérêt à ce qu'elle vaille le coup, tu vois. Mais voilà, si jamais vous avez une hypothèse de à quoi elle sert, ça m'intéresse, parce que là, tout de suite, je l'ai pas, et pourtant, je me suis tapé les bouquins. Mais c'est pas grave, parce qu'on arrive à une scène qui a très clairement un intérêt, qui est la séquence du dîner de famille. Alors, un dîner de famille où il y a beaucoup de convives qui
qu'est-ce
sont...
Qu'est-ce que t'en as pensé, Tequila Tex?
Qu'est-ce que t'en... Qu'est-ce que t'en as pensé, Tequila Tex? J'en ai pensé...
J'en ai pensé que ce qu'il y avait à l'écran...
Ce qu'il y avait à l'écran était joli. Il y avait moins de air roulé que ce que je craignais, mais aussi moins d'hommes poissons. Donc que faire? Non, c'était super, j'ai failli pleurer 3 fois. Qu'est-ce que je te dis? C'était incroyable.
Ouais, ouais, on a déjà parlé 15 fois, mais...
C'était digne du pic Game of Thrones, du ouais. meilleur de Game of Thrones, mais concentré dans une
non, mais
dans
là,
un
la
flacon
musique,
qu'on se
la musique
poudre,
est
là.
Mieux, je trouve qu'il est... C'est toujours le même qui fait la zik?
Oui, c'est Rawin Jamadi.
Putain,
il est incroyable. Et apparemment...
Et franchement, il est meilleur.
Il a la synesthésie.
Ah ouais.
Où tu, du coup, tu associes des émotions à des ressentis, comment dire ça? En gros, par exemple, si t'as la synesthésie et que ça se manifeste d'un point de vue musical, des fois, les notes, ça va être des couleurs, ou des odeurs, ou des goûts, ou des chiffres, ou des machins, et plein de gens qui ont pas de sens. Et des fois, t'as des compositeurs de génie qui vont te dire, bah ouais, mais c'est normal, parce qu'en fait, le do, c'est le 3. Et le la c'est le 2, et du coup 3 et 2 ça va bien ensemble, et t'es là, mais de quoi tu parles? Ou alors ils vont te dire, bah le do ça sent la cannelle, et le 3 ça sent la pomme, donc bah do et 3 ça va bien ensemble, et tu fais, quoi? Et apparemment il a ça, Rawin Jamadi, donc ça peut peut-être expliquer que ça marche
Mimi
bien.
Mimi
Eagle,
je n'écoute pas de musique.
Je sais ce que c'est la synesthésie, ça n'existe pas que pour la musique, d'accord? Je suis curieuse de la vie.
Mimi, anyway, je n'écoute pas de musique. Également.
Same compositeur.
Et on a eu des aveux quant à certains goûts musicaux. La caméra
non,
éteinte.
Non mais ça va, t'es qu'il attaque. Tout le monde sait que j'aime Fauve. Il n'y a pas de problème. Tout le monde sait que j'écoute Fauve. Il n'y a pas de... Le mec, il croit, tu vois. Tu crois que t'es enfermé ici avec moi? Tu crois que je suis enfermé ici avec toi? C'est toi qui es enfermé ici avec moi. On peut écouter Fauve toute la nuit. Moi, j'ai pas peur. Mais ouais. On a autre chose à faire. On a un dîner de Targaryen slash Strong slash Velaryon slash Hightower slash on va pas dire les sous-genres parce qu'après ça fait du monde.
Donc ils sont tous réunis
toute la famille de Viserys
et ils ont la mauvaise idée de faire des toasts.
Oui. Enfin au début Viserys c'est une bonne idée. Lance l'idée. Alors non mais déjà Viserys il arrive. Sur sa litière, donc sur sa chaise portée par des gardes.
Ouais, ça c'est beau.
Et il se pose et il fait le lien entre Alicent et Rhaenyra, genre littéralement physiquement, elles sont séparées par un truc de genre bien 2 mètres parce qu'il faut la place de rentrer Viserys et sa chaise. Et c'est quand il arrive que du coup il fait le lien entre elles deux et j'étais là, waouh, chef d'œuvre et tout, incroyable, Emmy Award immédiatement. Et Alicent est en vert sombre, Rhaenyra est en noir et j'étais ouais. là, ok, un peu les greens et les blacks et tout. Et pour moi, c'est quand il...
Je crois qu'il y a en plus une famille de chaque côté.
Oui et non, parce que oui, il y a. Ben après, ils sont un peu intercalés les filles Velaryon,
oui,
Bella et Rhaena, et les garçons. Mais effectivement, il y a un petit pool de blondinés d'un côté et un petit pool de bruns de l'autre. Et pour moi, c'est quand Viserys il enlève son masque d'or justement dont on parlait. Qu'il y a tout qui change parce que...
Il dit « I wanted to see me as I am » ou un truc
ouais.
comme ça.
Oui, il dit... En gros, tout son speech, c'est... Peu importe que vous le fassiez parce que je suis votre roi ou parce que je suis votre proche, mais en tout cas, je vous aime et je vous demande de le faire parce que je vous aime. Je vous demande pas de le faire parce que je suis votre roi, mais parce que vous êtes les personnes que j'aime le plus au monde et les visages qui me rendent le plus heureux au monde. Tu vois, c'est ça qu'il dit, genre « The faces I love the most in the world ». Je suis là... Ah. Et il dit, vous voir me remplit de joie et de tristesse parce que ces visages que j'aime le plus au monde se sont retournés les uns contre les autres et je suis là, ah, il a pas tort. Après, c'est un peu ta faute, frère, mais quand même, il a pas tort. Enfin, c'est un peu ta faute. C'est la faute de son inaction et de sa peur et de, voilà. Et pour moi, c'est quand il enlève son masque que c'est, ça devient, ça shift, tu vois, de, ok, ça, c'est là où je me suis dit, peut-être, je vais pleurer, tu vois. Alors, j'ai pas pleuré, mais je me suis dit, peut-être, pour la première fois de ma vie, je vais pleurer devant un épisode de série de l'univers Game of Thrones, tu vois. Genre, qu'est-ce qui se passe? On en a vécu des choses tragiques, mais j'ai jamais, j'ai failli pleurer quand Jaime, il a adoubé Brienne Chevalier, en vrai. Mais, je suis un bonhomme, je l'ai pas fait, ok. Mais là, j'étais vraiment pas loin et j'étais là, putain, on est même pas à la fin de la saison 1, ça va vite quand même.
Ouais, tu sens que ça monte.
Les émotions, elles montent vite. Mais c'est vraiment un truc, alors c'est intéressant parce que c'est pas ce sentiment, on l'a pas dans le livre, quoi. On a vraiment pas du tout le même attachement à Viserys, qui est un peu insignifiant. Et par contre, enfin, il a un peu la même mort, il a une belle mort, alors sans la prophétie, mais en gros sa mort, c'est que il réunit plein de gens de sa famille autour de lui et que il raconte à ses petits-enfants une dernière histoire de sa vie ou de sa jeunesse ou je sais plus quoi, et il s'endort pour une sieste et il se réveille jamais. Donc il est content, il est vraiment, ça va, quoi. Et je crois qu'il y a même Rhaenyra et tout, c'est au moment où Rhaenyra est là. Mais c'est pas du tout, du coup, le même impact émotionnel. Et quand il enlève son masque, je trouve que juste voir les réactions, je trouve que c'est intéressant de voir les gens qui vivent à King's Landing, notamment Aegon et tous les petits cons là, qui sont à la fois dégoûtés mais un peu habitués. Genre ils sont là, papy il enlève, c'est un peu genre ton papy qui enlève son œil de verre t'es là, oh, non papy il est un peu dégueu. Et Rhaenyra et Daemon, ils sont là.
Ok.
Excusez-moi. Le mec a un trou dans la gueule. Ils sont vraiment genre un peu plus choqués par. Okay.
Je pense que c'est physiquement impossible de vivre comme ça.
En vrai, j'ai pas googlé. Dites-moi si vous l'avez fait, mais j'ai pas envie de tomber sur des trucs hardcore. Mais je sais pas si c'est possible de vivre avec un tel trou dans la mâchoire, surtout à une époque moyenâgeuse. Hein, on va pas se mentir. I don't know. Et un œil qui pend et tout. Mais après, c'est les Targaryens. Ils sont résistants. Hein,
ils sont magiques un peu
à certains mots. Et du coup, Viserys fait son vibrant plaidoyer pour quid de traîner ensemble et d'être cool, SVP, et pendant 10 minutes. 10 healthy minutes.
Non, 5 minutes. Rhaenyra d'abord dit, je lève mon verre à Alicent qui a toujours été là pour...
Bah, elle le dit une fois que Viserys a dit,
oui,
entendez-vous. Là, du coup, Rhaenyra dit, ok, je vais le faire. Ouais. Et elle dit, Alicent, effectivement...
Ouais, t'es toujours occupé de ton mari. Je te respecte et je te dois des excuses. Elle lui dit, je te dois des excuses.
Elle avait déjà fait un pas vers elle à l'épisode précédent, mais qui était beaucoup plus, avant qu'elle quitte King's Landing.
Là, tu sens la sincérité.
Ouais.
Et là, Alicent, elle le reçoit, ça. Elle est trop contente.
On est d'accord. Elle est sincère.
Ouais, elle est trop
contente. Quand Alicent, elle lui dit, merci et tu feras une bonne reine.
Ouais, ouais.
On est à ça.
De la
c'est la fin de la série. C'est une mini-série, en fait. Mais t'imagines, incroyable. Imagine, ils finissent comme ça. Ils sont là. Ouais, on sait que dans le livre, ça continue, mais nous, on a fait un spin-off où, en fait, ça se passe bien et c'est une mini-série. Donc, en fait, ils se mettent d'accord et c'était une saison super bien. Non genre, pendant une saison, on s'est dit, oh, ils vont grave se taper sur la gueule. Et en fait, à la fin, ils disent, bah non, mais le royaume, il se tiendrait mieux si on le faisait pas.
Là,
et après, ils le font pas. Et
it's in the way that you use it.
Rendez-vous en 2024 pour Snow, le spin-off sur Jon Snow. Imagine le pétage de plomb. C'est pas 100% impossible ce qu'on vous raconte. Hein. Ça peut vous arriver. Ça peut vous arriver chez vous. Mais probablement pas. Non, il va se passer deux ou trois trucs un peu plus marrants, quoi. Mais pour moi, quand Alicent, elle dit, tu feras une bonne reine. Et même, il y a un petit plan sur Otto, qu'elle a pas hyper content, tu vois, mais qu'elle a. Ouais. En fait, c'est aussi ce truc de tous ces gens. Emmagasine des armes et des munitions et se prépare à une guerre depuis si longtemps. Et là, Viserys, il est très clairement le gars. Bon, tout à l'heure, je disais, il est à un éternuement de ses dettes, mais là, il est à un courant d'air de ses dettes. Tu vois, il est pas bien. Ils sont là. En fait, ça va arriver. Genre, c'est le moment où on a bien fait les shows, là, depuis 15 ans. C'est le moment où on va sortir les armes. Et je pense qu'une bonne partie des protagonistes sont là.
C'est ça qui est beau. C'est que c'est des Otto Hightower, des gens comme ça qui veulent la guerre. C'est pas nécessairement Alicent et Rhaenyra, quoi.
Bah ouais. Et même leurs gamins, tu vois. Les gamins, ils sont là, à part Aemond qui est chaud. Aemond, il est là, je suis chaud.
Non, il est chaud.
Mais la moitié des gamins, au moins, pour être généreux, sont là. Bah, en fait, non, on n'a pas trop envie de faire ça. En plus, on a une vie pas mal. En vrai, ça va.
Ouais,
tranquille. Ouais. Et ils vont tous être amenés dans des violences terribles, quoi. par leurs parents. Mais du coup, on a cet host assez sympathique. Voilà, merci à Alicenne de s'occuper de papa. Mmh. Merci à Rhaenyra d'être notre future reine. Et là, on commence à avoir les gamins qui, du coup, foutent la merde.
Ça commence par Aegon qui drague, non, qui nargue, qui dit « Ah, tu vas enfin pouvoir pécho, Jake, non, Jace ?»
Oui, en gros, Jace est promis à une des jumelles de Daemon et Lena, donc c'est soit Rhaena, soit Bella, je vais pas vous dire qui c'est, je m'en fous. C'est une des deux, enfin, j'ai pas l'info. C'est une des deux, deux sont là, elles sont toutes les deux promises, enfin bon, c'est compliqué. Et Aegon décide de faire des références aux compétences de Jace Holly, qui apparemment est vierge, et au fait que n'hésite pas si tu veux être il dit à la fille Velaryon, si tu veux savoir ce que c'est que d'être satisfaite, n'hésite pas, sachant qu'on vient d'apprendre qu'il a violé une meuf, t'es là. Ok, vraiment un connard, quoi.
Ouais. Après, il y a je sais plus qui fait un truc. La sœur de...
Elena, elle fait un speech. En gros, ce qui se passe, c'est que...
Ouais.
En fait, il y a plein de moments où ça part, presque. Mais tant que Viserys est là, ça démarre jamais, tu vois. Donc, il y a Aegon qui est odieux avec la promise de... En fait, ce qui est intéressant, c'est que les mariages entre les filles Velaryon, entre les filles de Daemon et Lena et les enfants de Daemon et Rhaenyra, nonobstant le fait qu'ils sont forcément incestueux...
Ils sont plutôt tolérés parce qu'ils sont
plutôt... En fait, ça marche bien.
Ouais, ça marche bien.
Ils ont l'air de bien s'aimer.
Ils
ont l'air de bien s'aimer en tant que personne. Ils ont l'air d'être sympas.
Ouais.
Ils ont l'air
Tenus la main quand ça allait pas, pendant les enterrements, quelques années avant. Les graines de cette amitié / amour, elles sont déjà plantées dans la série.
Qui n'a pas rencontré l'amour de sa vie en enterrant sa mère face à ses cousins qu'il connaissait pas vraiment, quoi. Qui étaient aussi ses oncles et peut-être ses neveux. On ne sait pas. Écoutez, relatable. Mais oui, non, il y a un vrai truc de, en vrai, ils ont l'air de s'apprécier. Et quand, Rhaenys annonce devant Viserys sur le trône, Rhaenyra m'a proposé d'unir nos enfants.
Qui disent, Vhagar s'est fait voler, tu vois, elles vont voir leurs cousins.
Ouais, elles sont déterrées et tout.
Ouais.
Donc il y a un vrai lien qui a été créé, et alors on sait pas s'ils sont beaucoup revus tous ensemble depuis, mais en tout cas, les annonces de mariage ont l'air de bien se passer et d'être bien reçues. Donc c'est aussi un facteur de, maybe ça va être cool si en fait les gens qui sont mariés ne se détestent pas, parce que c'est quand même, genre, 50% des problèmes dans l'univers de la royauté de Westeros, c'est arrêter de marier des meufs à des mecs qui sont détestables, parce qu'après les meufs, elles vont essayer de les buter. C'est la vie. Et c'est normal, ils le méritent. Du coup, c'est compliqué. Là, ça a l'air de bien se passer, donc les fiançailles sont relativement bien accueillies, ça danse un petit peu, c'est mignon et tout. Mais la première occurrence, c'est du coup Aegon qui fait cette vanne sur les performances de Jace, le fils de Rhaenyra. Jace, il se lève, et en fait, Aemon, il se lève immédiatement. Ouais. Aemon, avec son cache-œil, il est là. Tu te lèves, je me lève. Il attend que ça. Le mec, il est là. Ça. Donne-moi une raison.
Et Jace, il est terrifié.
Mais ouais,
parce qu'il vient de le voir se battre dans la cour.
Et aussi, il sait que, alors c'est pas Jace, c'est Luce, le petit frère, Luke, qui lui a crevé l'œil, mais ils étaient quand même là tous les deux, et aucun des deux fait vraiment le show. Donc, Jace, il voit Aemon se lever, il est là. Ok, je vais faire un toast sympa. Et du coup, il fait un toast sympa. Il est là. Voilà, à mes oncles, Aemon, Aegon.
Je me rappelle quand on se marrait bien dans la cour.
J'avais souvenir tendre de notre éducation au combat dans la cour, ce qui est très genre, nous on sait comment ça s'est passé. Donc il fait un vrai effort, mais en fait c'est marrant ce truc de, et j'ai beaucoup de gens qui m'ont amené ce truc de, les enfants d'Alicent sont les pires personnes, et les enfants de Rhaenyra sont vraiment des bonnes personnes a priori, tu vois. C'est vraiment, ça a l'air d'être des bons gars. Et c'est intéressant ce truc de, Alicent a beau se persuader et se répéter qu'elle agit pour le bien en général avec un grand B, parce qu'elle est très religieuse, mais aussi pour le bien commun, pour la décence, pour mettre des gens qui méritent le trône sur le trône et tout. Et en fait,
alors
ses enfants, dont elle défend la place sur le trône littéralement au péril de sa vie et de la leur.
Un peu comme Cersei, elle se cerseifie un petit peu.
Ouais, c'est ça. C'est cette question de comment tu fais quand t'es censé garantir la place de tes enfants sur le trône et que tes enfants c'est des connards. Et en fait, quand Aegon, ils ont leur discussion sur Aegon, il a violé la servante, et qu'elle lui dit you are no son of mine. Elle lui dit tu n'es pas de mon sang, quoi. Elle le rejette. Elle est là, en fait, je comprends pas pourquoi tu fais ça. Je comprends pas pourquoi tu. Et je pense qu'elle a un vrai truc de. Enfin, c'est quand même un tel d'être une femme qui a un fils qui viole des femmes, et t'es là, ok, je suis censée genre rien en faire. Enfin, c'est quand même un niveau de, digestion ouais,
elle est quand
de,
même
du patriarcat
en train de le défendre,
qui est... Oui, oui, elle est en train de le défendre. Et
on
encore une fois,
ça plutôt
quel
qu'il
choix
meurt,
est
quoi.
Là, tu vois. Mais il va jamais mourir. À qui elle peut dire il a violé une servante et le gars il va
non,
mourir jamais, tu vois.
Non, mais je veux dire mourir si c'est Rhaenyra qui passe au pouvoir.
Non, mais oui, mais il y a une différence entre mon fils c'est un connard et je vais le laisser se faire éclater par le dragon de ma meilleure amie slash du coup belle-fille, mais aussi la
aussi
mère
tante.
D'une partie de mes petits-enfants. Enfin bon, tout est trop compliqué, quoi. Donc il y a ce moment où Jace réussit à rattraper son coup de colère en « Ok, c'est un toast à mes oncles ». Et du coup, Aemond, il se rassoit. Il est là « Ok ». Et Viserys, il a ce long moment trop beau. Enfin non, d'abord, il y a Elena qui fait son toast. Alors, Elena décide de faire un toast, qui est tout à son honneur. On adore Elena dans cette famille.
Je pensais qu'elle allait faire
la défend à tout prix.
Je pensais qu'elle allait dire un truc cryptique, méga chelou.
Elle a dit un truc cryptique, incroyablement précis. Mais c'est pas son toast. Son toast, il est pas cryptique, il est clair. Elle dit le mariage, c'est votre mari vous ignore globalement, sauf des fois quand il est bourré. Du coup, c'est pas si pire. Et Aegon, il est à côté en mode. Ok, rappelez-vous dans l'épisode précédent,
qu'est-ce
qu'elle
a dit de cryptique qui est hyper précis.
Ah, on arrive à la prophétie, mais en gros, du coup, ce qu'elle, enfin voilà, Aegon donc il faut quand même dire que Aegon et Elena, son frère et sœur, sont mariés et ont des enfants. Ils en ont au moins deux. Voilà, comme ça, vous avez l'info. Ce qu'elle dit de cryptique dans cet épisode, c'est un truc genre il y a une bête à travers les planches. Faites attention à la bête à travers les planches. Faites attention à la bête qui court à travers les planches. Et no spoiler pour celles et ceux qui ont lu le livre, a priori c'est au sujet de sang et fromage, qui notamment fromage qui court à travers les planches. Voilà. Vous l'aurez chez vous. Mais à part ça, Elena passe un bon moment et elle est même. Elle le dit pendant le dîner.
En parlant toute seule.
Ouais, elle marmonne. Il y a un plan sur elle et elle dit Beware the beast between the boards.
Beneath the boards. Ok, d'accord.
Tu me diras si t'as une autre interprétation, mais on
non,
est plutôt
non,
sur
tu vas
priori,
on va en parler après.
Ouais. On en parlera en off.
Je sais cheese et machin, je sais qu'ils sont importants.
Oui, bah.
J'ai pas trop suivi, je sais pas.
Ah, ok. C'est ok. C'est un moment de l'intrigue et de la série qui risque d'être assez important. Et alors c'est intéressant que Otto Hightower, quand elle fait son speech malaisant pour tout le monde où elle dit le mariage c'est genre être ignoré sauf quand il est bourré, sachant qu'on sait que son mari est un violeur, hein, donc c'est aussi ce qu'elle a sous-entend, c'est que des fois son mari probablement arrive bourré dans sa chambre et la viole parce que c'est le viol conjugal is a thing. En fait, elle fait un speech qui du coup n'est pas du tout approprié à la situation. Et Otto la félicite, il l'applaudit, il lui dit good, c'était super, il fait un petit sourire gentil, il l'applaudit. Et moi j'étais vraiment déboussolée par cette réaction de Otto parce que je comprends pas, Otto c'est un peu un connard et tout. Et en fait, ce que j'ai compris l'analyse que j'ai acceptée en lisant des trucs, c'est que bah déjà en gros l'idée c'est que Elena elle est sur une forme de spectre neuroatypique où elle est soit dans le spectre de l'autisme, en tout cas dans la création du personnage pour la série, pas forcément parce que dans le livre par exemple elle a pas ce truc de elle adore les bouquins, elle a pas ce truc de elle est à fond dans les insectes, elle a pas ce truc de elle est un peu au quart dans société, elle sait pas trop quoi dire et tout. C'est une Targaryen, donc elle est un peu chelou, mais ça va. Elle est moins chelou.
Mais
elle
a des dreams dans le...
Je crois pas. Non, je crois pas que c'est une dreamer dans le bouquin. Okay. C'est une figure importante de par son statut et son rôle et sa naissance et ce qui va lui arriver, mais en vrai, tant qu'il lui arrive rien, c'est un peu une nobody, tu vois. C'est genre, elle est là comme... tu vois, genre plein d'enfants de la famille sont là, quoi. C'est un peu... Qui se souvient de Joffrey, l'enfant dont Rhaenyra a accouché il y a genre... deux épisodes, bah il est là. Voilà, il existe toujours, mais on s'en fout parce que pour l'instant, il n'a rien à faire. Donc c'est vraiment une invention de la série, ce truc de dreamer, ce truc de elle est à part, un peu voilà, très Luna Lovegood, peut-être autiste. Elle a en tout cas des comportements qui sont codés comme faisant partie du spectre autistique par plein de personnes autistiques, notamment le fait qu'il y a des moments où elle applaudit pour pas de raison. Il y a des moments où elle a des réactions qui, par exemple, quand Vaemond se fait couper la tête, elle se bouche les oreilles. Alors qu'elle, en fait, elle voit un truc traumatique, elle se bouche les oreilles. Et c'est aussi un truc de, il y a trop de stimuli qui arrivent et tu sais pas lequel bloquer et tout. Donc c'est assez intéressant pour moi, en plus, qui suis pas concernée, de lire un peu les analyses sur le perso. Mais du coup, ce qui a été lu quand Otto il la félicite, moi, ce que j'ai lu comme peut-être du sarcasme, où j'étais là, mais est-ce qu'il l'encourage à dire nimp pour que ça fasse la merde, ou est-ce qu'il se fout de sa gueule? Enfin, j'étais vraiment en mode, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, non, apparemment, c'est plutôt lu comme un truc sympa de, en vrai, Otto, c'est ce genre de gars qui était nul avec ses enfants, mais trop cool avec ses petits-enfants. Tu vois, genre, c'est un super papy gâteau. Et vraiment, il est en mode, c'est super, t'as pris la parole, tu t'es exprimé, t'as participé. Tu vois, d'accord, il est vraiment okay, genre, okay. effort, tu te mets une gommette dessus. Et elle est là, cool papy. Et lui, il est là, cool. Et voilà, c'est à peu près, a priori, pour ça qu'il la soutient dans son toast atypique, mais en même temps, comme tous les toasts sont éclatés à ce moment, enfin, ça commence très vite à partir en couille, c'est pas si grave, puisqu'après, on va... Et d'ailleurs, elle applaudit Aymond quand il fait un toast à ses neveux très fort.
Ouais, ouais.
Très, très fort.
Ouais.
Elle applaudit parce qu'elle est là. Ah, c'est super sympa, on continue à passer un bon moment, tu vois.
Ouais,
c'est
ouais.
plus, c'est pas qu'elle comprend le sous-entendu, c'est plus ce truc de.
J'ai vu qu'une fois l'épisode, j'ai pas analysé les...
Mais j'ai écouté 3 podcasts.
Ouais.
Je suis tight. Du coup, bon. Viserys, a quitté ce dîner. Après avoir vu sa famille heureuse, remis son masque en or.
Ouais, il commence à avoir mal aux oreilles, il est pas bien.
Ah, il a mal partout. Hein. Ouais. Il a plus d'oreilles, mais il a mal partout, il part. Et immédiatement, Aemond décide que c'est his time to shine and be.
D'abord, on lui apporte un cochon.
Oui,
Et Lucerys rigole.
Oui.
Parce qu'il se rappelle
Rappelez-vous la Pink Dread.
Pink Dread.
Donc le fameux faux dragon qu'on avait amené à Aemond en lui disant que c'était un dragon et en fait c'était un
cochon. Ironie du sort, il se retrouve avec un dragon sur le truc.
Ouais, après, en vrai, t'es là, t'as 17 ans, t'as ton cousin de 14 ans qui se fout de ta gueule en face de toi, mais en se rappelant de comment il t'a humilié quand t'avais 14 ans, depuis t'as le plus gros dragon du monde, tu vois, tu pourrais dire je m'en fous.
Non, il attend que ça.
Mais évidemment, il attend que ça. Il s'en fout zéro. Lui, il est là. C'est un démon, en fait. Vraiment, il est là en mode, les Targaryens, c'est numéro 1, 2 et 3 des prios. Eux, c'est pas des Targaryens. Du coup, on va les fumer, quoi. Et en plus, il menace sa famille et la descendance de sa famille. Donc, lui, il a bu toute la drogue de la secte Targaryen et de la secte Alicent en plus. Donc, il est double dosé. Il est micro-dosé, il n'y a pas de problème, il y va et il part direct
depuis,
en speech.
Depuis qu'il est petit, il dit à son frère, tu devrais être content de te marier avec ta sœur depuis qu'il est petit. Il est très procédurier, quoi. Il est très, très
oui,
procédurier.
Oui, il est très, c'est les règles, c'est comme
ouais,
ça qu'on fait.
Ouais. Et puis il est un petit peu, là où l'autre est un peu genre, ouais, il m'en bat les couilles. Lui, il est un petit peu genre, il parle de manière soutenue, il est vraiment le fils à maman, il est très...
Et comme Daemon, il parle très peu.
Ouais.
Et d'ailleurs, son introduction est incroyable parce qu'on le voit se battre dans la cour avec Criston et tenir tête à Criston Cole qu'on a vu être un très bon combattant. Et en fait, on n'est pas sûr à ce moment-là qu'il a repéré les petits de Rhaenyra, Luce et Jacerys.
Ouais, il leur dit
parce qu'eux, ils sont en train de faire leur bien en mode
« Nephews, have you come to train ?»
et tout. Et lui, il est en full bagarre, il est concentré sur sa bagarre et tout. Et en fait, la bagarre s'arrête et immédiatement, il est fixe du regard. Genre, il savait où ils étaient. Il les a repérés.
Ouais.
Et il fait « Nephews !» Et vraiment, il a une intonation dans genre « Cher neveu, vous êtes venu vous entraîner ?» Et eux, ils sont là « Non. Ah non, c'est non. Non, en fait, on doit aller prendre les madeleines avec mamie, donc non, on va pas s'entraîner maintenant. » Et vraiment, ils ont peur de lui. C'est normal, il est hyper fort et hyper grand et hyper maboulitax. Et là, il a décidé d'aller direct à la jugulaire de « Au fait... »
Même quand il a pris le prend le dragon, il dit « It's okay, mother. » I might have lost an eye.
Il se fait un deal.
Dragon.
Oui, il est là. Bon deal. Non, mais évidemment,
donc, il réfléchit déjà champ de bataille.
Ah, mais Aemond, il est ma boule.
Ouais.
Et en plus, c'est un second son. Mm-hmm. C'est le deuxième, tu vois. Et justement, il aura jamais le trône, donc.
Manquerait plus qu'il arrive à un endroit et qu'il tombe sur une.
Manquerait plus qu'il arrive quelque part et tombe sur des gens. Et si jamais des gens s'appelaient Alice, c'est bon. Putain, Alice, Alicent, mais on est où? Vraiment, se fout de notre gueule, tous les gens ont le même prénom, bref. Du coup, Aemond décide de jouer au con, donc il fait un jeu de mots sur ses neveux qui sont très forts. Rappelons que, quand même, il faut le rappeler, Force est le nom de leur père biologique.
Strong.
Voilà, Strong. C'est that's
nephews,
the joke.
My
c'est...
nephews are so strong, I'm so proud of them.
Oui, oui.
Et en gros, il les provoque, quoi.
Il les provoque, il rappelle que c'est des bâtards, et les deux ont appris assez vite que.
Et ils disent quoi? Je leur fais juste un compliment. Allez, to those two strong boys. Et là, c'est la.
Et là, ça part en couille. Jace, donc le grand-fils, pas celui qui lui a crevé un œil, lui met une droite, mais du côté de l'œil crevé, j'ai trouvé ça cruel. Il lui met une droite vraiment à l'œil crevax, tu vois, et j'étais là, ah non, dégueulasse. C'est probablement pas le meilleur endroit où toucher. Du coup, Aemond, il est quand même gentiment séché. Luce, il veut se battre aussi. Bon, là, les gardes interviennent pour le coup immédiatement. Ouais. Pas comme au mariage ou whatever. Il y a quand même une forme d'action immédiate pour au moins séparer tout le monde. Et ce qui est intéressant, c'est que Alicent va voir Aemond, qui est son fils, et lui dit « Mais qu'est-ce que tu fous ?» Alors qu'à la base, c'est Alicent qui lui a appris que les enfants de Rhaenyra, c'est des bâtards, c'est des menaces pour le trône.
Ouais, mais là, Alicent, elle est à nouveau Team Rhaenyra, quoi.
Ouais, elle a été adoucie. Ouais, en vrai, elle a dit à Rhaenyra « Tu feras une bonne reine. » Et elle est là, peut-être, on arrête tout ça. Et aussi, en vrai, peut-être qu'arrêter tout ça, c'est la meilleure façon de pas mettre ses enfants en danger, Alicent. Donc elle a aussi en vrai, un intérêt personnel qui est...
C'est le choix que lui a donné son père, d'ailleurs, avant de partir. Il lui a dit, soit tu suck up auprès de Rhaenyra et t'espères sa clémence, soit...
Oui, mais lui a présenté ça enfants. Comme tu espères qu'elle épargne la goutte de sang finale de tes enfants.
Ouais.
Alors qu'en vrai, il y a un monde où Alicent, elle dit, Rhaenyra, bonne vie en tant que reine. Et Rhaenyra, elle dit, bah super, tu veux rester à la cour et traîner avec tes gosses et on est potes. Et voilà. Et en fait, ça aurait été ça.
C'est très mimicore comme. C'est très mimicore.
On ne sait pas tequila texte. Si les hommes n'avaient pas contaminé le cerveau des femmes avec leur machination, on ne sait pas. Otto, I'm looking at you. C'était une prophétie autoréaliste. Bref. Mais du coup, même Alicent va voir Aemond en lui disant, en fait, d'où tu dis ça devant tout le monde, alors que vraiment Alicent était en train, à l'épisode précédent, de littéralement menacer de planter Rhaenyra devant une salle comble en disant, tes gamins, c'est des bâtards, donc je suis là, ok. Et Aemond y joue au con, tu vois, il est là, mais j'ai fait que apprécier le caractère très fort du reste de ma famille. Et elle est là, en fait, arrête, là t'es chiant.
Ne sont-ils pas fiers de leur descendance ?
Oui, il dit, moi je suis fier de ma famille, eux ne semblent pas être si fiers de la leur. Et t'es là, putain, mais le gars n'arrête pas. Le gars, il a un genre de réservoir de bolas enflammés, là, qu'il n'arrête pas d'envoyer sur le feu, tu vois, c'est pas bon. Et... je trouve que c'est aussi ça qui est hyper important, c'est que ça commence à poser l'idée de limite. En fait, si maintenant tous les adultes, entre guillemets adultes, mouraient, on n'est même pas sûr que les enfants n'iraient pas se taper sur la gueule juste parce qu'ils ont été nourris à ça, tu vois. Est-ce qu'on n'est pas trop loin, tu vois, pour espérer la moindre réconciliation ?
Et c'est Daemon qui arrête Daemon.
Oh là là. Il arrête tout. Daemon, il arrive, il prend ses gamins, il leur fait un signe du doigt, les gamins, ils partent. Et Rhaenyra, elle fait, ouais, les gamins, ils rentrent à leur quartier parce qu'ils sont zéro en sécurité chez vous.
C'est pas ses
gamins
en plus, c'était...
C'est même pas ses gamins à lui. C'est les gamins de Arwin Strong qui se souvient.
Beau papa, beau papa arrive.
Et juste vraiment, il arrive.
Tonton slash beau papa.
Et ils sont là. En même temps, si ton beau papa c'est Daemon, tu fais, oui, d'accord.
Ouais, tu files droit.
Je sais pas si c'est papa gâteau, tu vois.
Tu files droit.
Et peut-être que c'est pour ça qu'il apprend le haut valyrien si intensément aussi, le gamin.
Ouais,
peut-être que c'est pour plaire à papa Daemon.
Ouais.
Et on en apprend en réfléchissant. Et Daemon, il se retourne vers Aemond. Et là, il y a un petit...
Et là, on voit...
Dingo reconnaît Dingo. Ouais. Hein. Ils sont là. T'es chaud, toi ? Moi, je suis chaud, moi.
Et puis surtout, il y a un côté... Il s'est un peu rangé, Daemon.
Oui.
Et c'est genre...
Là, il vibre un peu.
Et là...
Il est là.
Il est là. Et puis surtout, il voit une sorte de version pas encore assagie de lui en face de lui.
Oui.
Il se revoit.
Ouais. Sounds like me.
Ouais. Mais il y a une sorte de truc de... Ok. Ils sont positionnés clairement comme deux rivaux. C'est ce que j'essayais de dire tout à l'heure. C'est vrai que c'est fait avec des grosses ficelles. Mais c'est quand même cool, cette espèce de...
Et en même temps, moi, je trouve qu'il y a un vrai
comme
truc
dit,
Comme
dit George Lucas, it's like poetry, it rhymes.
Oui, c'est un beau miroir. Et effectivement, une opposition en miroir, elle marche très bien. Et là, on est sur un miroir quasi parfait. Tu vois, j'ai vu tellement de... Alors, un de mes tweets préférés sur cet épisode, c'est Aemond Targaryen, c'est le mec qui a l'air le plus sorti d'un animé japonais que j'ai jamais vu de ma vie dans une série à haut budget. Et c'est vrai, quoi. Vraiment, le gars, on dirait il sort de One Piece ou de Naruto. Ouais. Et du coup, cette opposition avec Daemon, elle est hyper esprit shonen. Tu vois, il y a vraiment un côté, t'as envie de voir des lignes derrière et d'avoir un thème musical en japonais qui arrive. Mais est-ce qu'ils sont ennemis ? Est-ce qu'on vient de voir une némésie se créer ou est-ce qu'on vient de voir potentiellement la pire alliance, tu vois ? Il y a aussi ce truc de quand t'es les deux faces d'une même pièce, je me dis un Daemon et un Aemond, qu'est-ce qu'il faut finalement pour qu'ils finissent par bosser ensemble ? Potentiellement pas grand-chose parce qu'ils sont tous les deux des mecs Targaryens obsédés par être des Targaryens, avoir des dragons et tout. Si tu me dis, ouais, mais Daemon, il est loyal envers Rhaenyra et tout, je suis là, mais Daemon, il a été autre chose avant. Enfin, je trouve que, comme tu dis, il y a une opposition, Mais la menace, elle est double. S'il s'oppose, ça fout la merde parce que ça va faire... Enfin, s'il s'oppose, ça va être une bagarre hyper chaotique. Mais s'il s'allie, ils sont chaotiques aussi, tu vois. Et je trouve, du coup, c'est intéressant. T'es là, peu importe ce qu'ils font, dès qu'ils se parlent, c'est le bordel. Ça va... C'est bon signe pour personne,
moi,
quoi.
Moi, je pense que... Ouais, moi, je sais pas. Je vois une certaine loyauté dans Daemon.
Qui d'une certaine manière est dans la team loyale à sa femme,
Et puis,
à une de ses femmes, hein, pas celle qui l'a tuée à main nue pour aucune raison, vous vous souvenez, juste parce qu'il voulait pas traîner avec,
ouais.
Pas elle, celle d'après.
Parce que du coup, leurs filles
auront un château.
Bon. Je l'ai peut-être mal lu comme un agent du chaos, Daemon. Alors que, en fait, c'est juste un agent des Targ, c'est juste un putain de loyaliste valyrien, quoi, tu vois. C'est
oui
juste
et non,
un.
Parce qu'en vrai, il aurait pu pas buter sa première femme, tu vois, par exemple.
Ouais.
Il aurait, enfin, ça n'entrave
pas. Ouais, mais
pas.
Comme elle est pas valyrienne, elle compte pas, tu vois ce que je veux dire, genre, c'est dommage collatéral. Tu vois, c'est juste un obstacle
pour qu'il
arrive à ses fins.
En gros, oui, le truc de Daemon. Alors, Daemon et Emond.
Alors que Emond, il y a un sorte de super vilain qui est né du bullying un peu, tu vois.
Oui.
Et de,
oui, oui,
t'as pas de dragon, t'es une grosse merde.
Mais en fait, je pense qu'il y a plein
de... T'es même pas capable
de
machin, de trucs, tu vois.
Il y a plein d'histoires qui va arriver, qui va être le miroir beaucoup plus sombre des adultes qu'on vient de découvrir, tu
vois.
En fait, qu'est-ce que ces adultes fucked up, qu'en plus on a passé 5 épisodes, donc 5 heures, avec d'autres acteurs et actrices pour la plupart, enfin pour une partie, à voir grandir et à comprendre comment ils sont devenus des adultes fucked up. Ces adultes fucked up, qu'est-ce qu'ils créent comme gamins? Deux fois pire, tu vois. Et je pense que un Aemond, effectivement, c'est le rejeton d'une famille qui a eu un Daemon. C'était déjà pas dingue, ils ont pas réussi à le gérer, ils ont pas réussi à comprendre comment il fonctionne. Et tu finis par avoir un Aemond qui est deux fois pire, mais en ayant effectivement le même drive qui est être un Targaryen, c'est être un dieu. En fait, c'est être un demi-dieu.
Tu lis ça dans Aemond, vraiment?
Je lis qu'il est aussi fasciné que Daemon par le fait d'être un Targaryen. Et par
c'est
la...
quoi qui te fait dire ça?
Sa fascination pour les dragons. Le fait que en vrai il a pas l'air d'être prince, d'être vraiment genre perturbé par le bullying, à part pour les trucs qui touchent à t'es un peu un Targaryen nul. Mais tu vois, j'ai l'impression que le fait de se faire bully, il est plus méprisant en mode ok vous êtes des connards dans les épisodes précédents où il était petit. Mais c'est quand il y a des bails sur qu'est-ce qui se passe en termes de Targaryisme et de dragons que ça le touche. Et pour moi c'est un maboule des dragons, tu vois. Et c'est ça qui et du coup c'est aussi ça, c'est que la puissance des Targaryens, historiquement, c'est pas que les dragons qui peuvent cramer des trucs, c'est aussi, ils ont été régnés sur un pays, il y a la moitié de la conquête de Westeros qui s'est fait sans violence, juste en allant parlementer et tout, et je pense que Aemond, il a juste retenu, on a des dragons, on peut cramer des trucs, et si les gens sont pas d'accord avec nous, on peut cramer des trucs, tu vois. Il a l'air d'avoir une vision assez vénère. Non, c'est no spoiler, mais en tout cas, il a l'air d'avoir une vision très guerrière, mais en même temps, il a été élevé dans une famille qui est là, on se prépare à la guerre, depuis littéralement 30 ans, d'un gars qui tient par deux phalanges à la vie, quoi. C'est compliqué. Et speaking of, on arrive à la dernière scène incroyable de cet épisode. Alors, on s'est pas appesanti sur la prestation de Paddy Considine dans l'intégralité de cette saison cet épisode, mais ça mérite quand même un gros shout-out.
Donner tous les Emmy, quoi.
Oui, ouais,
non,
ouais.
Mais on en fait qu'en parler depuis tout à l'heure, ça.
Donc
ça,
c'est l'acteur qui joue Viserys, bien sûr, Paddy Considine.
Son arrivée sur le trône, son discours pendant le dîner, son personnage tragique qu'il est devenu.
Même quand il est dans son lit et qu'il parle.
Mais il lui arrive que des merdes depuis le début de la saison.
Ah, il a pas de chatte. Hein.
Tu vois.
Il a pas trop de courage, mais il a pas de chatte non plus. Ouais, et en vrai, ce moment qu'il a eu là, ce dîner, c'est un peu tout ce qu'il voulait. C'était avoir des membres de sa famille, des gens qu'il aime, des proches autour de lui, qui passent un bon moment, qui s'aiment, qui se soutiennent dans un truc qui est compliqué, qui est la politique et la royauté, mais genre, ok, on peut bosser ensemble à se tirer vers le haut et à résoudre ce problème plutôt que d'être en guerre de succession. Et lui, il est là, ah, j'en ai toujours rêvé, c'est enfin arrivé, I can die now.
L'acteur a modelé, je crois, sa performance sur un parent à lui qui
alors
qui...
sur deux choses, il a dit en donc alors Paddy Considine a livré une interview très intéressante au New York Times qui est sortie aujourd'hui ou hier si vous voulez la lire, où il dit notamment qu'il a pas regardé cet épisode parce que c'est dur de se voir, parce que déjà il aime pas se regarder et que se regarder comme ça c'est compliqué. Et il dit qu'il a modelé son expérience sur deux choses. La première, c'est effectivement un documentaire sur un artiste qui avait un problème de santé fatale et qui a documenté la déliquescence de son corps. Et la deuxième, c'est une expérience beaucoup plus personnelle de son propre père qui est mort du cancer, cancer assez fulgurant. Et qu'en fait, c'est aussi pour ça qu'il a pas forcément envie de regarder cet épisode, quoi. C'est qu'il y a un truc de déclin physique et mental. Et en même temps, j'ai trouvé ça cool qu'il l'ait pas fait dément, tu vois. Il est pas, enfin, en vrai, les rares fois où il parle, au pire, il confond deux personnes.
Ouais,
mais en fait, il est toujours lucide dans de quoi il parle. Ouais, c'est juste qu'il sait pas trop où il est, quoi.
Bah, mais par contre, il confond un truc.
Grosse bourde. Comme on dit dans le dîner de con, il a fait la boulette.
Ouais,
à la fin, il a fait la boulette
qui est fort,
quoi. Donc, ouais, il y a Alicent qui vient, lui donner soin avant de dormir, ouais. Quoi.
Moi, j'ai entendu une lecture de ça qui est Viserys et fait des bourdes jusqu'au dernier moment, tu vois.
Ouais.
C'est dur à entendre.
Fucked up jusqu'à la fin. Alors
c'est dur à entendre, mais c'est un peu vrai, quoi.
Ouais, il a fait la. En vrai, il a fait la.
Mais ça fait partie du truc tragique du personnage, tu vois. Et c'est pour ça qu'on dit, Paddy Considine va avoir son Emmy. C'est pas possible autrement.
Bah, j'espère.
S'il l'a pas, c'est un vrai scandale.
Oui, je.
Mais là, tout le monde le dit.
Et j'ai vu des trucs qui disaient, il a pas joué un perso, il a joué 8 persos, ouais, parce qu'il a joué 8 versions de Viserys. Et alors, il faut savoir que dans le bouquin, Viserys, il est décrit comme relativement faible et il a effectivement des problèmes de santé liés notamment à des infections parce qu'il s'est coupé sur le trône. Mais il finit pas du tout dans cet état physique ni mental. Et en gros, c'est un peu un roi un peu grassouillé, un peu paresseux à la fin, quoi, qui a de l'embonpoint et qui est... Le gars, il est dessiné dans le bouquin, on dirait Sam Gamgee, tu vois, dans Le Seigneur des Anneaux, quoi. Il est sympa, il a une bonne bouille et tout, donc t'as pas du tout cette idée de... Il a souffert dans sa chair pour ce qu'il a traversé, quoi. Mmh. Et a priori, c'est dans la création de la série que cette idée de Viserys en déliquescence physique beaucoup plus visible que dans le livre est sortie. Et George R. R. Martin aurait dit c'est un meilleur Viserys que mon Viserys, quoi. C'est, ils ont apporté une dimension à mon Viserys que moi-même j'avais pas en tête. Et effectivement, pour un personnage qui est aussi un peu, honnêtement, moi je pensais qu'il allait durer 2 épisodes, comme je pense tout le monde.
Moi aussi pareil.
J'étais là, bah, c'est la danse des dragons, c'est House of the Dragon. Honnêtement, Viserys, c'est pas un personnage très important.
C'est le déclencheur, quoi. C'est comme Jon Arryn, il est déjà mort au début, quoi.
Oui, voilà. C'est le père des gens qui vont finir par faire des trucs intéressants, mais lui, il est pas intéressant. Et en fait, bah, ils l'ont rendu hyper intéressant et hyper touchant. Et je trouve que là où Game of Thrones avait pas mal échoué à faire des rois des personnages touchants, il y avait Robert Baratheon, tout le monde l'aimait bien, mais en même temps c'était très clair que c'était le pire roi, et que c'était pas un très bon gars, tu vois. Là je trouve qu'ils ont amené avec Viserys, en fait, des fois t'es un bon gars, et tu peux pas gagner parce que t'es roi, et que t'as pas le choix,
quoi,
et c'est trop dur,
tu vas te faire des ennemis, ouais.
Et c'est ce qu'il dit tout le long. C'est ce qu'il dit, c'est quoi que je fasse, il y a des gens pas contents, et ses enfants ils sont là, yes, it's cool d'être roi, mec, c'est le job, et il est là, j'ai pas demandé le job. Mmh. Et derrière, t'as Rhaenys qui fait tempi. Et du coup, il y a cette scène de prophétie et de décès avec Alicent.
Donc il réitère la prophétie de il pense qu'il est en train de parler à Rhaenyra, il pense qu'il est en train de lui répondre sur ce qu'elle lui a dit. Dans une scène précédente.
Parce qu'elle lui a dit précédemment, c'est tu m'as raconté cette prophétie de. Apparemment, il doit y avoir des Targaryens sur le trône pour se protéger d'une menace ancestrale du nord de l'hiver et tout. Est-ce que tu y crois vraiment? Et est-ce que c'est mon problème? Parce que voilà, j'ai pas envie d'être là. En vrai, si c'est pas mon problème, je démissionne.
Moi,
et
il y a
lui
un truc que je
pas
comprends pas de fil de succession. C'est ça doit être les descendants d'Aegon. Mais d'où ces enfants avec Alicent, c'est pas des descendants d'Aegon?
Attends, je vais chercher l'arbre généalogique, j'arrive.
Parce que c'est par Emma qu'il est descendant d'Aegon. Je comprends pas. Parce que quand il lui dit...
Ok, Internet, on a sorti le bouquin.
Parce que quand il lui dit, ouais, c'est la... C'est... parce que Aegon,
alors,
tu vois, et c'est pareil, Rhaegar, il dit, moi, je suis de la descendance d'Aegon.
Aegon le conquérant, il a eu, alors attends, il est où Viserys? Alors là, GG Eris, ok. Viserys, c'est le fils de Baelon et Alyssa Targaryen, qui sont les enfants de Jaehaerys et Alyzzan Targaryen, qui sont eux-mêmes les enfants de Aenys Targaryen et Alyssa Velaryon. Aenys Targaryen était le fils de Aegon le Conquérant. Donc, oui, c'est ça. Aegon a eu un fils qui, du coup, était... Oui, c'est ça. Donc, Viserys.
Mais c'était... En quoi est-ce que ça change que ce soit les enfants d'Alicent ou les enfants de Rhaenyra?
Bah, je pense... que... Non, du coup. Non, j'allais dire, je pense que sa logique... C'est que les enfants qu'il a eus avec Emma, sa première femme, c'est des deux fois Targaryen. Parce qu'il me semble qu'elle était un peu Targaryen, tu vois. Comme les enfants de Daemon et Rhaenyra, ils sont genre doublement Targaryen. Ou même les Velaryon et les Targaryens, ils sont un peu double-double. Mais je suis pas sûre. Dites-nous dans le chat, les nerds, si vous êtes là. Mais pour moi, la prophétie, elle dit... Est-ce qu'elle dit que c'est un descendant? En fait, le truc, c'est qu'il y a deux prophéties qu'il a. Il y a la prophétie du prince qui a été promis, de Azor Ahai, qui dit
autre.
Du coup... Oui, mais il en parle aussi. Ouais. De... Enfin, ils en parlent dans House of the Dragon. Mais la prophétie dont il parle, de... il y a un roi de l'hiver qui va venir et il faut qu'il y ait un descendant d'Aegon sur le trône, bah, en effet, du coup, il pourrait dire bah ça pourrait être...
N'importe lequel.
Bah oui, mais je pense que c'est un truc de... Bah ouais, mais il est né après. En fait, tu vois, quand il a proclamé Rhaenyra reine, il n'avait pas de fils.
Ouais, d'accord.
Et
mais pourquoi
maintenant,
est-ce qu'il lui dit, it's you. It's important that it's you.
Parce que je pense qu'il le pense. Parce que je pense qu'il pense sincèrement que c'est Rhaenyra la solution, la personne en tout cas dont parle la prophétie. Maintenant,
non,
I guess.
Je crois que c'est genre, il vient de ta descendance. Moi, il y a un truc comme ça que j'arrive
pas à
saisir.
Sachant que Rhaenyra vient de donner naissance à, enfin, en tout cas, à un petit garçon maintenant qui s'appelle Aegon.
Ouais.
Pour ne rien compliquer.
Et qui est 100% Targaryen, puisque
effet,
c'est avec Daemon.
On sait pas pourquoi, mais après, si tu pars du principe qu'il croit qu'il parle que à Rhaenyra, et que Rhaenyra, elle lui dit, rassure-moi sur, je fais pas
d'accord.
ça pour rien,
ça, ça
il lui dit, bah oui, tu fais pas ça pour rien, c'est toi, tu vois.
Bon, en tout cas, toujours est-il que,
il réitère
que sa descendance doit se faire par Rhaenyra.
Oui.
Et sauf qu'il croit qu'il est en train de parler à Rhaenyra, sauf qu'il parle à Alicent. Et comme il mentionne
un peu
Aegon,
malaise de sitcom, tu vois.
Ouais,
oh non,
ouais,
c'est pas la bonne personne et pas le bon Aegon.
Ouais, ouais. Et il dit Aegon et il dit ouais Aegon my son, tu vois. Et genre
oui.
et
elle est là, oui Aegon, je le connais, c'est notre enfant, on l'a fait ensemble. Et en fait, on peut pas la blâmer pour le coup, tu vois, de penser qu'il parle de son Aegon à eux deux. Parce qu'en plus, il y a pas un moment où il l'appelle Rhaenyra ou quoi, tu vois. Là,
moi, je trouve ça bien que pour une fois. La confusion dans les noms est un but narratif.
Tout à fait. Ah, d'ailleurs, je vous le dis, l'air de rien. Au tout début, il y a un personnage qui vient dire à Alicent qu'il y a un problème avec le prince. Et c'est le problème, c'est que Aegon a violé sa servante, comme on le sait. Et Alicent, c'est un garde de la garde royale, donc il a le même uniforme que Criston Cole. Et Alicent lui dit, ok, merci, Sir Eric. Et lui dit, ah, je suis pas Sir Eric, je suis Sir Arik. Ou l'inverse. Et en gros, il y a deux jumeaux, on les voit un autre moment se battre dans la cour. Il y a deux jumeaux qui ont rejoint la garde royale, qui s'appellent Eric et Arin. Et Arik, pardon. Et alors, c'est.
Deux jumeaux.
En vrai,
on a qu'à les appeler Eric et Arik.
Voilà.
Quoi.
Alors, c'est.
Quick et Flup. Quoi.
Non, mais vraiment, les parents sont là, on joue en difficile, tu vois. Je sais pas pourquoi ils font ça, quoi.
Zazie et Zazo,
à la
quoi.
Limite, frère, des George Weasley, ils avaient pas le même prénom, mais là, ils ont décidé de les appeler tous pareils, Riri et Fifou, quoi. Et du coup, c'est à la fois. En fait, c'est trois trucs. C'est à la fois un easter egg cool pour les lecteurs et lectrices du bouquin parce que c'est un petit duo Eric et Arik qu'on connaît et qui, s'ils le mettent dans la... Enfin, ils ont un destin pas inintéressant, donc à voir s'ils le mettent dedans. Mais ça peut être juste de l'idée d'un œuf de Pâques qu'on aura. Moi, je pense que ça va être dedans. Deuxièmement, ça peut aussi être vu comme un commentaire méta sur on n'en peut plus des prénoms qui sont les mêmes dans cette série. Mmh. Et vraiment que Alicent elle-même, elle se trompe de prénom entre deux gars qui ont le même prénom, la même tête. T'es là, yes, peut-être c'est un problème pour tout le monde. Du coup, voilà, j'aime bien ces deux lectures. J'ai dit trois, mais je crois que c'est deux. La troisième, c'est que peut-être ça va être important. Et souvenez-vous qu'il y a un gars qui s'appelle Eric et pas Arik dans la cour de Alice, enfin, dans les protecteurs de Alicent.
Déjà dans le preview du prochain.
Mais c'est pas... on spoil pas, on a dit Tequila Tex. Putain, le mec vient chez moi et il me spoil
prévenu,
moi. Mais me spoil
prévenu.
Pas moi, frère, spoil les gens, pas moi. Moi, je sais toutes les choses, mais pas ce qui va se passer dans le prochain épisode, car je ne me renseigne pas. Ok, et bah, Viserys, Alicent s'en va. Une fois qu'elle a entendu cette prophétie, elle lui dit, ok.
J'ai compris.
Et du coup, elle part avec. Alors, ok. La question qu'on m'a le plus demandé, c'est. Qu'est-ce qu'elle a compris, Alicent? Est-ce qu'elle a compris la prophétie? Est-ce qu'elle croit que son fils est dans une prophétie? Est-ce que ça l'arrange de dire « Ok, j'ai compris » Qu'est-ce qui se passe là-dedans, quoi? À ton avis...
Elle dit « J'ai compris ».
Elle
tu
sort
es en train
de la
de me
pièce
dire...
avec quelle certitude?
Elle dit « J'ai compris ». Tu es en train de me dire que c'est Aegon qui doit être roi.
Moi, je suis d'accord.
Tu me fais part de ton souhait que finalement, ça doit être Aegon qui doit être roi.
Mais j'ai envie de dire ton souhait, voire ton rêve, parce que souviens-toi, à l'épisode de la chasse, il me semble, oui, c'était l'épisode de la chasse, où du coup ils sont dans la forêt, Rhaenyra elle tue un sanglier et tout machin. Alicent, elle est avec Viserys qui est beaucoup plus en forme à l'époque, le mec se tient debout, et qui en plus est assez frustré parce que personne l'écoute.
Il manque que quelques doigts.
Et un peu d'autorité, quand même, globalement, il est pas fort. Et en fait, il est un peu en larmes, bah, c'est le moment où il commence à picoler sévère. C'est le moment où il commence à avoir une descente de ouf. Et ils sont devant un grand feu. Et il lui dit, dans les Targaryens, il y a des dragonniers. Mais plus rare, il y a des dreamers, donc des gens qui font des rêves prophétiques. Et moi, j'ai eu un rêve où j'avais un fils, Aegon, qui était sur le trône avec une couronne de rubis. Et c'était lui le sauveur du trône de fer. Et maintenant, j'ai peur. En gros, ce qu'il lui disait, c'est « J'ai fait ce rêve et j'avais pas de fils ». Du coup, c'était pas trop un problème. Mais maintenant, et du coup, bah, j'ai nommé Rhaenyra héritière. Mais en fait, maintenant, j'ai un fils. Et du coup, j'ai peur d'avoir eu tort en nommant Rhaenyra héritière. Mais j'ai peur de la déshériter et de, du coup, nommer Aegon héritier et de, parce que je pense que c'est mon rêve, mais peut-être j'ai raté. Enfin, il est en full paralysé. Enfin, la vie de Viserys, c'est d'être paralysé par choisir, c'est renoncer, choisir, c'est prendre un risque. Vas-y, on va pas choisir.
Ouais.
Du coup, quand il raconte ça à Alicent, elle a ce background de... Il lui a quand même déjà raconté que les Targaryens font des rêves prophétiques et qu'il a eu un rêve avec son fils Aegon qui s'assoit sur le trône de fer. Donc quand il lui dit « Aegon, le rêve, c'est toi, promets-moi le trône », bon, on peut pas trop blâmer Alicent d'être là... Ok, yes, bon, c'est une discussion qu'on a eu il y a 10 ans, mais... Et aussi, bah... Ça tombe pas mal que ça aille dans son sens, quoi, qu'elle est là. Oh non,
bien sûr.
Le mec a dit sur son lit de peut-être mort que mon fils devait être roi. Qui pourrait contester ça? Personne, bien sûr. Qui a des preuves? Pas grand monde non plus. Et je pense qu'on peut le dire pour de bon cette fois-ci. Hein. Viserys meurt.
Oui, Viserys
voilà. Meurt. Viserys meurt dans cet épisode. Et il meurt en voyant sa femme Emma. Puisque au moment de mourir, il lève à son visage sa main où il y a une chevalière qui représente un emblème du Val d'Arryn, d'où venait sa femme. Et quand le générique s'affiche, le dernier truc qu'on entend, c'est la voix de Viserys qui dit « My love ». Et c'est la fin. Et il y a marqué dans les sous-titres anglais, parce que moi je regarde en anglais avec les sous-titres anglais, il y a marqué « La breathing stops », la respiration, parce qu'il y a des sous-titres de « il respire », et c'est « My love, breathing stops ». Et j'étais là... Il est lundi 9h36 du matin, pourquoi vous faites ça? C'est trop!
Je regarde trop tôt le matin, moi je suis un peu de la tête dans le cul.
Ouais, c'est dur. Trucs. Et du coup, bah, c'est la fin de notre Good King Viserys, auquel franchement je pensais pas m'attacher autant, putain.
Ouais, vraiment.
C'est dur. C'était dur. Et en même temps, c'était bien. C'était bien cet épisode, hein?
Ouais, c'était bien.
Qu'est-ce que. Alors, sans dire ce que tu sais potentiellement, évidemment, on va pas spoiler, mais. Pour le 9, qui traditionnellement est un gros épisode de... Non, tu spoil pas.
Je spoil
Il
tout.
Ne spoil pas. S'il spoil, je coupe les micros.
Je spoil
immédiatement.
Tout. Je spoil tout.
Qu'est-ce que t'attends? Qu'est-ce que t'espères pour
non,
le...
Je pense qu'il faut se rappeler...
Épisode 9.
Je pense qu'il faut se rappeler de Game of Thrones.
Mm-hmm.
de la structure des saisons de Game of Thrones. Qu'est-ce qui se passait chaque année?
Tous les ans, l'épisode 9, c'était une dingue.
Tous les ans, le gros baston, les gros enjeux.
Le Red Wedding.
Le Red Wedding.
La décapitation de Ned Stark.
Oui.
Le Purple Wedding.
La Battle of the Bastards.
Tout à fait.
Le village avec
Hardhome.
Hardhome.
Avec les White Walkers, vous savez quand Jon et les Sauvageons ou la Garde de Nuit, je sais plus, ou les deux, ils ouais, vont libérer ils un village sur le
pour libérer
une,
un,
voilà
ouais.
sur une petite baie là pour libérer un village complètement envahi par les zombies de glace, les White Walkers et tout. Et même il y a une Go qui est trop cool et trop combative et elle dit à ses filles, on se revoit bientôt quand maman revient. Et bah guess what, elle meurt. Voilà.
Ouais, ouais.
Épisode 9, traditionnellement, dingues, dingues, dingues.
Donc, on peut attendre ça.
Ah, Hardhome, c'était épisode 8. Faux. Merci, Mr. Melick. Je pense que c'est le moment où ils ont commencé à calculer switcher, que les gens s'y attendaient. Ouais.
Mais ouais, peut-être qu'il y a eu genre
une petite tradition,
truc encore plus
quoi.
Gueudin dans l'épisode 9. Mais en vrai, ce qui est cool, c'est qu'il y a aussi... Donc, il y a ça. Et donc... Tout l'épisode 10 est un genre de post-credit scene qui ouais. annonce un peu ce qui va se passer après. Donc alors et il y a ça. Donc il y a premièrement ça. Deuxièmement, dans Game of Thrones, à l'épisode 8 et épisode 9, il y a pas un seul dragon, il y a pas trop de magie. On a vu juste.
On n'a pas eu de dragon dans cet épisode.
On n'a pas encore de dragon.
Bah là, dans cet épisode, c'est le premier épisode de
oui,
House of the
oui,
Dragon,
oui,
non, il n'y a pas de
dire,
dragon.
Oui, bien sûr, mais je veux dire, dans la saison de Game of Thrones, l'élément surnaturel, il n'est pas encore arrivé à ce moment-là de la série.
Oui, l'élément magique.
Ouais, l'élément magique, il n'est pas encore arrivé à ce moment-là de la série. Or, on sait que la présence de la magie dans ce monde-là est liée au dragon, donc on serait en droit d'attendre un peu plus de magie de cette série.
Qu'est-ce que tu penses qu'on va avoir
Moi,
un moment magique sur la fin?
Je pense qu'ils nous proposent, qu'ils vont nous proposer un petit post-credit scene à la Marvel ou un petit sous forme de dernier épisode, tu vois peut-être.
Mm-hmm.
Mais je pense qu'il va y avoir, de la baston dans et des choses importantes dans cet épisode 9.
Ouais, épisode prochain, bagarre, grande ligne, grande décision. Épisode 10, la poussière qui retombe et
Fin d'épisode 10, peut-être une ouverture vers quelque chose qui va nous permettre de se dire...
De lire toutes les théories du monde
qui va nous
en attendant
de,
la saison 2.
Voilà, qui va nous permettre de se dire, cette saison 2, c'est pas possible qu'elle arrive dans un an.
Alors, je vais vous le dire, ok, on va avoir cette discussion, on va arracher le sparadrap. La saison 2 arrive en 2024. It's a fact, it's a thing, it's quasiment inévitable. Ils commencent pas à tourner avant la moitié de l'année prochaine. Ça a été redoublé en fin d'année 2022. Ouais, cette anecdote est vraie. A priori, je suis désolée. Parce qu'ils ont vraiment lancé la saison 1 sans savoir s'ils allaient renouveler. C'était leur... Ça a été renouvelé là. Oh. Et faut tout... Je sais, j'ai le seum. J'ai le maxi seum. Peut-être que j'ai tort et peut-être que vous pourrez me dire « Ah, t'avais trop tort, en fait, c'est sorti plus tôt que prévu. » Et je serai là « Yes, j'ai tort et j'ai pas le seum, du coup, parce que je suis contente comme vous. Je vais pouvoir genre continuer à regarder House of the Dragon. » Mais a priori, on est parti pour plutôt une sortie en 2024 pour la saison 2. I am very sorry. I am bien sûr dans votre team du seum. Après, je peux vous dire que j'ai tellement peu de self-control qu'en fait, j'ai relu la moitié du bouquin, là, actuellement, cette semaine, parce que en fait, comme j'ai lu le bouquin avant de regarder la série et qu'on s'en parle tout le temps et que la série, ça représente genre, je sais pas, si je suis très généreuse, une moitié du bouquin, bah en fait, j'ai un peu oublié les détails de ce qui se passe aux personnages de la série. Et du coup, enfin pour les personnages de la série, et du coup bah j'ai rouvert le bouquin en mode, en fait je me souviens pas vraiment ce qui arrive à machin, et après j'ai relu toute la Danse des Dragons et c'était incroyable. Donc vous êtes partis pour un gros ride. En attendant, on va se dire au revoir, mais en attendant, la dernière question à laquelle j'ai à vous répondre, c'est une question qui est revenue beaucoup sur mon Instagram quand même, c'est où est Larry Strong pendant cet épisode? On ne le voit pas, puisqu'on voit Misaria qui du coup a l'air d'être toujours espionne, mais on ne voit pas Larry Strong. Écoutez, je ne sais pas. Si je le savais, je ne vous le dirais pas. Je pense qu'il faut se souvenir que Larry joue semi le rôle de Varys dans Game of Thrones, bien sûr en termes d'espionnage et naninana, et qu'il a un vrai job qui est de faire avouer les gens, c'est-à-dire d'être ce qu'on appelle maître chuchoteur, c'est-à-dire maître tortureur, hein, on va pas se mentir. Donc, il a des trucs à faire, et quand il a rien à faire de précis pour Alicent, eh bien, il fait son truc, qui est son travail de couper des langues aux gens et leur arracher des ongles.
Il y a pas assez de, d'acteurs dans, il y a pas assez de personnages dans la série. On peut pas les avoir tous. Il y a déjà trop de. On a un Waymond qui était un peu silencieux jusqu'à maintenant.
Non, mais ça montre à quel point Larry, il intéresse les gens. Ouais, tu vois, pour moi, c'est comme Damon. Ouais. Une fois que tu comprends qui c'est, quand il est pas là, t'es là. Il est où? Qu'est-ce qu'il fait? Ouais, et c'est un peu un truc aussi de quand on le voit pas, c'est louche, tu vois. Il fait quoi ce con?
Ouais, ouais. Bon.
Donc, je sais que Larry intrigue les gens, je comprends.
Moi, je le compare toujours à Varys et Littlefinger dans mon cerveau, et il y a plein d'épisodes de Game of Thrones où il y a ni l'un ni l'autre.
Oui, carrément.
Donc,
mais il y a plus de personnes dans Game of Thrones, il y a plus de lieux et tout.
Où était Missaria depuis 3 épisodes, quoi?
Bah, elle était quelque part à King's Landing, ok. Là, ouais. On est dans le Red Keep tout l'épisode, ouais, on est avec Alicent, ouais. Machin, ouais. Genre, j'avoue, ouais. Il est où? Peut-être qu'on apprendra à l'épisode prochain qu'il était en mission, en négo, ou alors dans les bas-fonds de King's Landing à préparer des dingues et tout. On sait en tout cas vaguement qu'est-ce qu'il est en train de faire et pourquoi et dans quel but, et ça va être sympa. Ils ont pas une autre série dans l'univers de Game of Thrones à ouvrir pour 2023. Bah alors, pas de façon très claire. C'est possible qu'ils confirment la série spin-off préquelle sur séquelle sur Jon Snow, donc la suite de Game of Thrones sur les aventures de Jon Snow au-delà du mur. Il y a évidemment le potentiel d'une série spin-off préquelle sur les 9 voyages de Corlys Velaryon.
Et aussi Flibbottom. Je pense, regardez les épisodes précédents, on parle beaucoup des spin-offs.
Ouais, on parle beaucoup des spin-offs et on n'a pas de plus de nouvelles depuis. Donc
moi je voudrais dire deux choses.
Oui, vas-y.
Ils finissent de tourner en juin.
OK. Non mais frère, il y a des dragons à faire et tout, ils vont pas sortir. Ouais. Ok, peut-être Noël 2023 si on est très très sage, mais je suis pas sûr.
La deuxième chose, c'est en développement, il y a une série animée. Peut-être que ça peut prendre moins de temps à se faire.
C'est vrai. Et comme dit Mr. Melick, c'est criminel de ne pas avoir de spin-off sur Duncan Egg, qui est une, du coup un recueil de nouvelles qui en
c'est
plus
en développement,
c'est un peu
hein.
moins... Oui. Mais c'est bon.
Non, en fait, non, j'ai appris un truc. Non. J'ai appris un truc, en fait. J'ai appris un truc de ouf.
Quoi? Que ouais?
J'ai appris un truc de ouf. House of the Dragon, c'est une anthologie series. C'est-à-dire qu'ils vont faire 4-5 saisons.
Non.
Ils vont faire 4-5 saisons sur
les Targs, la danse des Dragons.
Après, s'ils veulent, ils font une saison sur la conquête. Et s'ils veulent, ils font une saison sur Duncan Egg.
Oui, non, mais d'accord. Mais c'est comme dire, en fait, je juste dis Game of Thrones, c'est une anthologie série. Et on a fait 8 saisons sur
non, parce que là, c'est
une
les Targaryens.
Partie du Trône d'œuf. Est-ce que c'est un spoiler de dire Duncan Egg, c'est sur les Targaryens?
Non, c'est pas.
Non, ça va. Ok, ça va, du coup. Ok. Non, mais
Duncan
ok.
Egg,
mais je pense quand même qu'il je pense pas qu'ils l'appelleront Hot D Duncan Egg Edition comme American Horror Story, tu vois. AHS, Asylum, je suis pas sûr que ça s'appellera genre Hot D, Duncan Egg, mais House of the Dunk.
Moi, je trouve ça cool parce que je me suis dit...
House of the Eggs, ça marche.
Je comprenais pas pourquoi ça avançait si vite.
Bah, ça cavale, hein. Surtout si on se dit, là, on a 100... Du coup, ça commence, on est 170 ans avant la naissance de Daenerys.
Ouais.
Donc, disons, grosso modo, grand max 200 ans avant que littéralement Daenerys soit morte, sur le trône de fer. Bah ouais, sauter de 10 ans tous les 4 épisodes, mon gars, on va commencer à y arriver vite. Daenerys, elle va mourir sur le trône de fer.
Je pense qu'il y aura moins de
sauts. Spoiler.
Il y aura moins de sauts dans le temps. Mais on va pas non plus faire 40 saisons sur la Dance of the Dragon. Vu comment on va vite. Tu vois ce que je veux dire? Donc, à mon avis, il est possible qu'il y ait que 3 saisons sur la Dance of the Dragon. En tout cas, il est possible que.
Il est possible tout.
Il y a 3 saisons sur la Dance of the Dragon. Et ensuite, on part à flashback sur Aegon the Conqueror, quoi.
George R. R. Martin voudrait 4 saisons sur la Dance of the Dragon. Écoutez, 4 saisons, ça me semble raisonnable, surtout qu'il a fait en sorte que la moitié de la première saison soit un préquel, puisqu'à la base, il n'avait pas prévu de faire ses flashbacks de faire cette première partie sur les héroïnes, notamment enfants. Donc, on verra. Et écoutez, ce qu'on peut dire, c'est qu'on passe une belle aventure jusqu'à maintenant, et qu'on a plaisir à en parler,
à
débriefer tous les mardis.
Moi, je serais trop content que... il puisse y avoir simultanément House of the Dragon qui continue sur les Targaryens et simultanément un Jon Snow Mais simultanément.
Grave. Et un corps lisse.
Un corps lisse. Et simultanément, tu vois ce que je veux dire?
Mais ce serait trop bien.
Ce serait trop content.
Parce qu'en vrai, l'univers, il mérite, quoi.
Et en fait, on peut dire ce qu'on veut. Tu vois, genre, par exemple, Marvel sont en train de le faire avec plus ou moins de réussite, de multiplier les projets, sur la même, grande trame narrative, on va dire. Même univers canonique, etc. Ils sont en train de le faire avec plus ou moins de succès. Mais il y a un exemple de franchise qu'il a fait avec plus de succès que ça. C'est Star Trek dans les années 90 et 2000. Où il y avait à la fois The Next Generation, Voyager et Deep Space Nine qui se sont chevauchés. Avec des personnages qui allaient d'une série à l'autre.
Mais ce serait hyper intéressant. Et pour moi, ce serait un truc
trop bien.
Mais en vrai, je trouve que c'est intéressant d'explorer la forme de série d'anthologie avec l'univers Game of Thrones. Clairement, ils l'avaient pas prévu au tout début, quoi. Ils ont décidé d'adapter cette histoire de George R. R. Martin en pensant que les livres seraient finis et que ce serait un peu un Seigneur des Anneaux à la télé. Mais là, du coup, en fait, de par la situation dans laquelle ils ont été plongés par ça cartonne, mais on n'a plus de livres, et du coup, enfin, on en a, mais c'est pas les mêmes livres, et du coup, qu'est-ce qu'on fait? Ils sont en train de créer des trucs qui sont pour l'instant hyper intéressants. Honnêtement, House of the Dragon, on va pas se mentir, on était quand même 8/10 de rageux à dire ça va, enfin, vu ce qu'ils ont fait de Game of Thrones, non merci, quoi. On n'y croit pas du tout au fait qu'ils vont faire un truc.
Moi, j'ai
bien
encore dû convaincre quelqu'un
sur un
hier.
Bouquin bibliographique de mémoire historique, et c'est incroyable. Tous les mardis, on est là, c'était mieux que la semaine dernière, c'est fou,
c'est
pas
sûr. Ouais. C'est bon, là, je suis à ça. De déclarer que je préfère House of Dragon à Game of Thrones.
Moi aussi. Même
toi,
si
c'est déjà le cas?
Non, moi aussi je suis à ça. Mais en vrai, je pense que
j'attends qu'ils stick the landing sur le
comment
deux
on va
derniers.
Finir cette saison, c'est important.
Mais là,
comment ça va finir
si ça
en
continue
général.
Comme ça, c'est, ou si, si ça déçoit pas en fait, si ça reste même au même niveau.
Ah bah là c'est hyper tight, donc c'est sûr oui, on que... espère. Mais je continue à penser, quand bien même Daemon est hilarant, que ça manque de peuple et de trucs un petit peu relatable pour le commun des mortels. Ça manque d'un petit Bronn.
Moi j'ai pas
ça
besoin que ma
Daemon.
Fiction soit relatable.
Ok, ok, t'es qui la Tex. Est-ce qu'on s'arrête
moi,
là?
Moi j'ai non mais c'est... non, c'est vrai.
Pas,
non non, en fait
là,
c'est deux écoles quoi, tout simplement.
Non mais oui.
Non mais tu vois ce que je veux dire, il y a des gens qui ont besoin de s'identifier au personnage. Moi j'aime bien moi je m'identifie au à Viserys, tu vois. Je vois mon pépé dans Viserys.
Est-ce que tu
je vois ma carrière de DJ dans Viserys. Je vois ma carrière de DJ dans Viserys, quoi.
J'espère mais que tu vas mieux finir. Et si tu te coupes avec tes platines, tu mets du désinfectant, hein. Le gars, il est passé à ça. Ah oui, il y a des
est-ce
gens
que tu veux être mon maester.
Je mettrai une petite chaîne. Non, ça, c'est off live. On fera une chaîne spéciale pour ça, c'est autre chose.
Je m'identifie de ouf. En fait, j'ai pas besoin que les gens soient du même statut social que moi pour m'identifier. Enfin, tu vois ce que je veux dire?
Non, mais oui, mais moi aussi, je m'identifie à Viserys parce que c'est un des personnages les plus humains, mais je m'identifierai jamais à un Aemond qui est complètement frappachouin ou à une Daenerys, tu
quand
vois.
Quand tu regardes une œuvre de fiction, tu peux t'identifier à certains, à pas d'autres. Et pas à d'autres. T'as pas besoin de.
Oui.
Tu peux voir la beauté du queutru sans avoir besoin nécessairement de.
Ah, bah, carrément. Oui, je la vois. La beauté de la chose. Du coup, j'ai hâte et peur à la fois de voir l'épisode 9 parce que je suis vraiment en plus dans une dynamique maintenant où je suis là. J'ai pas envie qu'il leur arrive du mal. La plupart des personnages qui sont là, c'est vraiment des gens qui ont un peu rien demandé à la vie, tu vois. Genre, c'est pas vraiment des connards. Enfin, oui, les gamins, c'est des connards. Genre, Aegon, c'est un connard et c'est un violeur et tout. Mais en vrai, ils sont. Même Aegon, quand ça, Daron l'embrouille parce qu'il a violé une servante. Ok, c'est grave. Et lui, une droite et tout. À un moment, il se lève et il dit, en fait, j'ai jamais demandé ça. J'ai jamais demandé à avoir ça sur les épaules. Il a ce petit moment.
De ce que toi t'attends et de ce que mon père attend.
Et il dit, je peux pas être à la hauteur de la tâche que vous m'avez foutue sur la gueule et je sais pas pourquoi c'est ma tâche, quoi. Donc, quand bien même, ça n'excuse pas évidemment ce qu'il a fait. Bah, la série a à cœur de nous ramener ce petit truc d'empathie. En fait, c'est pas Geoffrey. Tu vois. Il exprime un truc que Geoffrey a jamais exprimé alors qu'il avait genre 5 ans de moins. Donc bon. On verra, mais je pense qu'on est in for a ride un peu tristant.
Moi, j'ai
émotionnellement.
Très, très hâte de voir quel sera l'équivalent House of the Dragon de un incendie et Daenerys qui survit avec 3 dragons sur les épaules.
Ah bah trop hâte.
Parce qu'ils ont besoin d'une
Qu'est-ce qui va se passer à la fin de cette saison pour garder tout le monde accroché quoi.
La série elle est mortelle, elle est déjà mortelle, elle est déjà au top, elle est déjà au top des ratings etc. Mais au final, elle se tire la bourre et désolé de revenir là-dessus, elle se tire la bourre avec Rings of Power qui est de la merde, qui va trop m'écrire avec les pieds quoi.
C'est mon avis,
je n'y engage que moi.
Oui.
Voilà. Mais voilà. Et donc, si tu veux, ils ont besoin de frapper fort à un niveau purement genre stratégique.
C'est trop marrant, t'amènes Daenerys qui sort du feu avec ses dragons, parce que pour moi, la fin de Game of Thrones saison 1, c'est Ned Stark. Genre, c'est pas Daenerys qui a frappé à dinguer les gens mode elle a des dragons. C'est Ned Stark qui se fait couper la tête, qui a fait dire à tout. Mais parce que toi, t'es team magie, tu vois.
Ouais.
Mais pour moi, le grand public, il est là. Attends, Boromir, c'est le héros et il est mort.
Ça arrive pas dans le dernier épisode.
Non.
Mais pour moi, c'était genre
la fin de la saison 1, c'était Daenerys qui sort du feu.
Moi, j'écoute, je lisais
et qui a des dragons. C'était genre
trucs.
Elle a des dragons.
Parce qu'ils arrêtent pas de dire les œufs de dragon, en fait, c'est juste de la pierre. Ils arrêtent pas pendant tout le truc, ils disent, t'as beau les foutre dans le feu, ils vont pas éclore, c'est de la pierre.
C'est vrai que moi, je le savais tellement.
Moi, je le savais pas, c'est ça. J'avais pas lu les livres. Et j'étais pas encore dans les wikis.
T'étais vraiment en mode, c'est Game of Thrones, c'est une série médiévale fantasy, mais où il y a, il y a pas de dragon.
Ouais,
toi, t'avais pas ce truc de, il y a littéralement des dragons dans le logo, dans le nom, dans machin et tout. Comme c'est arrivé littéralement dès la saison 2, je pense que la moitié des posters, t'avais les dragons.
Exactement.
En fait, effectivement, saison 1, t'étais là, c'est des gars avec des épées et un peu de magie.
On voyait un petit peu
Mélisandre. Ça s'ouvre quand même sur les White Walkers et tout.
Oui, les White Walkers, voilà, exactement. Les White Walkers, qui sont
dragon,
plus des zombies, en fait.
Oui.
Et qui sont pas vraiment, genre, il y avait pas un truc de vraie menace magique et tout. Et là, putain. Après t'avoir absorbé avec le truc de politique, en fait. Bah, ils te mettent une couche de magie là-dessus. Et ils ouvrent.
C'est
comme s'ils ouvraient le truc. Donc, je pense que la série, elle a le succès critique pour devenir genre aussi fat que Game of Thrones l'a été.
Mais
on
s'est dit que peut-être. Alors, mais du coup, c'est méta parce qu'il part du principe que tout le monde a vu Game of Thrones, mais en vrai, je pense qu'ils peuvent. On est à ce niveau-là où la série originelle a été tellement médiatisée que tu peux compter dessus pour faire ton effet dramatique. C'est que si à la fin de l'épisode de la saison 1 de House of the Dragon, il y a un perso, c'est Mélisandre. Tu vois,
Moi, je pense qu'il
change de tête.
Écoutez-moi.
Et il y a quelqu'un qui amène. Il y avait les Faceless Men qui étaient le twist de saison 2 de Game of Thrones, tu vois. Où c'est Arya qui arrive avec les Faceless Men Jaqen et tout. Donc, il pourrait réutiliser ça pour un truc de.
Moi, je pense.
Et en fait, c'est tellement lié à Game of Thrones, vous aviez même pas d'idée, quoi.
Moi, je pense que s'ils veulent tuer.
Imaginez Viserys, il n'est pas mort, c'est Viserys.
Non, mais si vous voulez. Si HBO veulent tuer les gens, casser Internet et s'affirmer comme
Brexit.
Il n'y a pas de comparaison avec
Twin Peaks
avec quelque autre série high quality, high fantasy. Ouais, il y a pas d'autre comparaison. Ce qu'ils font, c'est qu'ils nous présentent Alice à la fin en dernier, comme tu as dit.
Alice que vous ne devriez pas googler du tout, mais qui va être super si elle arrive.
Bah,
elle devrait arriver.
Si vous n'avez pas peur de regarder
si
les statues dans les yeux.
Alice, Alice, House of the Dragon ou Fire and Blood. Vous googlez ça, vous aurez tous les bails, ok? Je vais rien vous dire de plus.
Mais si vous avez envie de spoiler, si vous n'avez pas peur. Mais après, les livres, ils sont dans la nature. Ils sont là pour être lus.
Le livre est sorti. En vrai, il est super.
Tout est là-dedans. Lisez-le. Et donc. En gros, si on nous présente cette Alice, qu'elle a une petite un petit capuchon, qu'on la présente un peu tôt dans
En vrai, là, on avait vu un personnage encapuchonné de dos à King's Landing et c'était pas Daemon. C'était Talia qui allait voir Visaria. J'étais là, mais arrêtez de nous. Là, vous nous confusez. S'il y a une capuche, c'est Daemon. C'est la capucha, évidemment.
Exactement. Donc, si on voit un personnage comme ça avec une capuche et qu'à la fin, on nous dit, et qu'à la fin, on entend Alice et qu'elle se retourne, et qu'elle enlève son capuchon, et que c'est Carice Van Houten.
Ah, le mix des deux.
Et que c'est Carice Van Houten qui joue
Alice,
Mélisandre.
On attend de voir, en fait, c'est Mélisandre. Là, je serais là.
Genre, juste, ils disent rien, genre. Alice, oui, c'est moi. Et c'est Carice Van Houten.
Je mets un high kick dans la télé immédiatement.
C'est quoi, ils ont même pas besoin que ce soit Charisma Newton. Juste ils mettent n'importe quel.
Sinon les gens ils vont pas comprendre.
Ouais, mais si les gens, oui, mais si c'est Charisma, si c'est Charisma Newton, c'est 5 étoiles. Mais déjà ils ont déjà un petit 4 étoiles s'ils nous mettent n'importe quel rousse avec un collier. N'importe quel rousse avec un collier.
Et comme ça, tous les médias du monde, ils vous feront des articles en mode le collier qu'on n'avait pas remarqué dans la fin de House of the Dragon, et ils feront le travail de la série à la place de la série, et comme ça vous serez là en mode là, t'as remarqué que c'est le collier de Mélisandre.
Mais là, les gens pètent.
Il l'avait dit dans le podcast de Mimi.
Là, les gens crient, les gens.
Ça crie.
Ça, trending topic pendant toute la pause entre la saison 1 et la saison 2. Tu vois ce que je veux dire?
C'est-à-dire 2 ans, du coup, peut-être. Non, 1 an et demi, ok, ouais.
Non, mais tu vois.
Écoutez, c'est moi ce qu'on espère pour
serait,
la suite. Hein.
Ça, ce serait aussi fort que de foutre les putains de dragons, et ce serait asseoir legacy, puisqu'il parle de legacy depuis le début de cette putain de saison.
Ah bah là, on est dans la legacy longue durée.
Asseoir le truc canonique.
La seule famille qui a vraiment une legacy qui a duré des centaines d'années, c'est juste Mélisandre, parce qu'elle a ma famille, c'est moi. Donc, que vous dire, j'ai fait plein de pays, j'ai fait ma vie, j'ai ressuscité Jon Snow, qui était, enfin, j'ai taffé, quoi. Elle a fait sa vie. Ouais. Mais tranquille.
Ouais. Et si après ils nous font Duncan Egg et que c'est Shirasti Star, alors là, on va tomber. Là, les gens prennent leur OCS et cassent le truc.
Ils jettent leur télé sur leur télécommande sur leur télé.
Pas Shirasti Star parce que techniquement elle a des parents, mais tu vois, genre. Enfin, bref, je suis sûr qu'il y a d'autres occasions de nous mettre dans chaque spin-off Mélisandre.
Moi, tout ce que j'attends, c'est genre le spin-off sur Corlys pour faire notre...
Corlys, il va à Achaï et il y a Mélisandre, et c'est ça qui lui donne l'idée de revenir.
Mais ouais, mais elle peut être partout, on peut naviguer in space and time with Mélisandre.
C'était
Doctor Who de cet univers.
C'était mon point Lord of Light.
Peut-être, du coup, la comète, c'est le vaisseau de Mélisandre, tu as compris, c'est son TARDIS. Et il est rouge et elle se trimballe comme ça et tout. Est-ce qu'il y a un point en poisson? Les gens réclament Tequila Tex.
Non, c'était le point Lord of Light, c'était le point point Alice.
Merci à vous d'avoir été là. Le replay de ce Twitch sera disponible bien évidemment en podcast. Merci beaucoup d'avoir écouté nos digressions. Rendez-vous mardi prochain à 21h sur Twitch et mercredi prochain en podcast pour un nouvel épisode. Si vous aimez ce contenu, n'hésitez pas à lui laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts ou un petit mot gentil sur Spotify. C'est la meilleure façon de le faire rayonner. Pour rappel, vous pouvez aussi retrouver chaque lundi le récap rigolo de l'épisode de House of the Dragon de la semaine sur patreon.com/mymyhgl.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hi, I'm Ando.
And I'm Fer.
And we host Niñas Bien Podcast.
We want to invite you to listen to our show.
Niñas Bien means good girls in Spanish. But you have to know that this is not a podcast for good girls.
Or for girls at all. It is a comedy podcast. So everyone is welcome to listen.
We talk about sex, relationships, technology.
We recommend movies and TV shows and discuss pop culture in general.
And there is Chisme Ajeno too.
A section we have just to gossip about everyone. So you'll find something you like here.
And you'll practice your Spanish.
The cleanest Spanish you'll find, we promise.
And if you already hablas español,
vamos a ser tus nuevas amigas. We'll be your friends for the non-Spanish speakers.
New episodes every Monday and Thursday.
Hosted by Acast and available to all audio platforms.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Merci d'avoir écouté cet épisode. Pour soutenir le podcast, pensez à lui mettre 5 étoiles et un gentil commentaire sur votre appli préférée. Vous pouvez retrouver le reste de mes contenus audio sur le flux Mimi Hegel, mais en podcast, m'écouter avec la créatrice de contenu Marie Kigaï chaque mardi dans le podcast BFF, et me retrouver tous les dimanches en compagnie de Fabrice Florent dans notre podcast cinéma Le Film Club. Pour les récaps rigolos de séries, ça se passe sur Patreon. Tous les liens sont dans la description. Je vous souhaite une très belle journée et un grand merci à Valentin Nortier pour le générique.